Et donc aujourd'hui, un programme très dense. Donc on va commencer dans un premier temps à parler ben, tout simplement du recrutement des 6 plus grosses équipes espagnoles. Puis on enchaînera, pas forcément dans cet ordre-là, mais sur la Ligue 1 et sur la première journée de Serie A. Et donc avec moi ce soir, je vais commencer à vous présenter ceux qui sont là. Ah, donc on a d'abord Valentin, alias Helvetia.
Salut à tous.
Deux guests que vous avez déjà pu entendre. Donc premièrement Sonny Gall.
Salam
Et allez, CR7, l'homme aux 30 000 pseudos.
Salut à tous.
À la technique, on a Cénote qui héberge la conversation, donc on le remercie. Et Roméo qui sert à rien, mais je voulais le dire. Donc, on va commencer tout de suite par parler, bah, comme je l'ai dit, bah, de la Liga. Donc on va commencer logiquement, on va commencer plutôt par le champion, donc le FC Barcelone. Et donc, recrutement, alors j'énumère rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi ou ceux qui seraient sur Mars, le recrutement du Barça, donc c'est retour de prêt d'Enrique de Bayer Leverkusen, Maxwell de l'Inter, Keirison de Palmeiras et Ibrahimovic. Côté départ, ils ont donc perdu Silvinho, Eto'o, Keirison prêté à Benfica dans la foulée, Leb, Caceres parti à la Juve et Victor Sanchez à Xeres. Donc, bah, je vais commencer par toi, Ali, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire sur le sur les grands rivaux, donc comment vois-tu le recrutement du Barça?
Je pense qu'il aurait pu faire mieux au poste de latéral gauche. Bon, je connais pas trop Maxwell, mais je pense que Philippe aurait été préférable vu sa saison avec les départs. Mais bon, dans cette pré-saison, on va. Bah, aujourd'hui, déjà, on voit Maxwell dans l'équipe chip. Donc, déjà, c'est un signe. Donc, ouais, il pourrait être titulaire au profit d'Abidal. Bon, après, niveau attaque, Ibrahimovic et Eto'o. On a eu de longs débats sur ce sujet, mais bon, on verra. Certains pensent qu'Ibrahimovic s'adaptera, certains non. Personnellement, je pense qu'il s'adaptera. Mais bon, c'est le temps de nous le dira. Mais sinon, côté départ, Caceres remplacé par Enrique, je sais pas si c'est une bonne idée. Caceres commence à montrer de belles choses quand même en pré-saison. Mais bon, c'est juste un prêt. Donc, on sait jamais.
Et donc, toi, Sonny Gall, comment tu vois la chose?
Bah, vu l'effectif qu'ils avaient, je trouve que ça va comme recrutement. Juste que Eto'o par Ibrahimovic, c'est pas facile à comprendre non plus. Surtout que Laporta faisait des déclarations sur le recrutement du Real, tous les millions, tout ça, et se lâche sur Ibrahimovic avec 48 millions d'euros, plus Eto'o, bon je doute qu'il fait que 20 millions d'euros. Après,
bah... On a les contrats qui... Sa dernière année de contrat qui vaut 20 millions d'euros.
C'est ouais. Cool. Puis bon, après, Maxwell qui remplace Silvinho, ça va. Surtout qu'il pourrait même essayer de prendre la place d'Abidal sur le côté gauche. Sinon, bah, l'équipe de base est déjà bonne. Donc, il faudra compter sur eux encore cette année.
Hein. Et Messia, donc, tu as commencé à en parler. Donc, toi, j'ai vu que tu voulais parler de Maxwell ou pas. Donc, donne-nous ton sentiment pareil.
Pour Maxwell, à mon avis, pour ce qu'on peut penser du Barça, c'est correct, surtout que c'est pas le poste qui est le plus exposé quand même dans l'équipe catalane. Maintenant, c'est clair que c'est peut-être pas à la hauteur d'un des meilleurs latérales gauche du monde, mais je pense que pour le Barça, pour la façon dont est développée l'équipe. C'est un très bon transfert et c'est pas forcément sur quoi on va s'attarder le plus à mon avis tout au long de la saison, surtout que il a quand même une certaine expérience du côté de l'Inter où il a très souvent évolué, même si la dernière année du fait de sa blessure il s'est quand même fait un peu piquer sa place par Santon. Mais normalement franchement pour moi en ce qui concerne Maxwell il n'y a pas trop de problème. Par contre pour ce qui concerne Ibrahimovic, Je me suis posé la question sur qui faisait la bonne affaire entre l'Inter et le Barça sur ce coup, et je m'en suis réduit à penser que l'Inter avait fait la bonne affaire, mais que le Barça n'avait pas forcément fait une mauvaise affaire en engageant Ibrahimovic. Maintenant, je pense qu'il y aura un certain temps d'adaptation à observer avec Zlatan qui a un jeu quand même qui est bien différent de celui d'Eto'o. Et forcément, même s'il peut-être jouer aux côtés de Messi et Henry, c'est chose plutôt facile. Il faudra observer un certain temps pour qu'ils sont dans un effectif, et surtout ce sera aussi à ces deux voire quatre coéquipiers derrière que sont Xavi et Iniesta de s'adapter à lui, parce que c'est quand même un style de jeu extrêmement différent de celui de Samuel Eto'o qui a plus un profil de bagarreur qui vient beaucoup chercher les ballons, qui décroche qui part à droite à gauche, alors que Zlatan c'est plus un attaquant qui va tenter de poser la défense en tentant par exemple pour se démerder de tout ça un geste technique dont il a l'habitude de faire. Mais à mon avis à court voire moyen terme ça devrait rentrer dans l'ordre, mais c'est pas complètement impossible de voir un peu lors des deux trois premières journées un balbutiement du côté de l'attaque barcelonaise.
Sinon, je pense que au niveau du milieu de terrain, ils ont fait une assez grosse erreur en ne pas recrutant, vu que Touré, qui est quand même très important, va à la CAN durant 2-3 semaines, et qu'il y a des matchs assez importants lors de cette période, notamment contre Séville, je pense. Donc, je sais pas, Busquets, ça fera peut-être l'affaire, mais bon. Sinon, pour Ibrahimovic, beaucoup se demandent pourquoi 50 millions d'euros plus c'est tôt. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que déjà Guardiola ne sentait pas Eto'o, comme il l'a dit. Et après, Eto'o voulait réclamer une prime de 15 millions d'euros en cas de départ. Et bon, il lui restait une année de contrat, donc s'il avait fini, il aurait filé gratuitement. Donc, à la place de mettre par exemple 50 millions d'euros sur Villa, ils ont préféré se débarrasser d'Eto'o et récupérer Ibrahimovic, qui est quand même l'un des meilleurs attaquants.
Alors ok, mais par rapport au recrutement, bah, comme tu commençais à parler un petit peu des lacunes, parlons-y. Moi j'ai l'impression qu'à Barcelone, le gros problème c'est une sorte d'arrogance qu'il y a en ce moment avec la Masia, donc la CAN Barça, Barça CAN comme vous voulez. J'ai l'impression que maintenant, plutôt que d'essayer de recruter, ils vont forcément miser sur la cantera. On a vu que par exemple au poste d'ailier et d'attaquant, ils ont pris personne. Enfin, quand je dis personne, bien sûr, j'ai pris Ibrahimovic, mais ça, c'est un remplacement d'Eto'o. Ils ont passé l'EB, ils ont recruté personne, ils ont juste signé un nouveau contrat à Pedrito, qui devrait avoir plus de temps de jeu. Quand on voit les matchs de pré-temporada, donc la pré-saison, alors on a vu du Jeffren, du Gay Assouline, Pedrito, Muniesa, mais au final, pas de joueurs confirmés. Donc, moi, je voulais savoir si vous ne pensez pas, justement, que l'effectif va être un peu léger, et surtout au milieu de terrain, parce que comme tu l'as très bien souligné, c'est les remplaçants du milieu de terrain, ça donnerait donc Gudjonsen, Touré, Busquets, Keita, est-ce que c'est suffisant? Et puis toujours pas de remplaçant à Daniel Alves, et ça c'est le gros souci quoi.
Personnellement, je pense qu'il y a toujours des lacunes, notamment au milieu de terrain. Dans cette saison, on a vu Xavi qui a joué presque tous les matchs. Bon, j'imagine maintenant une blessure de Xavi, ça ferait très très mal. Donc, il s'intéressait à Fabregas, mais bon, c'était une mauvaise idée, vu le prix, bien sûr. Mais bon, je pense qu'il aurait pu recruter mieux au niveau du milieu, comme tu l'as souligné. Car je pense qu'il ne faut pas trop se fier à la pré-saison, comme avec Giovanni Dos Santos, par exemple, qui avait mis un doublé contre l'Inter avec une très grosse prestation. Mais juste après, il a chuté.
Ben voilà, moi j'ai l'impression que le problème qu'ils ont actuellement, c'est ça. Ils sont tellement sûrs de tripler, si tu veux, leur a tellement garanti une image de prestige par rapport aux gros clubs. On a l'impression qu'ils se sont mis un petit peu cette étiquette-là du seul gros club qui fait jouer 8 gars qui sortent du centre de formation. Voilà, moi j'ai un petit peu l'impression que c'est peut-être un côté arrogant. Alors évidemment c'est pas terminé, parce qu'on a vu que récemment ils ont bien négocié pour recruter Fabregas, donc ils ont proposé 30, Arsenal en veut 45, il y a des sources aussi qui disent que le transfert est conclu pour l'année prochaine, donc tout ça on sait pas trop comment ça va marcher, mais voilà, moi j'ai l'impression que comme tu l'as dit, il suffit qu'il y ait des blessés, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que par rapport aux dernières saisons, un mec comme Messi ne s'est quasiment jamais blessé. Thierry Henry s'est moins blessé, Eto'o pareil, Xavi, donc ils ont eu, finalement, à part en défense où ils étaient très fournis, et évidemment la blessure d'Iniesta 4 mois, ils ont eu quasiment aucune grosse blessure dans, le, bah, dans les joueurs offensifs. Et c'est ça, c'est tout le drame du Barça, c'est qu'ils perdent Iniesta, ou non Iniesta non, mais plutôt Messi ou Henry. Un Henry qui a été très décrié, mais finalement il finit avec un total de 40 buts plus passes, donc c'est quand même un rouage essentiel de l'équipe. Moi je vois que sans Messi, évidemment, outre sa qualité, c'est surtout qu'ils n'ont personne pour le remplacer, parce que Boyan, il me convainc absolument pas, quoi. Et puis, pour rentrer dans une analyse un peu plus technique, alors là, je sais pas, ou plutôt tactique, je sais pas si vous avez vu des matchs de pré-saison du Barça, ou par exemple, la semaine dernière, le match contre Bilbao. Oui, non, est-ce que vous avez suivi un peu ce match-là? Bon, alors, je vais vous raconter un peu comment j'ai vu ça, moi. Je voyais quand même un Barça très, très lent. Et c'était assez bizarre parce que Ibrahimovic, il peut jouer en une, deux transmissions de balle. Il a quand même une technique assez hors norme. Mais il n'a quasiment jamais pris cette option-là. Il a souvent essayé de dribbler. Alors évidemment, il a énormément décroché. Il a été très mobile, histoire de montrer aux autres, oui, regardez, je suis là, je peux faire comme Eto'o. Mais on sent qu'il n'est pas à l'aise. Pour vous dire, je crois que c'est une des rares fois où on voit Ibrahimovic quasiment... À part les habituels petits gestes techniques qui nous régalent tous, je ne l'ai franchement pas trouvé bon. Et donc, c'est un peu comme c'est le débat qu'il y a actuellement en Espagne. C'est Ibrahimovic contre Eto'o. Est-ce que Ibrahimovic va s'adapter? Moi, comment vous le voyez, vu que tout à l'heure, Ali a soulevé le problème. Donc, comment vous voyez la chose? Il s'adaptera, il ne s'adaptera pas? Allez-y, je ne meurs pas.
Personnellement, je pense que le jeu de l'Inter était favorable à lui, puisque l'équipe jouait pour lui, un peu comme Benzema à Lyon, je pense. Donc, niveau profondeur, il donne moins de profondeur qu'Eto'o, ça c'est clair. Parce qu'il aime bien aussi venir chercher le ballon. Donc, à ce niveau-là, je pense que moins d'Eto'o. Sinon, au niveau pressing, il avait dit que si l'entraîneur lui demandait de presser, il presserait. Mais je pense quand même qu'il ne fera pas... la même chose qu'Eto'o, puisque Eto'o fait un très gros boulot dans ce domaine, bien sûr. Mais bon, on l'a vu presser un peu contre Bilbao, même s'il s'est vite arrêté. Donc, je pense que c'est difficile de prévoir s'il va réussir ou pas.
Et aussi, il y a eu un petit problème, Valdés, au Mercato, non? Comme quoi, il voulait un salaire plus important, tout ça, sinon il partait.
Ouais, ça c'est le... il a un super agent, quoi. Il a réussi à négocier un contrat de 7 millions ou 6 millions et demi, je ne sais plus, d'euros bruts par an. Mmh. Pour un gardien comme Valdés, je pense que c'est... C'est même pas trop. On parle souvent des joueurs qui ont gâché leur carrière. Lui, il a optimisé à 100% son potentiel. Alors là, pour le coup, je pense qu'on ne pourra jamais lui reprocher ça à la fin de sa carrière. Valdés, au final, c'est un gardien qui aura gagné 3 Liga, 2 Ligue des Champions. Est-ce qu'on aurait pu penser ça lors de ses premières apparitions? Je pense pas franchement. Voilà, ça tient limite du miracle. Ouais. Donc, moi, c'est par rapport à ça que j'ai un peu de respect pour lui, parce que c'est pas le gars qui avait le gros potentiel. Et pourtant, il est là, il s'accroche. Il fait une carrière au-delà de ce qu'il aurait pu espérer.
Il sort d'une saison correcte quand même. C'était pas terrible, mais l'année dernière, je trouvais qu'il était plutôt.
Il y avait un gros plus, ça, c'est assez évident. Mais moi, honnêtement,
il faudrait qu'il confirme.
Oui, effectivement. D'autant plus qu'il n'y a toujours pas de doublure, ce qui me surprend un petit peu, parce que Pinto. Pinto, il avait été bon il y a deux saisons. On va pas être trop dur avec lui. Mais...
Quand il était au Celta, il était très bon.
Non, c'est ça, il était franchement bon. Mais bon, le problème, c'est que au Celta, il était numéro 1, indiscutable, il jouait tout le temps. Là, c'est plus trop le cas. Et puis, par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est Chigrinsky. Alors, pourquoi tenter avec autant d'ardeur, quasiment, de prendre Chigrinsky? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un... Oui, je sais, Flo, ça te fait rire, Chigrinsky. Oui, d'ailleurs, Chigrinsky, pour la petite anecdote, c'est le joueur qu'appelle ESPN Schilling-Kling. Toujours très bon. Oui, il y a ça et Helleboyk. Mais ça, c'est autre chose. On en reparlera plus tard de Nice. Non, voilà, moi je comprends pas trop, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de recruter un défenseur central? Ils se retrouvent donc avec Marquez, Puyol, Piqué.
Il y aura le retour de Milito aussi.
Enrique, Milito. Est-ce que Chigrinsky, c'est une nécessité? Est-ce que Chigrinsky jouerait d'autres postes? Ça, malheureusement, moi je peux pas en parler parce que les rares fois où je l'ai vu jouer, il jouait dans l'axe. Donc, je sais pas s'il y en a qui sont un peu plus informés, puisque on m'a dit qu'il pouvait jouer à droite, voire même au milieu de terrain. Mais bon, après, tout ça, c'est. Mais voilà, moi, quand je vois que tous les jours, le Barça envoie du 30 millions, du 25 millions pour Chigrinsky, quoi, c'est.
La position.
D'accord. Et puis, Maestro qui nous corrige. Donc, Valdés, c'est bien 7,5 millions, pas 6,5 millions par an. Et bon, son agent avait demandé 9 parce qu'il est au moins, voire plus important que Xavi Iniesta. Donc, évidemment, il fait son travail, l'agent.
S'il se baisse, ils sont un peu dans la merde quand même.
Ah, bah oui, on n'est pas en train
de. Il n'a pas de doublure.
Pinto qui est formé au Betis, mais ça, c'était juste pour le souvenir. Qui n'a pas été brillant, il a joué un match, il avait été pathétique. Mais donc voilà, moi je pense qu'on a fait un petit peu pour faire une dédicace à Khaled, on a fait le tour du Barça, sauf si évidemment vous avez des choses à dire. Non, bah on va passer au Real Madrid. Et là, c'est pareil, je vais donner rapidement les recrues et puis je vais laisser Alice tripoter à l'idée pour parler de son club. Donc les recrues, c'est évidemment Ronaldo, Kaká, Negredo, Garay, Albiol, Benzema, Granero, Arbeloa, Xavi Alonso. Les départs, donc c'est Faubert qui repart, la déception de tout le monde.
Oh mince, c'est
dommage. Navarro, Saviola, Codina, De La Red. Bon, De La Red sin ficha, on sait toujours pas ce qu'il va devenir après son grave problème. Javi Garcia, et là pour le coup, je demanderai d'applaudir. 7 millions pour Javi Garcia. Et puis Benfica qui confirme sa réputation, hein. 12 millions pour récupérer Saviola et Javi Garcia, c'est terrible. Parejo, 3 millions qui part à la succursale Getafe. Ainze, Salgado, Untelar et Negredo. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce Real Madrid? Et s'il te plaît, essaye de pas trop nous jouter dessus.
Cette pré-saison a montré déjà beaucoup de choses. Au niveau recrutement, je pense qu'on a recruté selon notre besoin. Mais bon, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Mais sinon, dans cette pré-saison, on a vu, par exemple, Dudek, qui s'est montré tout aussi rassurant. Ça rassure pour une éventuelle blessure de Casillas, quelque chose comme ça. Au niveau de poste latéral gauche, c'est le dilemme pour le moment. On sait pas qui de Drenthe, Arbeloa ou Marcelo va récupérer le poste. Personnellement, j'aimerais bien voir Drenthe, mais bon, Arbeloa, par exemple, est plus expérimenté.
Drenthe,
Elie, c'est pour Drenthe latéral quand même.
Drenthe. Arrête la drogue, je jure, arrête la drogue, ça te fera du bien. Je sais que t'as jeûné toute la journée, moi aussi c'est pareil, on a jeûné, on a galéré, c'était dur. Mais quand même, pas Drenthe, pas dès le début, Drenthe. Non, mais je te laisse poursuivre. Évidemment, c'était une petite vanne.
Non, mais est-ce que t'as vu un match de la pré-saison quand même?
Je les ai tous vus, ça passait à la Sexta. Et alors j'ai vu contre Toronto, j'ai vu DC United, j'ai vu la Peace Cup. Drenthe, il a fait de jolies choses contre Toronto, bravo, c'était des adversaires superbes. Toronto, c'est juste une équipe qui, quand ils nous ont marqué le but de 5-1 ou 6-1, ils sont partis dans tous les sens. Tellement ils étaient heureux, donc ça monte le niveau. Et puis Toronto, le seul joueur qui avait un minimum de ballon, c'était De Rosario, l'international canadien. Sinon, le reste, c'était pathétique. Mais pathétique, d'ailleurs, Raoul a marqué 2 buts. Hein. Moi, je crois que j'ai tout dit. Non, mais plus sérieusement, je vais te laisser continuer, puis on reparlera ensuite.
Hein. Non, mais pour Marcelo, déjà, on ne peut pas compter dessus durant une saison, surtout pas en Champions League, par exemple. Il est des couloirs, on l'a vu des centaines de fois. Reste maintenant Arbeloa qui est très bon, qui était très bon avec Liverpool. Mais bon, on l'a vu à droite durant cette pré-saison, contre Toronto même, il avait laissé d'assez gros espaces, alors qu'à droite c'est son vrai poste. Donc à gauche, il va jouer à gauche, un poste où il a dépanné avec Liverpool, mais il n'a jamais été vraiment titulaire à ce poste. Donc c'est pas fameux, je trouve, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais sinon, au niveau des milieux, on en a plein. Déjà 4 postes pour 2 joueurs. Gago, Diarra, Lasse et Alonso. 2 postes pour 4 joueurs, pardon. On a le retour de Diarra demain. Il est convoqué après dans les 280 jours sans jouer. Donc, bon, il va pas jouer direct. Il a raté presque toute la pré-saison. Lui et Nistelrooy. Donc, bon, on verra, surtout avec le Ramadan en plus. Donc, pour Gago, je pense qu'il va jouer très très peu cette saison. Surtout que la Perlas Alonso va sûrement être titulaire. Avec Diarra, s'il revient en forme, pour Gago, on risque de pas le voir énormément. Et il avait des offres de la Fiorentina, je pense, de la Juve et d'Everton, si je me trompe pas. Bon, j'aurais préféré qu'on le vende, mais bon. Sinon, au niveau des 2 joueurs qui seront devant, devant Lassana et Alonso, il y a Gucci, Granero, Kaka, Cristiano Ronaldo, Marcello, Schneider, qui va peut-être aller à l'Inter, Van der Vaart, qui devrait aussi être transféré. Mais bon, je trouve qu'on a trop de joueurs là. Un départ d'un ou deux ne serait pas à exclure. Sinon, l'attaque, ça sera très 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 compliqué, maintenant que Hood est de retour demain. Il y a Benzema, Higuain et Raoul. Bon, Higuain, c'est le meilleur joueur du Real la saison dernière, quand même. Hood Van Nistelrooy, difficile de le mettre sur le banc. Il s'est déjà blessé 15 mois, je pense, avant d'être recruté par Manchester. Il a quand même enfilé les buts. Benzema, pour le moment, il n'a pas montré de belles choses en pré-saison, contrairement à ce que dit la presse française. Mais bon, je trouve qu'il correspond au style de Pellegrini. Il aime jouer une touche de balle, il est très mobile. Mais bon, et Raoul, on connaît Raoul, difficile de le mettre sur le banc. Et bon, 4 postes pour 2 joueurs, j'ai hâte de voir ça. Et Negredo qui n'est pas encore été transféré, il va aller, je pense, soit à Séville, soit à Hull City. Bon, 15 millions d'euros.
Ah, Negredo, il est parti, hein.
À Séville,
ouais. Il est parti à Séville avec option de rachat. Ils ont privilégié Séville parce que déjà, ben, il va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Et puis, ben, Hull City, ils voulaient pas, la fameuse option que fait toujours le Real avec les Canteranos, c'est l'option de rachat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette clause-là, ben, c'est tout simplement, un prix fixé. C'est comme un peu comme la clause libératoire ou l'option d'achat. C'est tout simplement, au bout d'un an, ils peuvent le racheter. Donc là, c'était 17 millions ou 19 millions, je suis plus sûr. Bref, c'est dans ces eaux-là. Donc il est déjà parti.
Ah oui, parce que j'avais lu tout à l'heure sur Sky Sport le directeur de Hull City qui avait dit que le Real avait promis à Hull City Negredo. Bon, je pense que ça date un peu. Et sinon, pour Schneider, par exemple, c'est une très très longue affaire. Le joueur veut rester. Pellegrini avait dit au début du mercato qu'il comptait sur lui. Là, compte visiblement plus sur lui. L'Inter le veut, parce qu'il a besoin d'un numéro 10 derrière.
On saura très prochainement, normalement. On sait très prochainement de quoi il en sera. Même si c'est son quelqu'un nerveux, l'autre Schneider, normalement, c'est demain que se décide vraiment le si Schneider vient à l'Inter.
Voilà. C'est les deux équipes ont un accord de 18 millions d'euros, je pense, maintenant. C'est soit une question de salaire, comme le prétendent certains, soit une question de volonté du joueur qui veut pas partir, qui veut se battre pour sa place. Ouais. Donc on verra. Personnellement, j'aimerais pas me séparer de Schneider, mais bon, vu l'effectif, ça serait pas une erreur monumentale.
Donc, je voulais savoir aussi, avec l'arrivée de Benzema, Cristiano Ronaldo qui peut jouer en attaque, et puis Raoul qui est un emblème et quasiment tout le temps titulaire. Est-ce que tu penses que Pipita a ses chances de jouer beaucoup de matchs cette saison ou au contraire finir les matchs ou jouer la coupe, quoi?
Pour moi, dans le panthéon des attaquants, je mettrais Higuain en premier parce que on ne met pas sur le banc un joueur, ouais, qui finit avec 24 buts et 11 passes décisives.
Vraiment. Il a été du meilleur joueur aussi, non?
Oui, meilleur joueur du Real dans le site Marca. Ouais. Et 11 passes décisives, ce n'est pas rien. Il a été décisif dans plusieurs matchs. Mais bon, après, la concurrence sera très très rude. et on verra après lequel trouvera sa place.
Alors moi, en fait, il y a quelque chose qui me fait marrer à Madrid, c'est que Higuain, ça a été le meilleur joueur l'an passé, et pourtant, parmi les attaquants, c'est celui qui a le moins de chances de jouer. Même Van Nistelrooy qui revient, il a plus de chances. Cette intersaison, on a quasiment tout le temps vu Benzema avec Raoul. Sur la presse, c'est pareil, il y a un lobbying terrible autour de Benzema. Alors, on voit tout le temps des photos, Benzema, Kaka, Cristiano Ronaldo, les trois galactiques. Higuain, on n'en parle absolument pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors que jusqu'à preuve du contraire, Higuain a prouvé plus que Benzema, parce que Benzema, tout ce qu'il a montré, c'est à part quelques... Alors, effectivement, il a de superbes stats en Ligue des Champions. Mais bon, malheureusement, les adversaires ne sont pas tous très bons. Higuain, il a marqué contre quasiment toutes les grosses équipes de Liga. Alors, c'était peut-être pas des buts super importants, mais il a quand même marqué contre le Barça, contre l'Atlético. Il est toujours là.
Contre
Villarreal. Il est toujours là, il marque tout le temps dans les gros matchs. Et pourtant, il joue jamais. Par contre, juste un truc, je te trouve un petit peu dur, Ali, avec... Alors, je suis obligé de prononcer Ali, parce que si je dis Ali, ils ne savent pas que je te parle.
Vas-y, vas-y.
Tout à l'heure, tu auras le plaisir d'écouter Roméo dire « Schmerr !» tu vas adorer. Tu verras. Hein. Et il y a Sinot aussi qui va s'y coller. Hein, c'est le petit bonus. Je trouve quand même un peu dur avec Benzema parce qu'il a quand même fait de bons matchs, il a montré de belles choses. Alors là, pour le coup, je sais plus si c'était Toronto ou DC United, mais j'avais trouvé son association avec Ronaldo très très intéressante. Notamment, alors je sais pas si tu te rappelles du but, c'était une ouverture de je sais plus qui, coup de tête, ça a été un jeu à une touche de balle, sublime. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait déjà énormément d'automatisme. Alors, Benzema, on le connaît. Même mieux que l'Espagnol lambda, on l'a vu plus souvent, on sait ce qu'il vaut. On sait qu'il a un potentiel assez extraordinaire, ça on n'en doute pas. Donc moi, qu'il soit mis en valeur, c'est pas spécialement exagéré, parce qu'il a quand même fait de bons matchs. Après, la question se pose plutôt autour de Raoul. Est-ce que Raoul devrait encore être titulaire? Alors moi, je suis pas fan du joueur, hein, c'est une surprise pour personne. Parce qu'il marque plus trop dans les gros matchs, et puis en Ligue des Champions il est complètement dépassé parce qu'il a plus aucune mobilité. Mais après comme il y a des joueurs quand même de meilleurs joueurs autour de lui, on peut penser qu'il peut en profiter, hein. C'est un mec qui rate très peu d'actions, mais bon, au vu de l'effectif, je pense quand même qu'une association Higuain Benzema, c'est d'une part supérieure sur le papier, et d'autre part, c'est quand même un gage pour le futur assez, assez important. Donc.
Mais Ruben perdra sa place.
Pardon ?
Ruben perdra sa place.
Ruben perdra
sa place. Non, il sera blessé.
Ruben, il se blesse moins. Ça, c'est pas une surprise, hein, quand vous connaissez le fameux docteur Escribano, qui était c'est le talisman de Juan de Ramos, les fameuses papilles gustatives dont je parle souvent. En gros, c'est catedratico, je ne sais absolument pas comment on dit en français. C'est en gros le chef des professeurs de la fac de Séville, il me semble. Et donc, il est évidemment expert en diététique. Et donc, il fait un peu ce que fait Milanello, le centre de formation, non, le centre d'entraînement du Milan. Donc, c'est des suivis individuels. Et là, c'est pareil. Et j'avais vu que il avait dit qu'en moyenne, dans l'effectif, ils avaient perdu 10 kilos. Donc, ça vous donne un petit peu le niveau de... Je parle évidemment de tous les joueurs. Hein. Donc, ça vous montre un petit peu que... on a vu, par exemple, à Schneider être beaucoup plus affûté en fin de saison qu'en début de saison, où il était quand même assez peu donnant. Donc, c'est quand même un mec qui sait ce qu'il faut, parce que les joueurs comme Robben, c'est des mecs qui jouent énormément en vivacité. Donc, ils doivent avoir des chevilles très, 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 très solides. Et pour les protéger, il faut toujours un petit peu de graisse, que ne savait pas le fameux Walter Di Santo, le grand Manitou avant. Je ne sais plus s'il est encore dans le staff ou pas, mais ouais. C'est une calamité, c'est vraiment une calamité, ce gars-là. Parce que je pars d'un principe très simple. Si même moi, qui n'ai même pas encore fini mes études, j'ai compris ça, si lui ne l'a pas compris, c'est qu'il y a un gros souci. Donc... il faut faire du travail là-dessus, mais par contre, moi, au niveau de ce que j'ai vu de l'image du Real, c'est quand même pas mal du tout. Et après, par contre, on va revenir à ce qui m'a fait mal tout à l'heure, Drenthe. J'ai du mal avec lui parce qu'il est pas bon à chaque fois que l'adversaire est bon. Hein, contre la Juve, il a pas été terrible.
Franchement, bof.
Il a été loin d'être bon. Et d'un autre côté, on a Arbeloa. Alors certes, Arbeloa, il n'a pas joué. Il jouait côté droit à Liverpool, vu qu'à gauche était souvent Fabio Aurelio. Mais c'est quand même un mec qui a été bon en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on peut un minimum lui faire confiance, quoi, plutôt que de faire jouer Drenthe. Alors, Drenthe, moi, je t'avoue que je vois absolument pas ce qu'on peut lui trouver de bien. Je persiste à dire que ce mec passe plus de temps au sol que debout.
Ah, c'est vrai, ça il a fait.
Ça, c'est son gros souci. Parce que moi, ça me fait un peu marrer parce qu'il était présenté comme étant un modèle de puissance technique, un impact athlétique impressionnant. Il est tout le temps par terre. Donc, moi, je sais pas trop. Et juste pour finir, Sonny Gall ou les autres, hein, on vous a un petit peu moins entendu. Ouais. Si vous avez vu des matchs de pré-saison du Real Madrid, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, j'en ai vu qu'un et ça devait être le premier, je crois, contre les Irlandais.
Ouais.
Bon, c'était un peu en rodage, c'était pas terrible. Après, ça a dû s'améliorer vu les résultats.
D'ailleurs, ce match-là, c'était le gros match de Benzema. Il a été franchement énorme. Ouais, chaque prise de balle, contrôle, frappe, contrôle, frappe. Il a tapé, je crois, une fois sur la transversale, une fois sur le poteau. Il a mis un but.
C'était un des rares très bons dans ce match. Le reste, ça ramait un peu.
Quant à moi, j'ai vu celui contre la Piscop, là, contre la Juve. Ça a fini, je crois, 3-1 pour la Juve, si ma mémoire ne fait pas défaut.
Non, c'était 2-1, il me semble.
2-1, je ne sais plus. Ouais, 2-1,
c'était but de
Cannavaro.
Et ça, j'y ai pensé à lui, parce que j'étais sûr qu'il allait marquer.
Il connaît le placement de la défaut.
Et à Maori, je crois, à l'autre, évidemment. À moins que je trouve.
C'est sur corner. Moi, en effet, je pense.
Ah, je me souviens plus, mais bon, c'est.
Bah, non, c'était éblouissant pour le coup. Hein.
Ah, il a joué un excellent match.
À partir du moment où il a plus joué plutôt parce que la Juve maintenant joue avec le fameux losange. À partir du moment qu'il a plus joué en relayeur mais en meneur à la place de Jovinko, il a eu toute la liberté du monde et il a franchement été énorme.
Oui, mais sinon pour revenir justement au Real, franchement sur ce match, bon c'est certes le seul que j'ai vu de cette pré-saison et franchement ça a été très loin de m'impressionner. J'ai vu un Ronaldo qui en faisait beaucoup trop, qui faisait pas mal s'il allait dans tous les sens, mais il en faisait beaucoup trop.
Ah, Griera, il a failli lâcher.
Ah oui. J'ai vu un Benzema qui était pas forcément très tranchant, mais il manquait vraiment dans cette équipe un petit truc justement pour rattraper la Juve qui était elle peut-être certes un peu plus en forme, mais il y avait quand même encore quelques manques du côté du Real. Bon, certes, il n'y avait pas forcément l'équipe type qui sera alignée pour le championnat de la Champions League. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2-3 joueurs qui n'ont pas forcément un certain niveau galactique, puisque c'est comme ça qu'on doit les appeler maintenant, de nouveau. Mais franchement, j'attends quand même le championnat pour faire une vraie idée sur ce Real version 2009-2010, parce que j'ai pas l'impression que les matchs amicaux peuvent vraiment véritablement me donner une vraie idée de ce que va donner le Real.
Après, alors des charges, faut pas oublier qu'ils jouaient sans tous ceux qui avaient joué la Coupe des Confédérations, donc il y avait ni Kaka, ni Albiol, ni Arbeloa, donc Xabi Alonso toujours pas recruté. Donc si tu veux, c'est forcément c'est un peu ce que je reproche un peu au Real, c'est que ils ont pas trop joué. Ils ont toujours pas joué avec. Ils ont pas joué de grosses équipes. Dortmund, j'ai vu un peu le match, c'était assez nul. Franchement, hein, faut pas se mentir. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible du tout. Quoi. Mais sur les premiers matchs, et une fois qu'ils ont pris tout le monde, là, ils ont commencé à jouer le club sénégalais. On va jouer les Canadiens et on va jouer les Américains. Au bout d'un moment, ça te donne aucune garantie sur ton niveau de jeu, même si bah, comme je l'ai dit, il y a quand même eu des petites séquences très intéressantes. Et bah, je vais tout simplement présenter un animateur qui nous a rejoint en cours, donc c'est Lil White.
Ouais, salut à tous.
Et vas-y, tu avais quelque chose à dire, donc lance-toi.
Moi, par rapport au Real, bon, j'ai pas pu voir les matchs amicaux encore. Par contre, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est que, par exemple, Cristiano Ronaldo a été transparent lors des matchs amicaux. Et que la question se pose de où le faire jouer pour Pellegrini. Parce que, bon, on sait qu'on peut le faire jouer côté gauche. Mais on sait qu'il peut être aussi très utile devant. Et je pense que c'est peut-être ça le problème actuel du Real. C'est que Cristiano Ronaldo, pour l'instant, on ne sait pas trop où le faire jouer, pas trop comment l'intégrer dans le système. Donc, moi, c'est l'interrogation que j'ai pour ce début de saison. Quoi.
Moi, je ne sais pas comment Ali a vu les choses. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, franchement. Le problème avec Ronaldo, c'est... Comme c'est une grande gueule, et ben ils vont le tacler à chaque fois. Moi, franchement, il y a des matchs où j'ai trouvé bon, d'autres où j'ai trouvé moyen, mais transparent, non, je trouve que c'est exagéré.
Oui, je pense aussi qu'à la Peace Cup, il était très mauvais, notamment le premier match contre la Juve. Il a commencé à s'améliorer, je pense. Contre la Sociedad, il a fait un très bon match, on peut dire ça. Contre la Sociedad. Et sinon, ce dernier match, c'est vrai qu'il a été très moyen. Mais bon, il a enchaîné le bon et le moins bon.
Mais il n'a pas vraiment été décisif, non ? Sur les matchs qui...
À part sur les coups francs, non, pas trop. Mais bon.
Et c'est quoi son style de jeu actuel au Real de Madrid ? C'est plutôt, il se la joue perso ou il joue collectif
Non, au contraire, il est très collectif, je trouve. Il essaie beaucoup de combiner, notamment avec Benzema. Là, avec Kaka, il y a quelques automatismes qui commencent à se créer. Avec Alonso qui oriente bien le jeu, il a d'assez bons ballons. Je pense que ça va donner quelque chose à l'autre.
Finalement, Robben, il va jouer où, Robben? Alors, il va jouer à droite, il va jouer...
Sur le banc touche côté droit.
Non, à droite, okay. Non, je pense que ça dépendra du schéma tactique parce que j'ai vu que Pellegrini a déjà tenté avec une seule pointe. Et Kaka, Ronaldo et Robben derrière, puis les deux milieux axés.
Ça, j'y crois. Moi, j'y crois pas trop à cette formule-là, franchement.
Oui, je pense pas qu'il.
Pellegrini, il joue pas comme ça. Enfin, très rarement.
Oui, d'habitude.
Il aime son 4-4-2, ça m'étonnerait. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui peut bien en parler, c'est Nono, hein. C'est le fameux Sonny Hull. Tu l'as vu souvent, toi, jouer en 4-2-3-1.
4-2-3-1.
C'est très rare. De temps en temps, il fait plus badass ça, il reste dans l'axe.
Et on s'est joué, ouais, ça tournait souvent entre les trois milieux offensifs, mais ça fait un moment qu'il n'a pas joué comme ça. C'était surtout à l'extérieur. Sur la fin de saison, il utilisait plutôt un 4-1-3-2 avec un milieu défensif et Gouren, vu que Senna était blessé. Puis trois milieux offensifs qui tournaient entre les matchs. Mais sinon. 4-2-3-1, pas à domicile en tout cas.
Après, vu l'effectif qu'il a au Real, ça peut quand même évoluer un peu, mais...
C'est ouais, enfin, que... vu le nombre d'attaquants qu'il a aussi...
De toute façon, il s'adapte au joueur qu'il a eu, hein. Maintenant, il est obligé de s'adapter.
Ouais.
Mais en fait, il peut faire un 4-4-2, mais en mettant Ronaldo avec Benzema en point, avec Kaka et Robben, et puis là, c'est Alonso, je pense. Il pourrait envisager ça.
Et Pipita se retrouve encore au banc.
Bah, Pipita, de toute façon, il va pas jouer. Hein. Parce qu'il a que meilleur joueur du Real, donc tu vois, c'est pas.
Il va être prêté à Villarreal.
Le rêve de Sonny. Non, mais ça dépendra. Je vois pas Benzema. On a déboursé 35 millions d'euros pour le mettre direct sur le banc. Je pense après que ça. Moi, j'aimerais bien voir Higuain titulaire. Moi, j'aimerais bien. Pas Mr. Roy aussi. Mais je pense que ça dépendra des performances des deux et il gagnera encore sa carte à jouer.
Moi, je vais relancer un peu le débat vu que je crois qu'on a fini de parler de ça. Moi, je voulais parler de l'association, enfin plutôt ce que je vois moi comme l'axe de l'équipe, c'est la petite connexion qu'il y a entre Xabi Alonso et Kaka. Pour moi, c'est cette connexion-là qui doit fonctionner pour que le Real marche bien contre la Sociedad. Kaka, il a été peut-être le meilleur sur le terrain. Moi, en tout cas, j'ai trouvé très bon. Kaka, il est petit à petit en train de revenir à son meilleur niveau. C'est pas trop une surprise, hein, parce que, à contrario du gros Ronaldinho, on sait que lui, c'est quand même un mec relativement sérieux, même s'il aime beaucoup l'argent. Et Je sais pas, toi, bah, justement.
Il aime beaucoup son église aussi, hein, j'ai l'impression.
Mmh, ouais, ouais. Bon, ça, c'est. C'est quand, quand t'attends le mariage pour piner, c'est que t'aimes beaucoup l'église, hein. Ça explique aussi pourquoi il s'est marié très jeune, hein. Mais bon, ouais. C'est un autre débat. Bah, justement, bah, ceux qui ont vu ça, des images ou pas, qu'est-ce que vous pensez de la relation entre les deux joueurs?
Oui, oui, je pense que c'est une très, très, un très bon duo. Bon, Alonso, déjà, c'est le joueur qui nous manquait. Bon, à la saison dernière, c'était Gucci qui devait revenir pour faire monter le ballon. Là, on a plus de problèmes, je pense, avec Xabi, quand même. Et Kaka, il a plus cette responsabilité de venir chercher le ballon. Il peut jouer derrière les deux attaquants et il donne de très, très bonnes passes décisives, notamment celle pour Granero contre Dortmund. Pas vraiment de très belles choses durant ces 2-3 derniers matchs. Je suis d'accord.
D'accord. Alors, je sais que Sonigol aussi, tu avais quelque chose à dire, donc.
Ouais, je voulais poser une question à Ali. Alors, défensivement, penses-tu que le Real a bien compensé le départ du fantastique Cannavaro?
Oui. Je suis très, très impressionné par Ali. Si, c'est vrai que les adversaires. Top. Mais bon, on voit qu'il a le niveau anticipation, jeu de tête. Ouais, bon, il est très bon. L'association avec Pepe, je veux dire que ça pourra donner de très belles choses. Ils ont tous les deux 24 ans quand même. C'est assez jeune pour avoir un défenseur. Donc je pense qu'on a très bien remplacé Cannavaro. Sinon, au niveau de latéral gauche, Heinze n'était pas énorme à ce poste, pas du tout. Marvolo sera d'accord. Donc je pense qu'on a pas perdu grand chose à gauche et au centre Albiol c'est du très bon je trouve. Et avec un petit peu aussi de son bas.
C'était pas difficile de remplacer Cannavaro hein. Aussi.
C'est vrai, ça c'est pas faux. Ah, allez, dis-le, répète-le.
Non.
le fan numéro 1 de. Et ben voilà, je pense qu'on a été suffisamment complet hein, pour citer toujours ce bon vieux Khaled hein, aujourd'hui c'est sa fête. Ben on va enchaîner sur le troisième, l'équipe la plus détestable d'Espagne, donc c'est bien. Oui c'est vrai, en plus je veux dire c'est pas c'est cadeau ça. Donc je donne le recrutement. Ah bon, il y a les retours de prêt de Lolo, Duda, Alfaro, De Santis, Pablo Ruiz, Demul et Fernando. Les arrivées de Zocora, Sergio Sanchez et Negredo et les départs donc de Javi Navarro, le joueur le plus brutal des années 2000 en Espagne, Maresca, Crespo, pas le Crespo que vous connaissez, le jeune espoir espagnol, Mosquera qui se barre après des performances extraordinaires, De Santis pareil qui part au Napoli et Prieto qui est prêté à Xerez. Donc là je vais te lancer toi Nono, je sens que tu adores cette équipe, que ça te remplit le cœur d'en parler, donc que penses-tu de leur recrutement?
Ah ça va, ils ont fait un bon recrutement quand même. Avec Zocora qui va muscler le milieu, Sergio Sanchez qui est un bon jeune espagnol qui va faire du bien en défense. Ça va peut-être permettre à Adriano de monter d'un cran vu qu'il jouait assez souvent arrière droit, je crois. Puis Negredo en attaque qui tournera avec Canute et Luis Fabiano. Après, j'aimerais bien aussi voir peut-être assez souvent Duda que j'ai trouvé très bon avec Malaga. Puis sinon.
Après, le problème, c'est que Duda, sur son côté gauche, il y a déjà Diego Capel, il y a le petit Perotti qui est en train de percer, donc je pense qu'il va vraiment galérer.
Et puis, il faudra voir aussi avec Alfaro, s'il peut avoir du temps de jeu.
Et puis, moi, je vais en profiter pour présenter un peu Sergio Sanchez. C'est un joueur qui n'est pas trop connu en France. C'est un international. Moins de 21 ans, il est extrêmement, mais vraiment extrêmement talentueux ce joueur-là. Il peut jouer, c'est soit un latéral droit, soit il peut aussi jouer dans l'axe. Bon, il est pas, je trouve pas moi spécialement bon dans l'axe, mais.
On rappelle Ramos. On me rappelle un peu Ramos.
Oui, il y a de ça, il y a beaucoup de fou dans sa façon de jouer. C'est un latéral un peu technique. Bon, bah, évidemment, si vous ne suivez pas la Liga et que vous regardez les spécimens qu'on a en Ligue 1, évidemment ça vous parlera pas forcément vu que les latéraux jouent ailier en France Michel Bastos style. Non mais voilà, c'est franchement, c'est comme tu l'as dit, c'est une bonne recrue. Alors après c'est peut-être un peu c'est un peu dommage pour Abdoulaye Konko qui avait été très très bon à Cagliari et qui, bon, on peut le dire maintenant, en Espagne il a complètement coulé. Ça n'a pas été terrible. Moi, je sais pas toi, je sais pas vous comment vous l'avez trouvé, mais moi, ça m'a jamais vraiment convaincu.
Ouais, enfin, il était régulièrement moyen, on va dire.
Régulièrement moyen, c'est une belle expression. Bah, évidemment, Didier Zokora, là, pour le coup, je pense qu'il y en a déjà beaucoup plus qu'ils connaissent. L'ancien Stéphanois, qui était de Tottenham, qui a fait une grosse, grosse saison. Alfaro, évidemment, qui a été prêté, à Tenerife, qui a été le, bon, allez, avec Nino, un des deux meilleurs joueurs de l'équipe et qui leur a permis de monter en première division. Pour le coup, lui, je l'ai vu jouer 2-3 fois au stade, vu que j'habite là-bas. Et c'est un mec très intelligent balle au pied, franchement. Il a que 23, enfin, il va faire 23 ans en fin d'année. Moi, je pense que ce mec-là, par exemple, il peut avoir sa chance en équipe d'Espagne s'il concrétise un petit peu. Ce qu'il a fait, ce qu'il précise plutôt, il poursuit son parcours au Sevilla, parce que bon, après tout, si Busquets est en équipe nationale, tout le monde peut y aller, hein. Et puis bon, donc voilà, moi je trouve que c'est déjà une équipe très complète, parce que comme tu l'as dit, ils ont de bons joueurs, ils ont un bon petit gardien, Andrés Palop, la charnière centrale franco-française que vous connaissez tous, Escudé, Scriaci. Non, moi je pense franchement qu'il y a, et puis évidemment les internationaux espagnols, hein, le Jesús Navas, milieu de terrain qu'on ne présente plus, qui sont le fameux Romaric qui fait du bon travail. Et donc voilà, moi je pense que le recrutement est terminé. Je sais pas si vous avez écouté des rumeurs, mais moi je pense qu'avec l'arrivée de Negredo, c'est terminé. Et donc, ben, comment vous les voyez pour la saison prochaine? Est-ce qu'ils peuvent se requalifier en Ligue des Champions? Ou vous voyez la menace d'autres clubs?
Bah, ils ont de grandes chances, mais déjà ils ont perdu Maresca, remplacé par Zokora. J'ai trouvé que cette saison de Maresca, c'était un peu une bombe à retardement, prêt à exploser à chaque match. Déjà, on l'a vu avec Agüero, et il s'était complètement lâché. En plus de ça, bon, ils ont régulièrement les faveurs arbitrales, on va dire. Ce qui fait qu'ils grappillent régulièrement.
Tu veux dire qu'il serait un mélange de Lyon, Barça et Marseille, avec un petit soupçon de Juventus par-dessus?
Un petit peu.
Bon, ça me surprend, ça, venant de toi.
D'ailleurs, Marca avait fait un...
Alors, pour juste une idée, hein, pour ceux qui ont vraiment du mal avec l'ironie et le second degré, oui, ils se font aider toutes les semaines. Moi, je le dis juste maintenant avec des mots plus clairs.
Marca avait fait un petit classement des équipes sans les aides arbitrales et avec les pénalités, quoi. Et Sevilla perdait sa place de Ligue des Champions assez largement, quoi. C'est-à-dire qu'il passait de la 3e place à la 5e ou 6e.
Après, ce genre de classement, tu sais très bien que c'était très bizarre, parce qu'on a vu que, genre, grâce aux arbitres, Séville avait gagné 7 points.
Un petit peu plus.
Oui, oui. Donc, je pense qu'ils en ont quand même gagné beaucoup plus que ça.
Oui.
Mais bon, c'est facile. C'est un petit peu les pénalties, pas trop évident, mais... Quand c'est le Sevilla, ben on accepte de s'y aller parce que Del Nido, le président évidemment. Donc voilà, moi je pense qu'ils ont déjà une belle équipe. Si en plus il y a une petite aide comme l'an passé, ça va passer facile. Donc il y avait une question.
Ah ouais, donc justement, moi c'est justement avec la venue de Negredo, si on peut me répondre. Comment ça va donner l'attaque sévillane avec Negredo, Fabiano, Canute? Ça va. Quel va être le système ou l'attaque?
Alors franchement, aucune idée. Aucune idée. Je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment te dire. Si tu prends le niveau, moi je pense que vaut mieux mettre Canute, Negredo.
Ouais, ouais.
Mais bon, après, faut dire que moi, Luis Fabiano, c'est un attaquant que je trouve pas spécialement bon. Qu'il soit international brésilien et numéro 1 en attaque, tu vois, ça me fait bizarre. Donc, moi, je sais pas trop.
Ce qui me fait encore plus bizarre, c'est que le Milan était prêt à mettre 30 millions dessus.
Non, ils ont pas mis 30 millions. Le problème, ouais, c'est que justement, ils voulaient pas mettre 20 millions. Donc après, par contre, je sais pas comment Sonny Gold lui voit quel paire toi tu vois s'imposer cette année.
S'imposer, je pense que ça sera Luis Fabiano Negredo, vu que Luis Fabiano a le bénéfice de tous ses buts marqués sur les saisons précédentes, même si c'est pas forcément des buts superbes. Mais Canute peut largement sortir son épingle du jeu. Bah, il l'a montré déjà sur la deuxième partie de saison dernière, où il a enchaîné les buts à chaque journée.
Il faut pas oublier qu'il y a d'autres attaquants quand même. Chevanton et Kone, ils peuvent... Non, je déconne. Ils peuvent rien faire. Non, ils sont morts.
Ouais, puis, Negredo et Canute ont un peu le même style de jeu. Peut-être pas complémentaire.
Bah, là, tu vois, moi, je sais pas, je vois pas ça forcément comme ça, parce que c'est pas parce que je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est pas forcément. Alors ils sont grands effectivement, mais ils sont pas, je les trouve pas exactement pareils. Negredo c'est quand même un mec plus rapide, qui va plus vers les espaces, plus technique, je suis pas sûr. Peut-être qu'au niveau de coordination, en un contre un effectivement oui, mais Canute c'est un mec qui est très bon dans les déviations. Il voit bien le jeu, alors que l'autre, Negredo plutôt, c'est quand même un mec qui il est plus puissant, il a une meilleure vitesse, il peut éliminer. Donc moi, voir par exemple Negredo qui tourne autour de Canute, moi ça me plaît bien. Alors après, évidemment, comme ils sont tous les deux très grands,
un manque de mobilité.
Puis faudra voir aussi Negredo qui a été le centre de l'attaque à Almeria, comment il va s'en sortir en étant associé à un autre attaquant à côté de lui.
Il sera pas la star quoi.
Ouais, il sera pas aidé, enfin si, il aura ses ailiers, mais à Almeria il y avait juste Ortiz et Crosat qui lui faisaient les centres, et
voir Piatti quand il entrait en fin de match.
Voilà.
Donc, évidemment c'est toujours ça, puis maintenant il va passer dans un club qui joue la Ligue des Champions, il va avoir nettement plus de pression. C'est absolument pas dit qu'il s'impose.
Ça sera à voir.
Moi, je voulais dire une chose par rapport à Canute. Je pense qu'il serait mieux avec Negredo que Fabiano Negredo, puisque Canute, je trouve un peu plus altruiste, et que Fabiano, je le trouve un peu un buteur, un peu comme Negredo, je trouve. Comme par exemple Canute, là c'est 7 passes décisives cette saison contre une seule pour Fabiano. Donc je pense que pour niveau entente, je pense que Negredo et Canute, ça pourrait donner mieux.
Moi je vois franchement Negredo Canute. Hein. Fabiano ça m'impressionne pas, et puis moi je vérifiais ce que venait de dire Sonny Gold qui m'avait un petit peu interpellé. Tu disais qu'il avait les bénéfices des buts marqués. Canute a marqué plus de buts que Fabiano.
Ça arrive de tourner pas mal. Hein.
Non, mais de toute façon, les trois, moi je pense que les trois joueront tous les matchs, tu vois. Alors après, un coup ce sera Negredo qui va rentrer, un coup ce sera Canute, une autre fois Fabiano. Mais je pense que, ils vont jouer tous une quarantaine, une cinquantaine de matchs dans la saison. À mon avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, faut pas oublier que Canute, il se blesse souvent, donc il y a un peu de place là aussi. Donc, moi je pense. Je pense que de toute façon, c'est une superbe recrue. Et comme je le disais hier, c'est une recrue que le club français aurait peut-être pu tenter d'avoir parce que le Real avait envie de le passer. Donc, c'est franchement très, très dommage. Et puis voilà, je pense qu'on a fermé la page Serie A. Donc, on va enchaîner sur l'Atlético Madrid, les grands amis d'Atlético Madrid. Donc, pareil, retour de prêt de Kleber Santana, Jurado, Valera, Diego Costa et... Reyes, n'importe quoi. L'arrivée libre de Juanito, Leandro Cabrera, Asenjo et Roberto Jiménez du Recre. Et puis, Banega qui repart, mais pour le coup, Banega, je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Alors, si quelqu'un peut m'éclairer après, je l'en remercie. Et puis, les départs de Leo Franco, Zé Castro, De La Cuevas, Coupé, Diego Costa, Seitaridis, Maniche et Luis Garcia. Donc, on parlait tout à l'heure de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que l'effectif c'est suffisant justement? Est-ce que cet effectif de Real Madrid, pardon, de l'Atlético Madrid, vous paraît suffisant pour continuer dans cette progression et aller une troisième fois consécutive en Ligue des Champions?
À mon goût, reste quand même un peu trop léger encore. Il manque cette vraie personnalité derrière qui pourrait mener le.
Juanito.
Ouais, Juanito, ça peut être. ça peut peut-être changer le truc, mais à mon avis, c'est encore un poil trop léger derrière. Bon, il y a maintenant, il y a Asensio qui va vraiment, à mon avis, se révéler vraiment à toute l'Europe en Coupe d'Europe. Mais bon, forcément, il y a évidemment rien à dire, hein, entre les Forlan, les Agüero, etc. C'est toujours aussi bon. Maintenant, est-ce que derrière, ça peut tenir? Est-ce que ça peut éviter les quelques bévues, les quelques légèretés qui ont empêché l'Atlético d'aller, par exemple, plus loin que les huitièmes de finale l'année passée? Certes, face à un excellent Porto, mais il semble encore, c'est une équipe qui semble encore un peu trop jeune, entre guillemets, pour l'Europe, pour aller plus loin. Maintenant, le championnat, est-ce que ça peut jouer? Il manque aussi peut-être cette part d'expérience qui pourrait également aider, mais ça vient tranquillement et ça peut que progresser à mon goût.
Il y a aussi une grosse interrogation, c'est en attaque. Bon, la saison passée, ils ont la chance que Agüero et Forlan ne se sont pas vraiment blessés. Enfin, Forlan peut-être une fois, mais s'ils se blessent là cette saison, ça va être un peu dur pour eux. Il y aura juste Sinama. Et après.
Il y a Reyes qui peut toujours se débrouiller vite fait, quoi. Mais vite fait. Reste ouais, de toute façon sur un terrain de foot, c'est toujours difficile.
Ouais, sinon, il sera là en remplacement de Simao.
Sinon, moi, ce que je comprends pas trop, c'est au niveau de la défense. Alors, je sais qu'ils veulent récupérer un latéral droit vu que Seitaridis qui est parti libre. Ce que je comprends pas, c'est que plutôt que d'acheter justement un défenseur droit, alors un coup ils tentent Ushfaluzi à droite, un coup ils vont tenter Pereira. Ils ont voulu mettre Burdicho. Pourquoi ne pas recruter un vrai spécialiste?
Surtout après, qu'ils sont sur le point de vendre Pereira. Enfin, ils sont en négociation avec Saragosse. Ouais. Faut voir si ça aboutit aussi.
Pour 5 ouais, millions, normalement. On sait qu'ils n'ont presque pas investi parce que j'ai le total devant moi. C'est 8 250 000 investis sur ce mercato, ce qui est quand même relativement léger pour un club qui joue la Ligue des Champions. Donc moi je pense qu'il y a ça peut-être le moyen de casser la tirelire. Alors évidemment, quand on dit arrière droit et espagnol, on pense toujours tout de suite à César Azpilicueta, qui est le latéral droit de Osasuna, qui impressionnant, 20 ans, espoir déjà. Je pense que lui il peut leur faire un bien fou. Le problème, c'est qu'Osasuna demande 15 millions, ce qui est quand même terrible pour un gamin de 19-20 ans. Mais voilà, moi je pense que c'est surtout au niveau sur les côtés, parce que l'appareil côté gauche, Antonio Lopez et Pernia, c'est juste pas possible pour la Ligue des Champions.
Ouais.
Antonio Lopez, ça doit être l'équivalent français de
Réveillard.
Bayalsal, non? Au niveau du bourrinage, c'est pas. Il fait partie avec Marchena, je crois, des deux joueurs les plus aidés par les arbitres, parce que pour le coup, c'est pas possible de rester sur le terrain, quoi. Il reste tout le temps sur le terrain alors qu'il fait des agressions. De toute façon, à chaque bêtise Atlético, il y a des agressions de sa part. Et puis quand il fait des agressions à répétition et qu'au final c'est lui qui marque le troisième but, ça donne envie de pleurer.
C'était pas lui qui avait laissé une belle trace de crampon sur Messi?
Oh oui. Bah, il a beaucoup de joueurs à son palmarès. Ouais. C'est le Francis Lacer espagnol, quoi. Il a du niveau. Bon, après le problème, plutôt l'avantage, c'est que quand il est concentré, il fait de gros matchs. Ça, c'est vrai, faut le dire. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez bourrin. Mais je pense que c'est le capitaine cette année, ou vice-capitaine, donc à mon avis, il partira pas de sitôt.
Le capitaine, je crois.
Ouais, donc bon, je pense qu'il partira pas. Pernia, on est très très loin du Pernia de Getafe, hein. C'est plus du tout le même joueur. C'est une surprise, quoi. Il s'est complètement éteint en arrivant à l'Atlético. Donc moi,
Il y a une sorte de malédiction, je trouve, dans la défense de l'Atlético. Les joueurs, quand ils arrivent, ils sont pas mauvais, mais après quelques matchs, ça commence à couler. On l'a vu avec Ushfaluzi. Itinga, bon, ça devait pas être terrible au départ non plus.
Mais, enfin, Itinga, il n'avait pas spécialement emballé avant, tu vois, même avant d'arriver.
Antonio Lopez et Pernia, ça s'annonçait comme le meilleur couloir gauche d'Espagne quand ils sont venus il y a 3-4 ans. Et au final, ils sont vraiment moyens. Seitaridis, il a commencé à disparaître petit à petit. Pereira, pareil.
Enfin, Antonio Lopez, c'est un peu ce qu'on me disait pour Valdés. Comme il est de la cantera, forcément, il a un petit peu plus de... Bon, il a été prêté à Osasuna 2-3 ans. Mais voilà, comme c'est un des symboles du club, ben forcément il va pas être
écarté.
Pardon ?
Il va pas être écarté. Ouais.
D'ailleurs, alors je sais pas comment on le prononce, LGATM, GATM, comme vous voulez, confirme que Antonio Lopez est bien le capitaine. Voilà, quoi. Pour moi c'est pas suffisant, mais je persiste à dire et je persiste à penser que la charnière Ushfaluzzi Juanito, c'est du très très lourd à condition qu'ils jouent à leur niveau. Juanito, quand il a quand même joué avec, depuis que je suis le Betis, il a joué alors Rivas, Lima, Arsu, Meji, David, Nano. J'ai vu que des chèvres avec lui. Alors une fois je joue avec un joueur qui a un minimum de ballon, je pense que ça peut faire que du bien. Et puis Juanito, moi je persiste à dire, c'est un vrai patron de défense. Il a vraiment joué avec des pins en défense. Hein. Donc moi je pense que c'est la meilleure recrue, surtout qu'ils le prennent
libre.
Ils le prennent libre. Et Juanito, c'est pas un mec qui a pour réputation d'aimer l'argent. Donc il a pas non plus dû signer un contrat faramineux. Je le vois mal dépasser le 1,5 million d'euros par an, par exemple. Donc voilà, moi je pense que c'est une superbe recrue. Et puis l'autre belle recrue, c'est Roberto Jiménez. Alors je sais pas si ceux qui suivent la Liga le connaissent ou pas, mais c'était le jeune gardien de Recreativo Huelva, qui était aussi connu pour être le remplaçant de Sergio Asenjo. Donc là il se retrouve avec les deux gardiens de l'équipe moins de 21 ans, qui a joué la dernière Coupe d'Europe. Donc voilà, autant vous dire qu'en défense, ils sont très bien armés. Honnêtement, ils paraissent même très très bien armés. Moi, je pense que c'est un superbe joueur. Il a été formé au club. Je ne sais pas s'il avait été prêté en fait ou vendu au Recreativo, parce que je sais qu'il faisait partie de l'opération Cinema Pongol. Et puis en Espagne, comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours cette clause de recompra, donc de rachat. Ouais. Et puis ils l'ont activé, ils l'ont récupéré pour 1,5 million d'euros. C'est pour moi aussi un superbe joueur, c'est un superbe gardien. Il a 21 ans, quoi. Il a 22 ans, pardon. Il a tout l'avenir devant lui.
Sauf s'il est bloqué par Asenjo.
C'est le gros souci. Mais bon, je pense que justement, faire jouer deux joueurs comme ça, qui se connaissent, j'imagine qu'ils doivent s'apprécier un minimum.
Ouais.
Donc, je pense que c'est une superbe doublette, hein, comme tu parlais tout à l'heure toi de la doublette de côté gauche. Moi, la doublette des gardiens de l'Atlético Madrid me plaît énormément. Donc voilà, je pense que là c'est pareil. Hein. Est-ce qu'on fait un petit passage sur Reyes ou pas? Non.
Non.
Sans opinion.
Non. Par contre, faudra voir aussi avec les retours des deux joueurs prêtés à Mallorca. Qui ont fait une bonne saison malgré les difficultés du club pour se maintenir.
Surtout Rolando.
Il a été très très bon. Faudra voir si Abel Resino arrive à l'intégrer dans l'effectif. Kleber Santana.
L'avantage pour ces deux joueurs-là, c'est que au milieu de terrain maintenant il y a moins de joueurs. Il y a Manish qui est parti, même s'il ne jouait plus sur les derniers matchs. Asun Sao, je crois qu'il est plus trop en odeur de sainteté, hein, depuis son craquage, après l'histoire Porto, il expliquait qu'il est parti parce qu'il pleurait, bref, c'est un délire. Mais par contre, Kleber Santana, je suis pas sûr, mais je pense qu'il va pas rester. Franchement, ouais. Je vois pas du tout rester.
Il a déjà signé à International, je pense.
Quoi ?
Il a déjà signé à
International. Ah bon ? Moi j'avais entendu qu'il était en négociation, mais alors si tu dis qu'il a signé, on n'a pas de raison de pas te croire. Hein.
C'est Sky Sport.
D'accord, apparemment il a signé. Hein. moi je t'avoue qu'honnêtement, j'ai absolument pas vu qu'il avait déjà signé, mais si tu le dis, bon, je pense que tu as tes sources. Mais bon, hein, vu que tes sources n'étaient pas au courant du transfert de. Ah non, mais c'est une boutade. Moi de toute façon, je le vois, de toute façon, je pense pas qu'il va rester. Hein. Mais bon, si tu dis que. Si tu dis que voilà, il est parti, ce serait pas forcément une surprise. Mais bon, l'avantage, le gros point fort de l'Atlético Madrid reste son attaque, le meilleur doublé d'Europe, quoi. Meilleur, pas doublé, mais le meilleur duo plutôt d'Europe. Forlan, si vous venez de mars, là c'est pareil, hein, c'est le soulier d'or pour la deuxième fois, hein. Nono, là on se fait plaisir.
Ouais.
Meilleur buteur de l'histoire de Villarreal en première division, ça aussi c'est cadeau. non, mais voilà, c'est actuellement un des meilleurs attaquants du monde. Agüero, on n'en parle même pas, vu que, bon, maintenant, hein, il y a toutes des posters taille nature d'un mètre vingt qui se vendent partout.
D'ailleurs, non, ouais, très bon, le Pana. Ils ont été très bons, le Pana.
Ouais, ils ont marqué tous les deux, d'ailleurs. Avec Maxi Rodriguez, donc pareil, qui devrait rester. Et ça, je crois que ça doit couper court à la rumeur Mathieu Valbuena. C'est tout le mal que je leur espère, quoi, parce que bon, une équipe présenté, comme.
Présenté par l'équipe comme le remplaçant d'Agüero, quand même.
Tout à fait, hein, parce que évidemment, il a des qualités terribles. Non, mais bon, parce qu'un club comme l'Atlético Madrid n'a pas besoin d'aller chercher une petite chèvre en France, quoi. À la limite, s'ils veulent chercher des chèvres, il y en a plein en Espagne, hein, il y a pas. Si vous voulez, on peut leur vendre trois de mâts du Bétis. non, mais je pense que voilà, là, c'est parfait. On va enchaîner sur. Bon, alors, tu préfères passer tout de suite à Valencia ou tu préfères faire Villarreal tout de suite, faire ton petit kiff?
Ah, comme tu veux, comme tu le sens.
On va se faire un kiff sur la fin, donc on va enchaîner avec Valencia. Ouais, allez. Alors, là, c'est pareil, je redonne rapidement les transferts. Retour de prêt de Suni, Belvis, Zidic, Banega, Alba, Navarro, Montoro, Regueiro. Achat de Moya, Mathieu, Bruno Sartor et Dilbert. Enfin, Dilbert ou Delbert, je ne sais absolument pas comment
on dit. De Albert, je ne sais pas.
De Albert, ouais, De Albert plutôt, de Castellón. Et puis les départs, bon, évidemment, de Raúl Albiol, Curro Torres, Morientes, Butel, Lomban, Belvis qui est prêté au Tenerife, Edu qui part au Corinthians, Suni prêté au Betis, Renan Axeres, Montoro à Real Unión et Banega à Everton. Donc voilà, on a enfin. J'ai pris le lien que tu m'as passé, donc sur ouais. sport.fr, vous pouvez le voir. Il le donne déjà parti plutôt à Everton. Donc évidemment, du côté de Valencia, on s'attendait à un mercato très mouvementé avec les départs qui étaient donnés à 100% de David Silva, de Mata et de Villa. Au final, aucun d'entre eux est parti. Et puis, là où on les attendait peut-être un peu moins bon, franchement, ils ont fait un très bon recrutement, je trouve aussi. Alors, De Albert, bon, c'est un joueur de deuxième division, donc c'est pas forcément le meilleur du monde. Mais par contre, les trois autres joueurs, alors que ce soit Moya, qui est un gardien monstrueux, mais franchement monstrueux, qui était le gardien de Mallorca. Et si Mallorca reste en première division, je pense qu'ils le doivent en grande partie à ses performances. C'est un joueur très très jeune, énorme potentiel. Toi, je sais qu'il te plaît beaucoup, ce joueur-là.
Qui c'est, à moi?
Oui, on en a parlé plusieurs fois.
Ah ouais, bah oui, oui. Un très bon
avec Asensio et lui, c'est les très bons jeunes qui est actuellement en Espagne à ce poste-là, avec aussi Roberto Jiménez.
L'avenir des grands gardiens espagnols.
L'avenir, ouais. Je pense honnêtement que ça va jouer entre ceux-là pour
la sélection.
Numéro 1, je pense pas, parce que Casillas c'est encore jeune, il va encore être là pour 10 ans, il va les faire chier encore long. Mais non, sinon. Et puis, évidemment, Jérémy Mathieu, pour moi, c'est une inconnue. Comment les clubs français ont pu laisser Jérémy Mathieu? Comment Lyon a pu acheter Sissoko 15 millions et laisser Jérémy Mathieu? Là, c'est toujours la plus inconnue. Et Bruno Sartor, alors je sais pas si vous le connaissez ou pas. Sonny, je pense que tu vas avoir une petite idée sur le joueur.
Oui, bah d'ailleurs, Villarreal avait failli le recruter aussi.
Le Barça.
Donc voilà, si tu veux le présenter un petit peu, ou tu préfères que je le fasse moi.
Bah vas-y, tu connais sûrement mieux que moi.
Oui, peut-être. Donc il faut savoir que c'est un joueur qui a été courtisé par la moitié de l'Espagne. À la surprise générale, il avait choisi le Betis dans un premier temps. Après, bon. Faut dire que Pegasa, l'entreprise de Manuel Ruiz de l'Opera, avait mis des fonds en sous-marin, comme il le fait tout le temps. Donc c'est pour ça qu'au Betis, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des joueurs comme ça qui finalement refusent de signer, comme on a pu le voir ce mercato aussi. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Et puis, il avait une clause de. En fait, c'était un contrat qui était effectif seulement si le Betis se maintient. Évidemment, ils ne sont pas maintenus. Donc, ben, il a choisi Valencia. Le Barça le voulait. Le Real Madrid le voulait. Valence, Villarreal. Mais finalement, il a signé à Valencia. C'est franchement une superbe recrue parce que je pense que la défense de Valencia, c'était pas terrible, même s'ils ont de bons joueurs. Donc là, c'est un peu pareil. Je crois que j'ai posé la question toute la soirée, je la repose encore. Comment vous voyez la saison de Valencia comme ça?
Je pense qu'ils sont... déjà, la pré-saison, elle a été vraiment correcte. Du fait aussi qu'ils étaient peut-être un peu préparés à voir Silva ou Villa partir, ça va leur donner un gros plus en motivation. Et déjà qu'ils avaient été corrects la saison dernière, là ils font un recrutement intelligent, sans vraiment dépenser les 18 millions par-ci par-là des années précédentes.
Ça c'est. D'ailleurs, je vois dans la balance des transferts, c'est un des seuls clubs qui a une balance largement positive. C'est plus 8 millions et demi.
Voilà, ils n'avaient pas vraiment le choix en fait. En plus, tout ça rien qu'avec le transfert de Raúl Albiol.
Ils ont vendu que Albiol en fait.
Ouais.
Les autres, c'est soit fin de contrat, soit prêté, donc ils ont économisé sur les gros salaires, comme par exemple Edu qui avait un super salaire. Bon, Butel, je sais pas s'ils l'ont vraiment vendu. Ils l'ont vendu ou ils l'ont laissé libre à Lille.
Si, je crois qu'il était. Ils l'ont laissé, il était prêté, je crois. Et...
Je pense qu'il y avait, moi, je pensais qu'il y avait option d'achat, en fait, tout simplement.
Ouais, il devait pas être élevé non plus.
Sunny, je sais que c'est un prépayant. Il a été prêté au Betis avec option d'achat à 3-4 millions, il me semble. Morientes, c'est aussi un gros salaire. Bon, après les autres, pas forcément. Bah, les gars, je me doute qu'ils n'ont pas prêté à Everton gratuitement. Ça doit être un prépayant. Donc, je pense qu'ils sont quand même assez bien renforcés par rapport à ce qu'ils avaient. Regueiro, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un international uruguayen.
Ça qui fait a un moment qu'il est là.
Ouais, mais il a été prêté à Larissa Lonic. Il a été prêté, je crois, 30 fois. C'est un mec qui a énormément déçu. Moi, je le trouvais extrêmement bon quand il était à Santander. Et puis, bon, là, il n'a pas marché à Valencia. Ils l'ont prêté à Murcia. Ils l'ont prêté à Salonique. Je ne sais pas si cette année, il va jouer ou c'est juste encore une fois... ou juste, il va faire tapisserie, quoi.
Ouais.
Voilà. Et puis, donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent... est-ce que ça va être compliqué pour eux ou pas d'aller en Ligue des Champions
Bah, ça sera compliqué vu le nombre d'équipes qui va batailler pour les 4 places. Mmh. Mais je pense qu'ils
ont les moyens. Est-ce que par rapport aux équipes qui vont jouer la Ligue des Champions, bon, alors le Real et le Barça, on n'en parle pas, c'est assuré. Ouais. On va se retrouver donc avec. Ou plutôt, je vais poser cette question un petit peu après, vu que comme on va plutôt enchaîner sur Villarreal pour ensuite, une fois qu'on aura dressé tout le panorama de ces équipes qui jouent la Ligue des Champions, on pourra en parler peut-être avec tous les éléments en main. Donc, Villarreal, pour le coup, je vais te laisser annoncer les recrues. C'est top.
Alors, bon, niveau des recrues, il y a eu Xavi Oliva de Castellón qui est arrivé libre. Marcano de Santander, un très bon jeune défenseur latéral ou central. Et l'arrivée de Neymar, c'est le gros transfert de Villarreal. La plus grosse somme dépensée même pour un joueur. Puis après, c'est des retours de prêt de Jonathan Pereira, un très bon jeune qui était prêté à Santander. Puis les retours de Marcos, Altidor, Somoza, Marco Rubén et Escudero.
Et puis l'arrivée. Gros potentiel aussi, Escudero.
Ouais, bah d'ailleurs, il est gardé là pour cette saison, dans l'équipe première.
Bien Damien Escudero qui jouait où en Argentine? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus.
Attends, je crois que c'était un club au scapulaire.
Ils seront bien à Bordeaux?
Ah oui, tu connais bien le championnat argentin.
Non, évidemment, c'est une blague si je jouais avec les Sarsfield. Qui est tout simplement mon club de cœur. Donc, ça me faisait plaisir d'en reparler.
Puis aussi, retour de David Fuster, qui a été transféré à Elche il y a quelques saisons, et qui a été acheté avec l'option de recompra, comme tu l'as déjà annoncé plus tôt avec d'autres joueurs, pour 400 000 euros. Puis, niveau départ, il y a eu Guy Franco qui a été...
C'est un vrai déchirement pour toi, dis-le.
Ouais, gentiment laissé libre.
Tu peux en parler. Et puis, il y a surtout un énorme déchirement.
Ah oui, il y a Pascal Zinedine Zidane qui a été laissé libre et qui a finalement signé à Cartagena en Segunda. Et puis, Altidor qui a été prêté en Angleterre à Hull City. Après, il reste aussi un autre déchirement, mais d'une autre façon, avec César Arso qui a signé à Valladolid. Et Marcos aussi. Puis après, les deux,
toi, tu t'en fous.
Les deux joueurs qu'on attendait peut-être plus, comme Mati Fernandez et Niat. Bon, Mati Fernandez, il a jamais vraiment pu exprimer tout son potentiel, on sait pas vraiment pourquoi. Et Niat, lui, il a été.
Oh, on sait quand même, on a une petite idée quand même, hein. Ouais. C'est une sorte de Ben Arfa un peu plus évolué, il aime beaucoup tourner autour de lui-même avec le ballon.
Voilà, exactement. Et puis Niad, bah, il a été pourri par les blessures. Quoi. Il a vraiment pas eu de chance. Quasiment une année blanche la saison passée.
C'est dommage parce qu'il a quand même fait une saison, enfin même deux saisons extraordinaires avec, avec Villarreal. C'était la fameuse association dont on parlera pendant 30 ans.
Hein. Avec Kovacic. Non.
Oui, bien sûr, tout à fait.
D'accord.
Non, mais donc Marcano, tu en as parlé rapidement, c'est un très 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 bon joueur qui peut jouer côté gauche ou dans l'axe.
Il sera là pour faire tourner
et puis il va renforcer un poste qui avait vraiment besoin de renfort, parce que non pas à cause d'un problème de niveau de joueur, mais parce que c'est tout simplement le plus gros blessé du monde, hein. Le fameux Gonçalo Rodríguez, qui est tout le temps blessé.
Oh là, il commence à tenir le coup, je trouve.
Là, ouais, mais le problème, c'est que lui, quand il joue 4 matchs de suite, on dit qu'il tient, tu vois. Je pense que...
Non, mais là, il a été blessé peut-être un ou deux mois en début d'année, mais là, pour le moment, il tient le coup. Je croise les doigts, mais ça va.
Il s'est fait deux fois les ligaments.
Ouais, deux fois, quasiment coup sur coup, en plus. Puis, bah, sinon, ça sera surtout pour... combler le couloir gauche où il y avait juste Capdevila. Pellegrini a dû assurer avec Bruno dans le couloir gauche alors qu'il est milieu défensif de formation. Et puis aussi la première recrue, ça devait être Ernesto Valverde au niveau de l'entraîneur, vu qu'il a fallu faire un gros changement de cap avec le départ de Pellegrini. Apparemment, il est parti poursuivre la même ligne de conduite que son prédécesseur, avec un peu plus d'agressivité au niveau du milieu. Avec le retour de Senna, il aura plus de facilité pour imposer ça déjà. Maintenant, faudra voir si tout ça confirme la pré-saison correcte.
Voilà, donc maintenant qu'on a donné un peu plus d'éléments, que vous suivez la Liga ou pas, quelles sont parmi ces quatre équipes-là, donc Atlético Madrid, Valencia, Villarreal et Sevilla, quelle est l'équipe, toi, on va commencer par toi, Sonigo, là, quelles sont les deux équipes qui te paraissent les mieux armées pour,
Je dirais bien...
Le cerveau, hein, on parle du cerveau, pas le...
le cerveau, il va dire Villarreal, déjà, vu que ça a bien renforcé l'attaque, déjà, Neymar, il s'entend très bien avec Rossi, de ce qu'on a vu en pré-saison, et même avec les play-offs d'Europa League.
Vu qu'ils ont déchiré la Juve à train, je pense que ça a bien motivé tout le monde. Ça,
ouais, ça joue beaucoup en déviation dans la surface entre les deux, avec Neymar qui fait des talonnades à droite ou à gauche dans la course de Rossi. Après, ça a gardé surtout les très bons éléments comme Cazorla ou Senna. Et puis la défense, elle se connaît depuis assez longtemps. Godín Gonzalo derrière, c'est vraiment solide. À droite, ça peut peut-être être un point faible. Mais bon, les joueurs comme Javi Venta donnent vraiment tout ce qu'ils ont quand ils jouent les matchs. Et puis Diego Lopez dans les buts, c'est vraiment très 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 solide.
C'est le meilleur gardien de la saison en Espagne, hein, faut le dire.
Ouais, je te laisse le dire, ça fait plaisir d'entendre.
Non, mais... Alors, toi, Ali, je sais que toi, tu aimes bien la Liga, donc comment tu vois, toi, les choses?
Bon, personnellement, je dirais Villarreal, pour les raisons.
C'est bien. Hein.
Bon, déjà, ils ont gardé les bases, comme ça a été dit. Et ils ont récupéré Jonathan Pereira et Milmar, donc c'est très bon joueur. Et Jonathan Pereira, je le sens, une Cazorla aussi.
Ouais, Pereira, très bon.
D'accord, et puis les autres, hein, Elvesia, Lil White qu'on a entendu aussi, est-ce que vous avez des avis?
Personnellement, je vois bien Villarreal, voilà, je vais pouvoir être original, je vois bien Villarreal, déjà par le jeu qu'ils proposent, je pense qu'ils vont mettre un peu le bazar dans beaucoup de défenses espagnoles, et puis je vois bien l'Atlético, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait... autant preuve de stabilité à mon goût, donc je vois bien l'Atlético Madrid également.
marche. Ouais, moi plutôt Villarreal, Atlético et Séville un cran derrière peut-être, mais Villarreal, je vois un peu mieux quand même que l'Atlético et dans le même paquet Séville. Mais...
Alors moi pour le coup, je suis pas trop d'accord avec vous, je vois Séville en 3. Assez nettement, tout simplement parce qu'ils ont l'arbitre derrière eux, ça risque pas de changer. Et puis si en plus ils font un superbe recrutement, forcément ça c'est pas prêt de changer pour eux. Donc voilà, moi je vois ça. Et puis en troisième, je dirais, bon, il y a le cœur qui me fait dire Villarreal, mais je vois plutôt l'Atlético parce que ils ont Diego Forlán, et ce Diego Forlán, c'est pas n'importe qui.
Meilleur attaquant
de la saison en Espagne. Hein. C'est peut-être pas le meilleur attaquant du monde, mais...
Le plus complet, en tout cas.
On va dire le meilleur attaquant du monde dans ton cœur, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que ça te plaît, cette expression-là ?
Oui, ça me touche. Voilà. Ça me touche.
Ça te touche beaucoup. Et puis, les autres, est-ce que vous avez un avis ? Non, pas, tu sais pas, peut-être ?
On s'en fout.
Non, on s'en fout. Oui, ben, donc voilà, je crois que... On a fait 1h30 sur la Liga, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, ben, on se retrouve dans quelques minutes. On va mettre juste une petite chanson entre temps, un petit son. Bon, allez, je vais me refaire plaisir. Je vais mettre Super Submarina, le groupe de mon pote. Hein. Et puis, on se retrouve dans 3 minutes avec la Serie A et la Liga. La soirée du dimanche soir, hein. Votre nouveau rendez-vous du week-end. Donc, on va commencer tout d'abord par remercier Ali et Sonny Gaulle qui vont nous laisser.
Bah, merci à vous et bonne soirée nuit.
Et toi, Ali, tu dis pas merci. Donc, bah, franchement, on vous remercie et comme je vous l'ai dit à maintes reprises, hein, c'est quand vous voulez. Si vous un jour vous avez envie de mettre un coup de gueule sur un joueur, ou vous avez envie de sucer Canavaro, vous savez où nous joindre, et puis on est ravis de vous avoir.
Ah bah, pas de problème.
Et puis donc on va enchaîner avec la partie Serie A avant de conclure avec la partie Ligue 1, donc je vais laisser notre petit Suisse à nous, Helvetia, mener le débat. Donc c'est à toi, Helvetia.
Donc la Serie A qui a repris hier soir, avec en anticipé deux matchs, a commencé par un Bologne Fiorentina qui s'est terminé sur le score de 1 partout, avec des buts pour le Bologne de Osvaldo et pour la Fiorentina de Moutou. Ensuite, hier soir, il y avait également le Milan qui rentre en scène du côté de Siena, et le Milan qui s'impose grâce à un doublé de Pato contre un but de Gezal. Aujourd'hui, à 18h, l'Inter ouvrait les matchs du jour avec en recevant le néo promu Bari, avec Eto qui a marqué sur penalty et Kutuzov qui lui a répondu. La Sampdoria se déplaçait du côté de Catania, Pazzini ouvre le score, Morimoto égalise, et dans le quatrième, alors que le Catania est à 10 contre 11, Gastaldello sur une tête suite à un corner peut donner la victoire à la Samp. Ensuite, dans ce qui pouvait être la plus grosse affiche de la journée entre Genoa et l'AS Roma, le Genoa qui ouvrait le score par Crescito, Tadei qui répondait extrêmement vite, Totti qui pouvait doubler la mise pour la Roma, Zapater qui égalisait grâce à un énorme coup franc, et enfin Biava qui concluait la marque à la 83e minute. La Juventus, quant à elle, un des gros favoris de cette Serie A, gagne sur le score de 1-0 grâce à un but de Iaquinta à la 12e minute. La Lazio, elle, qui vient de tout juste de remporter la Supercoupe d'Italie, s'impose 1-0 grâce à Tommaso Rocchi. Livorno Cagliari se quitte sur un nul 0-0. Dans l'autre match attendu de la journée, qui était Palermo-Napoli, le Palermo s'impose 2-1 grâce à un but de Cavani et un penalty de Miccoli contre un but d'Amsic. Et enfin, Udinese, qui recevait Parma, le néo-promu également, de Paloschi et Lucarelli ont marqué pour Parma, mais Di Natale sur penalty puis sur un superbe but pouvait égaliser par deux fois. Et donc Udinese Parma, ça finit sur un score de 2-2. Maintenant, on va peut-être revenir sur quelques matchs en particulier, à commencer pourquoi pas par justement un de ses gros favoris de championnat qui est la Juventus. La Juventus qui a fait un recrutement vraiment pour retrouver le Scudetto et qui a recruté donc des joueurs comme Diego, comme maintenant j'ai un blanc.
Felipe Melo, Cannavaro.
Merci, voilà. Diego. Felipe Melo, Cannavaro. Voilà. Donc qui a vraiment formé un effectif pour retrouver le tout haut du tableau. Et donc la Juventus qui veut vraiment retrouver ce Scudetto qu'il a quitté il y a de ça maintenant près de 5 ans, en retournant d'abord par la Serie B, puis en revenant et pour deux fois de suite troisième championnat, deuxième ensuite. La Juventus qui mise sur un entraîneur du cru Juventus qui est Tiro Ferrara, qui avait déjà fini la saison l'année passée en remplaçant de Claudio Ranieri et qui aujourd'hui est en train de bâtir une petite équipe qui peut vraiment aller très haut qui vise notamment un très bon résultat en championnat d'Italie mais également en Champions League et c'est peut-être un des gros favoris italiens voire européens si on veut en croire les dires des divers dirigeants voire entraîneurs de la Juventus. Donc on va laisser par exemple un supporter avoué de Bianconeri qui est Marvolo en dire un peu plus sur cette équipe.
Oui, donc je suis en direct de la Deuxième Guerre mondiale avec tout plein de pétards autour de moi. Comme tu l'as dit, il y a eu un bon recrutement. Outre les trois noms que j'avais dit, il y avait aussi Martin Caceres qui arrivait en prêt, que j'avais oublié. Aujourd'hui, la Juve va jouer quasiment avec une équipe B, en fait. Bon, alors je vous donne rapidement l'équipe type aujourd'hui. Enfin, pas l'équipe type, mais plutôt l'équipe de départ aujourd'hui. Ça donnait Buffon, Salihamidžić, Chiellini, Cannavaro, Grigera, Poulsen, Marchisio, Thiago, Diego, Iaquinta, Mauri. Pas de Molinaro, pas de Zebina, pas de Felipe Melo, ni Sissoko et encore moins de Piero. Donc il y avait du monde absent. Camoranesi aussi qui peut prétendre à une place, même si ça va être plus compliqué pour lui, vu que la Juve a décidé de jouer avec le fameux losange qui revient à la mode cette année. Donc voilà, la Juve cette année, ils misent en fait plus sur la solidité, ce qui ne m'emballe pas spécialement. Alors évidemment, là, je crois que je vais mourir avec les bruits là qui est autour de moi. Mais non, c'est pas franchement une équipe de la Juve qui me séduit. Alors certes, elle est plus solide parce que au milieu de terrain, Marchisio, Felipe Melo, Sissoko, c'est limite un gilet pare-balles. Mais le problème, c'est que bon, ça manque de percussion, percussion plutôt.
Tu joues à Call of Duty ou quoi?
J'ai énormément de mal à
me concentrer.
Je sais pas, apparemment c'est Ashura ou un truc comme ça, je sais pas, c'est la fête des Canaries, c'est une grande surprise pour moi, franchement. j'arrive pas à me concentrer du coup. Le problème c'est qu'en fait on va demander une plus grande participation des latéraux, mais quand on connaît la qualité de centre d'un Molinaro par exemple, qui est c'est un petit Rinzebis quoi, hein, qui est incapable de centrer. Je pense qu'il a fait deux bons centres en une saison, quoi. Donc c'est pas terrible.
Normalement, ça doit être Deschelier qui doit.
Deschelier, je pense pas qu'il va être vice. Non, je pense qu'en fait, si tu veux, après Billy me corrige ou pas. Bah, moi, d'après ce que j'ai compris, il y a Grosso qui devrait arriver. Molinaro deviendrait deuxième choix. Et Deschelier, on va plutôt l'utiliser en vice Marquisieux, donc milieu de terrain, axe gauche. Moi c'est ce que j'entends.
Il joue à ce poste, il a fait tout l'Euro espoir en fait, Deschelier à ce poste.
Et puis comme il a vraiment plu, je pense
ouais,
pas
exactement.
Que
ça...
Voilà.
Marvolo, t'en penses quoi de la rumeur Rafinha à la Juventus?
Rafinha, le problème c'est que moi il m'a jamais plu pareil. Il y a plein de joueurs comme ça, alors je suis très exigeant.
Tu sais qui me rappelle Rafinha? Il me rappelle les Dédé et Van Nilsson, le genre derrière latéraux que tu trouves en Allemagne.
Dédé, c'est ça, ouais, celui de Dortmund, pareil.
Voilà, ouais.
Et qui réussissent pas spécialement à la Juve. Bon, après, le problème, c'est que les joueurs brésiliens à la Juve, c'est pas franchement une réussite. le dernier latéral brésilien qu'on a eu, c'était Acherson.
J'allais le citer.
Est-ce qu'il a vraiment laissé un souvenir aux supporters de la Juve? Bof. Alors moi, non. Moi, je suis partisan toujours de recruter des joueurs confirmés ou alors prendre vraiment des bombes défensives. Mais moi, je suis pas sûr que Rafinha, ce soit déjà une bombe. En parlant de bombe, là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Voilà. Sinon, ben, sur le banc de touche, je pense que la Juve, comme tu disais, c'est une des équipes les plus fortes sur le papier hein, cette année. Sur le banc touche, on va avoir des Chelier, qui est pas, peut-être pas très connu en Europe, mais qui est, enfin, qui est un bon petit jeune. Giovinco, Camoranesi, Trezeguet, Malinger qui a fait une belle pré-saison et que moi personnellement je trouve jamais jamais mauvais, même si c'est pas non plus un génie. Martin Caceres.
On l'avait, pas fait, hein, pendant la blessure de Buffon.
Moi, je l'ai trouvé bon, franchement. J'ai trouvé bon, Malinger. Mais après, moi, franchement, je trouve bon. Pour une doublure, ça vaut pas. Ça sert à rien d'aller prendre. Pardon ?
C'est une bonne doublure. C'est.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est même plus qu'une bonne doublure, quoi. Pour un petit club, avoir Malinger, ou même un club qui vise mieux de tableau, c'est un bon recrutement. Donc là, c'est. Maintenant, le problème, c'est que je le dis toujours, la participation du. Enfin, le jeu va passer trop par là, dans l'axe. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein, tout de suite, les milieux de terrain essaient de donner le ballon à Diego, qui est un des seuls capables de débloquer le match. D'ailleurs, c'est lui qui met le ballon sur. C'est un coup franc excentré qui met le ballon à Yacuinta. C'est lui qui tape sur le poteau lors des dernières minutes. Et puis, la Juve a quand même beaucoup souffert en fin de match. Après, honnêtement. Je m'inquiète pas plus que ça parce que, comme je l'ai dit, c'est quasiment l'équipe B de la Juve.
Par contre, tu devrais t'inquiéter pour autre chose, à mon avis. Derrière toi, tu devrais t'inquiéter pour une autre chose, peut-être. Derrière toi,
j'entends pas ce que tu dis.
Ça m'étonne pas. Derrière toi, ça commence à devenir très très chaud, là.
Non, là, ça fait peur, limite, hein, franchement. Non, mais voilà, quoi, je pense que c'est pas terrible. Il manquait un peu de participation dans les ailes. Salihamidžić. Je le préfère quand même au milieu de terrain, même si à la Juve il a été meilleur en latéral. C'est dommage qu'on ait raté Kelechito qui est resté finalement au Genoa. Mais bon, voilà, moi je pense que ça va être une équipe très 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 difficile à battre, la Juve. Bon, après, sur le match en lui-même, c'est pas spécialement inquiétant parce que c'est un peu. Oh, là, ça fait vraiment peur. Là. C'est un premier match de la saison. En fait, ça m'inquiète tellement que j'ai du mal à finir même mes phrases, tu vois. Donc, je vais essayer de me faire un effort surhumain. Non, voilà, c'est la première journée. C'est toujours bon de gagner. Chievo, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est quand même une équipe pas spécialement facile à battre. Et voilà, on va pas faire la fine bouche tout de suite. On se rappelle que l'an passé aussi, on avait fait match nul à cause d'un triplé de Pélissier, qui est international italien, je pense, depuis quelques temps.
Non, ouais, non.
Vite fait.
Ouais, voilà, au mois de juin, il a eu sa première sélection.
Voilà, vite fait.
Il a marqué d'ailleurs.
Pour l'Irlande du Nord, quand il faut avoir un match amical avant la Coupe de Fédération.
Et puis, voilà, je pense que. Après, je ne sais pas si Ferrara voulait le faire comme ça, mais j'ai un peu eu l'impression qu'il voulait mettre les joueurs qui étaient sur le départ, histoire de les vendre, parce que Poulsen, Thiago, avoir les deux d'un coup, c'est un peu rude, quoi. Même si Sissoko est blessé, on sait qu'il a des problèmes aux adducteurs. Apparemment, il y a eu une
rechute. Au pied.
Au pied, pardon, il a une rechute pendant la pré-saison. Moi, j'aurais peut-être voulu voir Camoranesi un peu plus, mais bon, ça. Franchement, pour une première journée, ça reste un bon résultat.
Non, bah, franchement, bah, c'est ce qu'il fallait pour se mettre en route tranquillement. Après, la semaine prochaine, ça faudra peut-être confirmer ça parce que c'est comme la Roma qui se présente face à eux. Mais ça commence tranquillement. Le championnat d'Italie va être tronqué comme tous les championnats de quasiment deux semaines après la prochaine journée. Donc finalement les deux premières journées elles sont presque anecdotiques puisque jusqu'après le tout peut repartir autrement.
Mais enfin, je sais pas si c'est bon de voter, mais j'ai vu cette saison. Comment ça se fait que dès la deuxième journée, on se retrouve avec des affiches aussi grosses, quoi.
Ouais, c'est-à-dire
alors
que...
Alors ça, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur.
Ouais. Parce que... ouais, l'ordinateur qui aurait programmé sur la même journée Milan Inter et Roma Juve.
Ah bah... Les
Fiorentina Palermo, tu sais, c'est fou.
À l'époque, tu vois, il y avait des têtes de série et qui faisaient que pendant les genre, 5 premières journées, je crois, non, peut-être un peu moins, les 6 meilleurs du dernier championnat ne pouvaient pas se rencontrer.
Mais enfin, tu me dis ça, mais je te rappelle que la Juve, dans les 5-6 premières journées, ils vont jouer la Lazio, ils vont jouer le Genoa.
C'est fini, ensuite, ça, c'est fini maintenant.
Mais non, je te parle de cette année.
Ouais, non, mais c'est fini. En fait, c'était avant, c'était on évitait qu'il y ait des gros matchs les premières journées, les 3-4 premières journées. Et maintenant, c'est terminé. Et du coup, alors, bien sûr, bien sûr, la deuxième journée, on a deux gros matchs, bah, les 4 meilleures équipes qui s'affrontent. Mais voilà, Inter Milan, c'était impossible dès la deuxième journée.
Non, mais je dis ça parce qu'en fait, je t'ai dit, la Juve, elle a joué aujourd'hui le Chievo. Elle va se déplacer deux fois à Rome pour jouer la Roma et la Lazio. Puis ensuite, c'est Livorno. Ils se déplacent à Genoa, ils reçoivent Bologne. Je crois que c'est blindé. Puis Palermo, tu vois. Et puis la Fiorentina après. Je sais pas si tu as vu le jusqu'à la 8e journée, ils vont jouer quasiment tout le monde à part le Milan et l'Inter. C'est monstrueux.
Ouais, mais faut se dire que pendant 10 matchs après, ils joueront au Sienne, Catania, Livorno, Bari, non?
Après, tu me diras que c'est peut-être une conséquence du recrutement des clubs italiens, ça. Bon, on en reparlera sûrement plus tard.
Ouais, non,
cette verra. Année, c'est très costaud le recrutement. Hein.
Après, ouais, je sais pas si tu voulais finir, mais sinon, on peut aborder peut-être 2-3 autres matchs, notamment le Genoa Roma que toi t'as vu, Billy.
Ouais. D'un point de vue extérieur, parce que quand tu supportes aucune des équipes, c'était franchement un super match. D'ailleurs, on s'y attendait parce que, bon, d'une, c'était le choc. C'est clair, c'est deux équipes qui luttent minimum pour une qualif en Europa League. Et la Champions League, voire le Scudetto pour la Roma. Et puis ces deux équipes qui sont en pleine forme expriment le meilleur football en Italie, tout simplement. Et on s'attendait à un beau match. Et alors c'est pas facile la première journée de championnat avec une grosse préparation dans les jambes de sortir direct un beau match. Et j'ai franchement pas été déçu. Et il y a eu des retournements en situation. Le Genoa a ouvert le score. La Roma égalise et ensuite prend l'avantage. Et puis en quart d'heure, le Genoa égalise derrière et en fin de match marque le but de la victoire. C'était vraiment
un super coup franc de Zapata. Hein,
ouais, tout à fait. Bah d'ailleurs, j'aimerais bien que Marvelo nous touche 2-3 mots sur ce joueur.
Ben, pour moi, Zapata, ça fait partie d'un des meilleurs défenseurs de sa génération, avec bon, évidemment Piqué, Garay, bon, à la limite Cricito, même si maintenant il est passé dans.
Il a joué milieu défensif, Zapata, donc.
Ah bon?
Ah oui.
Ça, pour le coup, je t'avoue que c'est une surprise parce que je l'ai quasiment jamais vu jouer à ce poste.
Pour jouer à ce poste et remplacer Thiago Motta, plus ou moins.
Ah, c'est très surprenant. L'avantage, si tu veux, des joueurs d'âme sud, c'est qu'on l'a vu souvent. Ils sont tout le temps capables de jouer 4-5 postes.
On parle bien de Zapata, hein.
J'ai entendu Zapata. Non, Zapata. Oui, d'accord. Ah oui, pardon. Alors, excusez-moi si j'ai de la confusion. Zapata, Albert Zapata, c'est le international espoir
espagnol. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir s'il est international, ce joueur.
Non, il est international espoir. Alors, je sais pas s'il est déjà dans ce qu'on appelle l'absoluta, donc c'est là. Mais c'est un superbe joueur. C'est un joueur que, par exemple, la Furia Roja a passé quasiment toute l'année à encenser et toute l'année se poser la question pourquoi il n'y a personne qui va le chercher. À combien l'a pris le Genoa? C'est 4,5 ou 5 millions, il me semble.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, je pense que tout est dit. Pourquoi les clubs espagnols ne sont pas allés chercher ce joueur-là? Moi, je te le dis, c'est un putain de joueur. Le problème, c'est que voilà, comme il était dans l'équipe de Saragossa qui est descendu, il a peut-être eu la côte qui est un petit peu descendue, forcément. L'année dernière, en Segunda, il n'a pas été aussi bon que d'habitude. Mais moi, je pense que dans l'absolu, il a le niveau pour jouer en équipe d'Espagne. Donc, évidemment, pour moi, c'est une super recrue.
Ah, donc, c'est lui qui a été recruté pour remplacer numériquement Thiago Motta et aussi sur le terrain. Mmh. Et devant, à la place de Milito, on a choisi ni plus ni moins que Hernan Crespo, qui a pas marqué, mais qui a 35 ans encore, on va dire au moins une bonne saison devant lui. Je vais revenir un peu sur le recrutement du Genoa. C'est Flo Cari qui a été acheté 12-13 millions d'euros à l'Atalanta.
Je sens que tu vas encore me solliciter dans quelques secondes.
C'est donc, attends, je me remets le truc sous les yeux. Hop, voilà. Ensuite, on a Carja, Voilà, bah voilà, Marvolo. Antonio, on le connaît très bien parce qu'il a joué à la Ternana, à la Roma.
C'est le mec qui marquait contre les grosses équipes.
Ouais. Je me demande pas si d'ailleurs il a été formé en Italie. Ce sera vérifié.
Il n'a pas été formé en France plutôt.
Je mettrai pas ma main au feu.
D'accord. Enfin, bref.
Et à Sienne, ça faisait deux saisons qu'il était là. Il jouait même numéro 10. Donc, c'est une des grosses recrues aussi. Marco Amelia, donc vice-bouffon en équipe d'Italie, qui a été échangé avec Rubinho de Palerme. Et Palacio, voilà, Marvolo. Moi, c'est un joueur que. Alors, lui, bon, par contre, il a un gros défaut, c'est sa coupe de cheveux, hein, qui est quand même abominable.
C'est chelou.
Une espèce de vieille tonsure avec une vieille tresse, une rasta qui reste.
Bref, c'est super moche. En fait, il y a le look rasta, lui il a une rasta.
Voilà, exact. Donc il y a un joueur. moi j'avais connu, je connaissais avant, mais pour à vrai dire, j'avais joué qu'une fois avant. C'était lors du Mondial des clubs en finale, Boca Junior Milan, il est même marqué d'ailleurs. Et je te laisse nous en dire un peu plus, quoi, parce que bon, j'imagine qu'il doit pas être non plus souvent convoqué en équipe d'Argentine vu le monde qu'il y a devant.
Bah, il a dû avoir une dizaine de sélections, il me semble que c'est 8 ou 9, quoi, pas plus. Il a marqué qu'une fois, ça pour le coup, j'en suis sûr. Pour moi, c'est un bon joueur. Sa cote a un petit peu baissé parce qu'il y a 3 saisons, il y a le Barça qui est à fond dessus. Il avait été le meilleur joueur sud-américain de l'année. Bon, voilà, c'était vraiment sa grande époque. Il y avait tout un bordel dessus. Quand il avait gagné la Copa Libertadores il y a 2 ans. Voilà. Mais son problème, c'est que je suis pas sûr qu'il puisse vraiment s'imposer parce que quand on voit ce qu'il fait avec la sélection, c'est pas terrible s'il n'est pas un des cadors de l'équipe. Alors évidemment, on peut dire que c'est parce qu'il y a plein de monde devant, mais même quand il joue, quoi, c'est franchement pas terrible. Et puis il est plus si jeune que ça, mais après évidemment pour la Juve, tu vois, Palacio, j'aurais trouvé ça un peu léger, mais pour le Genoa, je pense que c'est un bon joueur parce que voilà, c'est un mec qui marque quand même des buts, quoi. Qu'on soit bien clair. Ouais.
Il a fait une bonne entrée. Le Genoa, ça reste un club encore assez tranquille, qui est pas forcément sur les lumières des projecteurs tout au long de l'année, comme peuvent le être les 4-5 grands clubs italiens. Le Genoa, ils sont encore très très tranquilles, ils sont dans leur coin, ils se développent. Qui commence à devenir très intéressant et ça peut aider aussi un joueur comme Palacio qui débarque d'Amérique du Sud à tranquillement s'acclimater et devenir pourquoi pas un très très bon joueur de Serie A.
Comme je disais, ses stats en Amérique du Sud, elles sont bonnes, quoi, surtout à Boca Junior où c'est quasiment un but tous les deux matchs. Donc moi je pense que ça peut être un bon joueur, quoi. Franchement, un bon joueur. Et puis, l'avantage, c'est que c'est un mec assez intelligent. Alors, peut-être qu'il marque pas autant que ce qu'on peut attendre de lui, mais c'est un mec intelligent. Et ça, l'avantage, c'est qu'il peut jouer avec quasiment tous les profils de joueurs. Et puis, quand on voit un peu l'attaque du Genoa, c'est effectivement le cas. Il y en a pour tous les goûts.
Et je vais citer un joueur qui revient un peu nulle part et qui a mis un doublé en Europa League,
Luciano Figueroa,
voilà, et qui était un peu un joueur malchanceux qui a connu beaucoup de blessures, que le Genoa a recruté quand il était encore en série B, il a été prêté 1 ou 2 fois, et là il est retour, je sais pas où il était en Argentine,
il était à Boca.
Ah bon, bah voilà, et puis il est revenu, il devait repartir, finalement il va peut-être rester Marvolo.
Son problème c'est qu'il s'impose jamais en Europe. Je peux te donner rapidement, là j'ai ses clubs devant moi. Il carte la Rosario, il part à Birmingham, ça se passe mal. Il repart au Mexique, ça se passe bien. Il repart à Villarreal, ça se passe mal. Et ainsi de suite. River Plate, Boca. Genoa. Donc à chaque fois, il cartonne en Amérique du Sud et il ne marche pas du tout en Europe. Alors c'est peut-être. Malheureusement, il y a des joueurs comme ça hein, qui sont excellents plutôt. Et puis ça ne marche pas du tout en Europe, pas terrible. C'est un tout autre niveau, mais Zico, par exemple, il n'avait pas montré son niveau quand il avait joué à la Fiorentina, par exemple. Bon, évidemment, on est d'accord, hein, c'est pas du tout le... Il avait été pas mal, mais je pense qu'il valait plus, mais... Bon, tu vois, je pense que lui fait partie de cette catégorie-là.
Hein. Et je vais conclure aussi sur les quelques joueurs... qui ont été achetés ou qui sont restés, par exemple Crichito, donc comme tu l'as dit, d'un prêt il est passé en copropriété, Andrea Esposito, qui qui était à Lecce l'an passé, qui a été sélectionné par Lippi, donc ce fameux match amical, il a pris un peu l'équipe B, on va dire l'équipe d'Italie, avant la Coupe des Confs, et André Esposito en faisait partie, c'est un défenseur central, ils l'ont acheté en copropriété. Aquafresca appartient au Genoa, donc attaquant grand espoir.
Aquafresca joue à l'Atalanta.
Voilà, même s'il a été prêt, à l'Atalanta, mais il appartient au Genoa. Et Meggiolini, qui a été un des meilleurs buteurs de Serie B l'an passé, et je ne sais plus qui d'autre, tout ça pour dire que Erano aussi, tout ça pour dire que le Genoa a peut-être 4 ou 5 des meilleurs jeunes italiens ou espoirs qui sont soit au club soit prêtés et qui se forgent tout simplement un superbe avenir. Alors c'est difficile de se faire une place parmi les 3-4 gros clubs qui existent déjà, mais c'est franchement le club qui monte en Italie, sans aucun doute, beaucoup plus que la Fiorentina, beaucoup plus que Napoli. Et voilà, gardez un œil déjà l'an passé.
De revenir un peu sur Aquafresca, je trouve un peu quand même débile, voire assez con de rayer un Aquafresca presque plus bas d'où il venait, c'est à savoir Cagliari. Il est arrivé, il a fait un heureux espoir très très correct quand même, un bon heureux espoir avec eux. Je crois, si je ne me trompe pas, 3 buts. Maintenant, le voir traité par un Genoa qui joue l'Europe, qui a la Coupe d'Europe et qui peut prétendre à une chose plus ou moins intéressante dans ce championnat, et le voir traité à l'Atalanta qui malgré tout reste un club de milieu de tableau, c'est peut-être pas une chose vraiment intelligente dans le développement du joueur qui a fait ses preuves au Cagliari en 2 saisons. Qui appartient à l'Inter, qui maintenant appartient au Genoa qui pouvait lui permettre justement de développer, et le revoir venir à l'Atalanta, j'ai l'impression quand même que c'est un retour en arrière pour
tout à fait, ce qui il passe d'un club Cagliari qui a fini 7e ou 8e qui était très très bon à l'Atalanta qui a fini 10e quoi, alors qu'il est le meilleur attaquant italien de sa génération. Donc effectivement, point de vue progression, évolution, plan de carrière, bon ben il décide pas tout entre guillemets, c'est pas le top. Après on se plaindra qu'il manque de joueurs, l'équipe d'Italie a du mal à se renouveler, mais c'est sûr quand on voit ce genre de choses on n'est pas franchement étonné. Il y avait 2 questions de Habib d'abord et après Aurélien.
Bon, en fait moi c'est des questions alors sur 2 joueurs du Genoa que je connais pas trop. Qu'est-ce qu'il vaut le petit Salvatore Pochettino? Moi, on m'a dit que c'est un super joueur, mais c'est pas plus quoi. Je sais que c'est un bon défenseur central. J'ai vu rapidement ses stats, mais c'est quoi son niveau entre guillemets.
Il a fait un excellent euro espoir. Hein. Il tenait la défense italienne quasiment. Bon, faut savoir que la défense italienne à l'euro espoir était excellemment bonne, hein, avec Crisciuto à gauche, Androli et Bocchetti dans l'axe et à droite Motta. Mais Bocchetti, c'est vraiment un joueur qui est plein d'espoir, qui est très 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 intéressant. D'ailleurs il a été sélectionné en équipe A l'autre jour contre la Suisse. Je me souviens l'avoir vu échauffer devant moi, mais le voir rentrer, je crois qu'il est pas rentré finalement. Mais c'est clair que c'est un joueur qui est en pleine progression et qui lui a exploité au mieux le fait de jouer au Genoa et qui peut vraiment apporter quelque chose dans le futur à une équipe d'Italie qui n'est pas forcément au mieux en défense centrale, comme on a pu le voir à la Coupe des Confédérations.
D'accord. Et puis la deuxième question, en fait, c'est parce que il y a un joueur que je connais depuis longtemps qui a été prêté à Malaga, c'est Fernando Forestieri, qui est italo-argentin, même qui s'y joue avec l'Italie. Moi, je sais qu'il avait été très, très courtisé, qu'il avait eu une grosse baston pour l'avoir entre les deux sélections, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il vaut parce qu'il est prêté à Malaga.
Bah, c'est un joueur qui avait démarré sur le chapeau de roue à Sienne, si mes souvenirs sont bons, qui était même en copropriété entre le Genoa et peut-être bien l'Udinese. Voilà. Et le joueur, je crois que c'était son deuxième ou troisième match, il avait marqué, et puis il avait 17-18 ans, et voilà, bonne saison. Et puis après, l'an dernier, il a un peu disparu, si bien qu'il a été prêté en Serie B à Vicenza, où il a fait une demi-saison plutôt honnête, et il avait été, après ses débuts à Sienne, sélectionné en équipe d'Italie, comme tu dis, italo-argentin, c'est bien ça, en espoir, au moins de 20, moins de 19, je crois qu'il avait fait l'Euro moins de 19 de l'an passé, et puis il a pour le moment pas trop trop confirmé par rapport aux jeunes de sa génération. On est un peu étonné d'ailleurs de le voir partir quitter l'Italie, c'est généralement pas très bon signe entre guillemets, surtout pour un prêt quoi. Et donc ouais, il a encore il a pas confirmé c'est grand, c'est très bon début. Voilà, si tu veux une réponse.
D'accord, bah merci beaucoup.
Je t'en prie, Aurélien.
Oui, j'avais une question, je voulais savoir quel match avait fait Ménès ce soir. J'ai vu qu'il jouait titulaire.
Bah, j'ai envie de dire, je suis un peu son début de saison parce qu'il a quand même pas mal été titularisé par Spalletti. D'ailleurs, il joue
face à la Gantoise, ouais.
Ouais, voilà, il joue même en
faute de mieux quand même, limite faute de mieux, hein. C'est
Ouais, mais bon, il le fait jouer quand même en 10 derrière Totti. Voilà, et ouais. Moins sur l'aile. Donc quand même, c'est un poste, enfin en 10 parce que bon, la Roma jouait qu'un attaquant bien sûr. Et en attaquant de soutien plus ou moins. Et c'est un joueur qui sait alterner de très bonnes choses et qui fait souvent de mauvais choix. Il y a une ou deux actions ce soir à un moment où il se balade dans la défense parce qu'il a une aisance technique assez impressionnante. Mais souvent les mauvais choix. Il s'est bien fait casser en deux quand même. Et à un moment il part au but tout seul. D'ailleurs je pense que ça va faire jaser en Italie. J'avoue que je regardais l'action d'un œil à ce moment-là, et Giuseppe Biava, défenseur du Genoa, le chope par derrière, enfin le l'attrape et tombe en même temps, un peu une faute à la Cannavaro, j'ai envie de dire. Et comme ça, la petite faute, dernier homme, mais on sait pas trop.
Et puis il lève les bras.
On fait une tête à l'arbitre, j'y suis pour rien, et on chope un carton jaune, on s'en sort. Et sinon, Ménez, elle est clairement vue. Mais ouais, on va dire que par rapport, parce que moi, c'est ma façon de juger un joueur, justement, par rapport à l'argent qui a été investi dessus. Et il a été acheté 12, 14 millions d'euros, je sais plus, enfin, plus de 10 en tout cas. Pour le moment, ça justifie pas, cet investissement, même si c'est sur l'avenir. Et puis, il n'y a pas une entente extraordinaire avec Totti, en fait. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai remarqué.
Merci, ouais.
Non, franchement, il faut savoir que la Roma, elle a pas vraiment recruté, cet été, il y a eu Guberti, qui était un ancien joueur de Paris, qui leur a permis de remonter. Et en Serie A, c'était la saison passée, qui est plutôt un joueur d'aile, qui joue plutôt dans un poste de milieu extérieur. Et sinon, il y a Bourdisseau, qui vient d'arriver, c'était hier, justement, que le contrat a été officialisé, et Bourdisseau a commencé titulaire. Et donc la Roma qui est vraiment pas vraiment une excellente posture pour tenter une saison qui soit meilleure que celle de l'an dernier, qui était assez presque catastrophique quand on a vu ce qu'a pu faire la Roma ces 3-4 dernières saisons, où c'était vraiment l'un des plus beaux clubs italiens à voir jouer et qui était vraiment très très intéressante. Maintenant on a vu jeudi que à Kozic, en coupe de l'UEFA, ils gagnent 3-1, ils arrivent à se faire remonter à 3-3. Ils ont une défense qui a vraiment la peine à tenir vraiment un score et tenir le coup face aux petites attaques, mais alors face aux grosses attaques, je n'ose même pas imaginer encore. Parce que bon, faut quand même savoir que Juan semble blessé.
Comme d'habitude, donc,
comme d'habitude. Et
Mekfes qui était
suspendu. Et donc,
comme d'habitude.
Comme d'habitude aussi. Et donc ce soir ça joue avec Andreoli qui est le coéquipier de Bocchetti en espoir lors du dernier Euro M21 et mais qui est pas aussi avancé je dirais que son coéquipier qui du Genoa qui est Bocchetti donc et qui a encore un peu de peine d'ailleurs on parle d'un prêt de côté de Bari aujourd'hui ce qui est très très probable. Maintenant, il y a Bourdisseau qui est... Comment pourrait-il caractériser celui-là?
Non, mais c'est un joueur qui est... C'est pas une si mauvaise recrue, parce que honnêtement, depuis qu'il est arrivé à l'Inter, il est arrivé depuis le début du cycle, là, des 4 Scudetti. Bourdisseau, on se moque souvent de lui, mais c'est un joueur qui peut faire de très bonnes choses, quoi, mais il a dans la saison...
C'est un joueur qui est pas fait vraiment pour jouer le titre de champion et la Ligue des champions au fil des années. Maintenant, dans un club comme la Roma qui essaie de remonter un peu la pente, ça peut jouer, mais va falloir vraiment s'entendre avec Mekfes pour pouvoir apporter quelque chose et puis voir comment Spalletti voit l'association, que ce soit Bourdisseau Mekfes, Bourdisseau Juan ou même Bourdisseau sur le banc. De toute façon, c'est peut-être une recrue, mais c'est pas vraiment, j'ai envie de dire, un renfort. C'est bien pour lui, mais c'est pas forcément excellent pour la Roma. Bah vas-y, pose ta question, Sinot.
Ouais, j'avais une question au sujet de la Roma. Vous pensez pas que le départ d'Akulani va leur faire beaucoup de mal, quoi?
Non, moi je pense pas, non, parce que c'est un joueur qui jouait quand même sur les dernières saisons, il a très peu joué, quoi. Et je pense
baissé, non?
Honnêtement, je pense qu'ils ont bien fait de le vendre, quoi. Parce que on n'aurait pas trop su. Enfin, il revenait jamais de blessure. Enfin, il rechutait toujours. Il avait toujours quelque chose. Et là, vendre 20 millions d'euros à un joueur qui a certes un gros potentiel, mais qui a quand même beaucoup de problèmes physiques, je trouve que c'est une superbe affaire du point de vue financier, bien sûr. Et puis c'est un poste, la Roma, milieu défensif, où ils ont déjà 3-4 joueurs de
très beau calibre.
Ouais, ils ont Derossi et Brighi qui sont internationaux italiens, ils ont Pizarro, il y a Perotta qui peut jouer à ce poste-là, ils ont Riccardo Fatti, je plaisante.
Il y a Tadei qui est un peu... ouais, il était sur le banc, hein.
Fatti, ouais, faute de mieux, comme tu dis. Non, voilà, donc là, c'était...
À la Roma, en ce moment, c'est pour la plupart des joueurs, c'est faute de mieux, donc...
Non, mais ouais. C'est pas une si grosse perte qu'on pourrait nous faire croire, en fait, moi, c'est mon point de vue personnel. Hein. Après, je remets en cause les capacités...
Ses derniers bons matchs à lui, il faut remonter, j'ai envie de dire, au Real Roma d'il y a un an et demi en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Tout à fait.
Ça doit être ça, son dernier très bon match sous les couleurs de la Roma. Depuis, il y a l'Euro de 2008 où il est à la hauteur de l'équipe d'Italie. Après, il y a la saison passée, il marque, il a marqué 2-3 buts, mais qui blesse très rapidement aussi, et ça joue pas toute la saison. Et puis là, il est encore blessé, je sais plus combien de temps, mais et en plus vendre un joueur blessé à Liverpool pour remplacer qui est plus avec Xabi Alonso. Franchement, j'ai envie de dire respect à la Roma qui d'autant plus se sépare d'un gros salaire et d'un joueur qui a pas forcément eu une mentalité qui est égale aux disciples du centre de formation de la Roma qui comme Totti ou De Rossi ces dernières années.
Ok.
Maintenant, est-ce qu'on peut peut-être aborder très rapidement les deux matchs des clubs de clubs de Milan avec le Milan qui s'en sort du côté de Siena avec heureusement que on a envie de dire heureusement que qu'il y a un Pato devant qui peut marquer des buts parce que le Milan je pense qu'on le répétera assez souvent cette saison qui n'a pas fait qui a carrément loupé sa préparation qui a pas fait un mercato enfin qui a pas fait le mercato j'ai presque envie de dire si ce n'est Huntelaar et les deux petits jeunes là qui sont Zigogne et Beretta mais qui reste pour l'instant pour la Primavera.
T'as oublié Flavio Roma quand même.
Flavio Roma, ouais.
Et on est où du standard de l'Est? Voilà.
On doit appeler ça une recrue ou bien un remplaçant de Senderos?
je pense que c'est quand même mieux que...
Un remplaçant.
Je sais pas, moi je connais pas mon niveau, j'en ai entendu parler. Bon, c'est un joueur, je connaissais le nom, mais comme tout le monde, j'ai découvert des concerts qu'il n'a pas été mauvais. Après, un joueur comme ça qui est en forme un été dans une coupe un peu en bois.
Tu regardes l'équipe des États-Unis, t'avais les trois quarts qui sont bons comme on les a jamais vus en club. Dempsey qui n'est pas le pire, qui devant l'autre à Fulham, il a fait une coupe des confédérations, il met 3 buts. Attends.
Non, mais bon, moi je croyais que c'était un joueur solide. Bon, voilà. Ça au moins solide dans le sens du terme parce que Senderos c'était une armoire à glace mais je me souviens les 4 premiers mois il était blessé on savait pas pourquoi et puis il avait l'air de faire son taf et de faire chier personne si je peux me permettre mais bon ça vaut pas Alexis Lalas hein, bon c'est sûr et puis
Régis aussi
David Régis non, c'est sûr quand on regarde les antécédents de défense enfin ou Greg Vanneff on se regarde les anciens défenseurs américains ça rassure pas ce qui est pas très logique c'est que des défenseurs centraux le Milan en avait quand même parce que Nesta, Thiago Silva, Onyewu, Favali, Bonera, Caladze ça fait déjà 6. Bon, il est gratuit, pareil que s'il allait pas au Milan, il allait à l'Inter bon. Voilà, on peut pas dire que l'Inter loupe beaucoup de transferts ces derniers temps. Bon, moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Voilà.
Pour moi, Onewu, c'est pas une bonne recrue. Hein. Pour l'avoir vu jouer en Jupiler League, je veux dire, il est très surestimé. Hein, parce que franchement, en Jupiler League, il se fait avoir par tous les attaquants rapides de Jupiler League l'année dernière. Il a vraiment eu du mal. Moi, en Jupiler League, mes amis me disent qu'il est super bon en Belgique, mais moi, je trouve pas. Et puis, je rajouterais que Onewu, il a jamais réussi à s'imposer en Ligue 1, ni à Newcastle, ni à Metz. Et franchement, chaque fois il est retourné au Standard de Liège, il a eu du mal. Moi, franchement, il a fait une mauvaise recrue là, pour le Milan AC. Je comprends même pas pourquoi ils l'ont pris.
Non, mais c'est bien d'avoir un avis d'un gars qui connaît, qui l'a vu jouer, etc. Moi, je te dis, je me base plus sur
l'avantage. L'avantage, c'est qu'il était libre. C'est ça.
Ouais. Non, bien sûr. Voilà, c'est pas un risque, on va dire.
Ouais. Ah, mais je veux dire, Newcastle, il a été horrible, quoi.
Le pire de tout ça, c'est qu'on en a fait pendant 3 jours dans la Gazzetta. C'était la recrue estivale. Hein, c'est... Bon, il y avait le poster à sa taille, tous les plus grands joueurs du calcio, Onewu qui les dépasse tous. Ah non, mais c'était ça pendant 3 jours dans la Gazzetta. Hein, c'est
dire. Sa taille et sa physique pour lui. Ouais.
C'est dire que, comment on peut. En Italie, on peut être un peu aveuglément. Illuminé par un tournoi moyen d'un joueur, c'est dire la culture étrangère du footballistique qu'on peut avoir en Italie, mais ça c'est un autre problème. Maintenant l'Inter qui lui n'a plus Ibrahimovic, qui va essayer de s'en sortir avec un Eto'o qui est peut-être assez con, mais qui aujourd'hui fait un contre une équipe de Bari qui est pas forcément celle dont le promu dont on pense qu'il se maintiendra forcément. Maintenant, ça reste un excellent résultat, surtout pour Bari, surtout que le match se joue à San Siro et que le Bari aurait pu accrocher, enfin même remporter le match dans les dernières minutes.
Ouais.
C'est une grosse occasion loupée heureusement pour l'Inter, mais l'Inter qui est pas forcément beaucoup mieux, qui est peut-être mieux que le Milan, bon ça le vérifiera la semaine prochaine dans le derby, mais qui a pas forcément toutes les cartes en main pour rivaliser vraiment avec par exemple une Juve ou une Juve, c'est le seul rival qu'on peut vraiment leur trouver. Mais ouais, y a pas vraiment grand chose à tirer. Plus,
qui a vu le match parmi nous là déjà?
Moi j'ai vu le match.
Bah on t'écoute.
Ouais, vas-y parle.
Bah je vais juste compléter. Il a dit que franchement ouais, Barry aurait pu mériter plus même que le 1 partout. Je veux dire dans le jeu c'était vraiment faible. L'Inter de Milan, il y avait pas de jeu. Je veux dire d'ailleurs Mourinho il a sorti tout de suite Montari, je sais pas pour quelle raison, pour Balotelli. Ça l'a un peu mieux et puis c'était l'occasion de ce match de voir les nouvelles recrues. De l'Inter, Lucho en défense centrale, qui a été plutôt bon pour moi, comparé à Materazzi en tout cas. On a vu Mota, qui a été totalement fantomatique. Et puis Milito, qui, si je ne me trompe pas, qui c'est grâce à lui qui a le pénalty, mais il n'y a pas pénalty. Hein.
Ah oui, ouais, j'ai pas vu les images.
Il n'y a pas pénalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty.
Ça va faire jaser, quoi, mais...
Oui, je pense que ça va faire beaucoup jaser, parce qu'il n'y a pas du tout pénalty pour moi. En tout cas, hein, faut avoir revu les images.
Ah, il est vraiment très gentil, l'arbitre, sur ce coup-là, ouais, je suis d'accord.
Hein. Ouais.
J'ai vu avec sur Milito, je crois, non?
Oui, c'est sur Milito.
Et il joue plutôt bien le coup d'ailleurs en plongeant magnifiquement.
Ouais, Milito il joue bien le coup sur le plongeant. Ouais. Mais c'est vrai, ça va faire jaser, à mon avis. Dès la première journée, un penalty.
On va voir la Maviella dans la Gazzetta qui va rapidement mettre les choses au clair. Mais bah ouais, donc je sais pas si Marvolo par exemple veut avoir un avis différent sur ce match. Mais...
Ah. Moi, je dis Marvolo, il va avoir un avis sur le buteur de Barry.
Coup de ça. C'est les souvenirs Football Manager, ça, mais
ouais. En fait,
petit manager à l'époque.
Le joueur qui a été ramené en Italie par le Milan.
Ouais, Vitaly Kutuzov, ouais. Non, mais ça c'est
Biélorusse. Hein.
Ouais, Biélorusse, c'est les conneries avec Vili. Non, mais ce genre de penalty, franchement, quand c'est la Juve qui le prend, qu'est-ce qu'on se prend sur la gueule. Et là, comme c'est l'Inter, j'attends de voir ce qui va se passer. Non, mais plus sérieusement, le gros problème, c'est que on se fait toujours aussi chier à regarder l'Inter. Hein.
Ah bah, c'est pas une nouveauté. Hein.
Ça a changé.
Ça fait 5 ans qu'on les regarde et qu'ils sont champions.
Et puis moi, je voulais faire un spécial dédicace à Quaresma, comme on doit prononcer apparemment. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire des gestes qui servent à rien quand même. Je sais pas si vous l'avez vu plusieurs fois pousser trop le ballon pour devoir centrer de l'extérieur.
Ah mais ça il fait exprès, hein. c'est sa technique.
La trivella.
Sinon bon par contre, ça alors pour le coup, si quelqu'un a le lien du geste technique qu'il fait, je pense que ça peut amuser les gens. À un moment il fait un enchaînement en deuxième mi-temps côté gauche, assez monstrueux où il élimine deux joueurs d'un coup, ça c'est joli, mais bon voilà quoi, c'est Karechma, c'est les deux petits gestes qui servent à rien dans le match, qui sont jolis, mais bon après Eto'o, Milito, ça tarde hein, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils aient joué beaucoup en pré-saison. Alors ça, je sais pas s'il y en a qui
ont
joué.
Trois matchs, il me semble. Deux matchs. Ils ont fait la.
Je sais qu'ils ont joué contre Monaco ensemble, il me semble.
Ah, ils ont joué 30 minutes à Monaco. Je suis allé voir le match. Bon, ils ont rien donné les deux. Hein, franchement, c'est un Milito qui.
Super coupe, contre, ils ont joué ensemble.
Super. Ils ont joué en super coupe. Ouais. C'est le match où je crois qu'ils ont joué complètement ensemble. Et finalement, c'est plus Milito qui ressort par rapport à Eto'o.
Je pense que c'est deux joueurs qu'il faut un joueur qui les serve en fait, tout simplement, qui leur donne des ballons.
Non, il y a pas ça l'Inter.
Quand tu vois que le mec le plus haut placé c'était Stankovic.
Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que Mourinho veut un numéro 10.
C'est un excellent relayeur, mais en meneur de jeu, pas du tout. Je le vois pas du tout à ce poste.
En fait, il y a plusieurs années qu'il occupe cette place et ça fait plusieurs années que c'est pas forcément vraiment bon de la part de.
Non, mais c'est du.
La part de.
C'est du. Leader.
Oui. On a apparemment un petit problème avec Guy.
On trop ça, lui.
J'ai pas assez remarqué le petit retour au 4-3-1-2, pardon, c'est-à-dire avec un numéro 10.
Alors, Guy, en fait, est-ce que tu pourrais recommencer les 10 dernières secondes parce que tu te doutes que ça a pas bien fonctionné pour nous?
Pardon, non, je vous entendais très bien. Faut me dire si vous m'entendez, quoi. Mais
sinon, on n'entendait pas. Donc, en fait, tu parlais
oui, du retour de l'usage du numéro 10 en Italie, étrangement. Alors que moi, je me souviens avoir lu beaucoup d'articles depuis 2 ans, on va dire, sur la disparition de ce poste entre guillemets. Et tout simplement, les trois équipes, le Milan, l'Inter et la Juve jouent avec un numéro 10, jouent avec la même tactique, en fait.
Alors, pour le coup, il n'y a pas que quand en Italie que ça revient. Bon, après à Chelsea c'est un peu normal vu qu'Ancelotti là il veut mettre Lampard en numéro 10. J'ai vu la première journée Arsenal contre Everton, ils ont joué à 3 entre récupérateur et relayeur et puis Fabregas en numéro 10. Donc apparemment le losange est bien revenu à la mode. Après je sais pas si ça va vraiment fonctionner parce que numéro 10 c'est pas juste un poste comme ça quoi. Il faut vraiment être techniquement bien au-dessus. Et puis moi, quand je vois les joueurs qui ont été utilisés à ce poste-là, je pense pas qu'ils aient les qualités. Hein. Bon, à Diego, à la limite, pourquoi pas. Et encore, je suis pas spécialement sûr, mais Stankovic, quoi.
Au Milan, c'est Ronaldinho, bien sûr, quoi. Et, non, mais il y a même d'autres équipes comme Palermo qui joue avec Javier Pastore. On verra peut-être.
Excellent joueur. Excellent joueur.
Siena qui jouait avec un 10 aussi. Enfin bref, voilà, c'était juste une particularité. Surtout que les trois gros d'un championnat jouent avec exactement la même tactique entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y a forcément des petites variations. C'est pas un truc qui arrive souvent. Voilà. Je vous laisse la parole.
Non mais c'est clair que ce Stankovic, c'est faute de mieux, même pour l'Inter. Hein, il n'y a pas vraiment de vrai numéro 10 dans cet effectif. On parle d'un Balotelli, mais en soutien des attaquants, on ne sait pas trop ce que ça donne. Un Mota, c'est beaucoup trop défensif apparemment pour jouer en numéro 10. Il y a personne pour occuper cette place et il leur faudrait vraiment donc on en revient là à la rumeur Schneider.
Bah le problème c'est que vu l'effectif qu'ils ont, c'est plus facile de jouer comme ça que de jouer avec des ailiers parce que sur les ailes, ils ont Mancini, ils ont Quaresma, mais bon vu leur niveau, je préfère encore tenter Stankovic. En numéro 10, et comme tu l'as dit, Schneider, c'est à la fois tout proche et très loin parce que avec le club, il n'y a aucun problème entre le Real Madrid et l'Inter, mais Schneider, il tient absolument à s'imposer au Real. Donc, il faut peut-être attendre les derniers moments.
Comme je l'ai dit, normalement, c'est demain qu'on connaîtra le verdict de cette affaire, mais bon, quand on dit demain, normalement, ça va traîner jusqu'au 31 août.
Voilà, et puis j'ai vu aussi que l'Inter était intéressé par Van der Vaart, mais là, C'est très improbable parce qu'il a dit qu'il voulait soit l'Allemagne, soit l'Angleterre. Donc,
Je pense pas.
Soit bizarre ça.
L'Allemagne. Sinon, il y a Coridon sans contrat, quoi. Donc.
Oui, ils sont l'arrêt.
Bah écoute, hein, s'il peut refaire une, comment on appelle ça, une talonnade, une aile de pigeon.
Ou du scorpion.
Ouais.
Ouais, une matière à Marassi, bref, je sais. Ouais, bref.
Ouais, sinon, je sais pas si il y a par exemple Aurélien qui veut peut-être dire un petit mot sur, sur la vue Atalanta que j'ai vue au début, mais c'est comme
ça. Ça n'a pas été un match. Ouais.
C'est pas très intéressant forcément. C'est...
Non.
Bon, il y a un Rocky qui est toujours excellent dans la surface, hein, dans les 16 des mètres. Il te l'arrive, il te le met. Tranquille. Bien. Et puis, faut quand même savoir qu'en plus, il y a Cruz qui est arrivé à la Lazio. Et voir Rocky depuis
que
Cruz
est arrivé.
Elle est où, mais c'est plus sur des côtés pour. Normalement.
C'est un excellent joueur, hein.
Ouais, mais c'est le seul qui... Parce que normalement, Cruz devait prendre plus ou moins la place de Rocky et puis avoir une attestation Zarate Cruz. Et puis là, voir depuis que Cruz est arrivé, soit donc justement la Super Coupe, le voir marquer un but contre l'Inter en Super Coupe du côté de Pékin, tiens. Et le revoir marquer aujourd'hui dans un but très... d'attaquant de pur buteur, c'est ça met un peu les points sur les i, même si Rocky c'est pas forcément évident qu'il tiendra toute la saison à ce rythme là, il a quand même 35 piges et ça il y a un moment où ça va lâcher. Bon, Cruz est pas beaucoup plus jeune non plus, mais c'est heureusement qu'il y a un Zarate pour apporter un peu de fraîcheur derrière, mais parce que sinon ce serait assez compliqué. Pandev, on en sait rien ou encore où il est. D'ailleurs, ça permet de faire un peu une transition parfaite sur le recrutement du Napoli, puisque Pandev, à la base, devait partir au Napoli, mais à la base, il y avait aussi la Juve. À la base, il y avait peut-être aussi le Bayern. Et Pandev, qui maintenant redemande à s'entraîner avec la Lazio. C'est dire le bordel qu'il y a maintenant. Pandev, qui reste quand même un excellent attaquant. Et donc, justement, pour revenir au mercato du Napoli, qui a vraiment... blindé là sur le marché des transferts, De Laurentiis avec Donadoni en entraîneur qui ont cherché vraiment à faire une belle équipe avec Quagliarellas qui est venu. Il y a aussi le petit jeune qui jouait à l'Atalanta qui est Figarini qui est venu. Il y a vraiment une très très belle équipe.
Et Dabolo qui a marqué, voilà, récemment avec l'Argentine. Camilo Zuniga qui est
l'un des meilleurs défenseurs de la Serie A l'an passé à Siena et qui là donc maintenant est du côté de Napoli.
Napoli.
Et puis d'ailleurs c'est une question pour vous parce que j'ai pas vu du tout le match du Napoli. Est-ce que Jesús Dátolo il joue ou pas?
Ouais, et je pense qu'il joue parce qu'on l'oblige un peu, le président le veut. C'est un peu ce qu'on dit en Italie en fait, quoi, parce que.
Quoi?
Comment?
J'ai pas bien entendu en fait.
Non, je disais en fait, il joue pas son poste, je pense, parce que c'est un 3-5-2, il joue à gauche.
En latéral, quoi, en gros.
Ouais, au milieu
latéral. Roberto Carlos.
Ouais, enfin bon, 3
secondes.
Ouais.
On prend vraiment un peu plus d'offensif.
À la Vincent Candela, à la Roma.
D'accord. Mais, ouais, en fait, c'est pas son poste, lui, il est censé jouer en, tu sais, en 4-3-3.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Sur les côtés, voire en 4-4-2 sur un côté. Mais bon,
donc c'était pas son poste et donc ça donne pas rien de folichon, voilà.
D'ailleurs, est-ce que vous
connaissez pas Maradona?
Est-ce que vous connaissez son surnom en Argentine?
Allez,
Elvis Presley.
Ah oui, quel diman.
Il y a Jésus et Elvis Presley. C'est vraiment n'importe quoi.
Ouais. Bah non, mais
il y a peut-être une raison, non?
Bah franchement je comprends pas. Je trouve moche comme un cul. Et après je sais pas, même au niveau de People, j'ai jamais entendu sur les magazines genre il est sorti avec telle ou telle star, mais bon sinon bof. Mais sinon moi ce que j'aime bien dans le recrutement, c'est, je le redis encore, c'est le Zuniga que la Juve voulait aussi à un moment.
Très bon, mais, ouais.
Ouais. Et au final c'est eux qui le prennent, quoi. C'est
Moi je sais pas si Helvetia est d'accord, quoi. Je crois que tu étais d'accord d'ailleurs. je suis plus sûr, mais enfin parmi les spécialistes entre guillemets de la Serie A, on a tous un gros doute sur sur la réussite du Napoli cette saison.
Ah, moi franchement, j'ai de la peine à y croire vraiment tant que je l'aurais pas vu. Parce que là, bah là on les voit ils perdent ce soir contre le Palermo qui est pas forcément la plus grande équipe du championnat cette saison, hein, qui certes s'impose sur un penalty de Micoli, mais c'est pas forcément sur qui on va miser pour les premières places. Maintenant les voir perdre contre le Napoli et avoir Donadoni en entraîneur, je sais pas si ça peut vraiment arranger le truc. Et moi franchement, si je devais miser une seconde surprise, ce serait pas tant le Napoli quand contrairement à d'autres collègues entre guillemets.
Non, mais il y a un truc qui me dérange réellement, ça peut être un entraîneur et un personnage que j'aime beaucoup, c'est Donadoni. Je trouve vraiment pas adapté à l'ambiance napolitaine, en fait. Il a totalement... Bon, tu me diras, Eddie Reia, qui était l'ex-entraîneur, il était un type réservé, enfin, bref, voilà, rien du napolitain. Mais bon, lui, il avait pris l'équipe quand elle était en 3e division. Mais là, ouais, ça me paraît... il part un peu hors sujet, en fait, Donadoni, dans le projet napolitain.
C'est vraiment plus un gars du Nord qu'un gars...
Ouais, non, mais tout à fait, non, rien à voir. Donc, de ce point de vue-là, ça fait... Il y a un certain décalage, bien sûr, que ça suffit pas pour louper une saison, etc. Et puis beaucoup d'arrivées d'un coup, quoi. Donc ça peut être des bons joueurs, faut faire jouer ça tous ensemble. Et puis un président qui est casse-pied, faut lui dire ce qu'il est, hein, parce que bon, il a déjà été. Ouais, voilà, il a déjà été quand même.
Faut souligner aussi que je viens de me rappeler ça maintenant à l'instant, c'est que ils ont changé de gardien. C'est De Sanctis qui est venu, qui est pas forcément le plus mauvais des gardiens.
Ouais, c'est sûr, tout à fait. Et puis non, bref, voilà, donc le tout, comme tu dis, ça reste à voir. Et puis t'as l'impression, en fait, que Napoli, il y a la concurrence est tellement énorme. C'est-à-dire que si Napoli termine 7e derrière la Fiorentina, la Roma, le Genoa, le Milan, l'Inter, la Juve, etc., ça peut dire bon, il serait à sa place entre guillemets. Mais le président, l'objectif sera pas atteint, quoi. Donc il y a des grosses chances entre guillemets que même si Napoli fait première partie de tableau, sans être dans les 6 premiers, que ce soit considéré comme une saison déficitaire et qu'on reparte à 0, etc., et que la V6 s'en aille, etc. Donc, il y a beaucoup de risques pris cette saison pour le Napoli. Voilà.
En fait, moi, j'ai une question sur le Napoli. C'est pareil, j'essaie de voir, d'imaginer l'équipe type, j'y arrive pas. Donc, ça donnerait quoi? Iezzo dans les buts?
Non, De Sanctis.
Ah, donc, De Sanctis est considéré comme plus fort que Iezzo.
Ouais. Ah, bah, c'est...
Apparemment.
C'est le troisième gardien d'Italie et.
De Sanctis. Bon,
toi, t'as dû. Ouais, toi, t'as dû.
Non, maintenant, c'est Marquetti. Maintenant, c'est Marquetti, deuxième gardien. Qui est même deuxième gardien maintenant, Marquetti.
Ouais, mais bon, il était encore dans le groupe jusqu'à la Coupe des Confédérations. Il était à la Coupe des Confédérations.
Il a pris Marquetti.
Ouais. Non, mais bon, je veux dire, voilà, c'était. Bon, c'est un peu le chouchou aussi de Lippi, je sais pas trop pourquoi. Bon, toi, t'es peut-être resté sur ce qu'il a fait à Séville, j'étais pas au courant, mais bon, ça a toujours été un très très bon gars en Italie. Après, la défense.
Oui, je sais bien, très bien, il a commencé, enfin, il a, je sais pas, il était à la Juve. Il est passé à l'Udinese après, mais. Et puis là, il était prêté, je sais plus où, à la Salonique ou quelque chose comme ça.
À Galatasaray,
ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, moi, ce que j'ai vu, tu vois, ce que je l'ai vu au Séville, il a quasiment pas joué, hein, parce qu'il y avait Andrés Palop devant. Je sais pas si c'est un gardien aussi bon que ça. Galatasaray, le premier, ils ont fini 5e, il me semble. Hein.
Ah ouais, non, mais.
C'est pas. Je suis pas sûr que ce soit pour rien, quoi. Mais bon. Donc après, bref, à part. Donc c'est 200.
On va revenir à l'équipe type. Donc là, ce soir, si tu veux, ils vont jouer avec Campagnaro, Cannavaro et Conti en défense. Ouais. Campagnaro qui vient aussi d'arriver ce soir.
Argentin, la Samp.
Ouais.
Qui était à la Samp. Après, il a joué au milieu, donc avec Maggio sur un côté, qui est pas forcément l'un des meilleurs.
Maggio. À gauche.
Pour le côté. Zuniga
à droite, très certainement.
Non, Zuniga était remplaçant ce soir.
Ouais, c'est Maggio à droite, hein.
Non, mais ouais, pas forcément l'équipe qui a joué aujourd'hui, mais. Parce que t'as des joueurs qui sont hors de forme, tu vois, c'est pas.
Ouais, c'était pour donner une idée, c'est tout.
Ouais, d'accord.
Donc, après, il a joué avec, Bogliacino et Guevara Gargano et devant eux Hamsik avec donc Datolo sur le côté et devant Cagliarola et Lavezzi.
En fait, tu mets Cigarini à la place de Bogliacino, ouais. Tu mets
Zuniga à la place.
Tu laisses pas jouer à droite et Zuniga va sûrement jouer à gauche en fait. Ouais, même s'il a joué à droite l'an dernier avec Sienne. Et la défense c'est celle-ci, de toute façon c'est l'équipe type. Ouais. T'as l'équipe type, voilà en fait. C'est juste faut mettre Cigalini à la place de Bolecino en gros, qui est un des gros transferts. Et voilà, t'as l'équipe type de Napoli. Voilà. Après, ouais, faut vraiment que la sauce prenne, comme on dit.
Ouais, ouais, parce qu'il y a beaucoup de changements, comme tu l'as dit.
Personnellement, moi je le dis, c'est pas forcément l'équipe en qui je crois le plus parmi les outsiders. J'ai limite un petit penchant pour la Lazio cette année, mais c'est vraiment à voir et à confirmer avec un Zarate qui aussi du fait que la Lazio l'ait définitivement acheté, ça peut peut-être arranger le truc, même s'il a été déjà excellent l'année passée. Voir Cruz renforcer l'attaque, c'est pas forcément con. Voir Rosenal quitter le club.
Ah, il y a Hofer, Erwin Hofer.
Ouais, l'international autrichien.
Voilà, tout à fait, qui devait être en Autriche, je pense, avant de venir, et qui est un numéro 9, qui a marqué en Coupe d'Italie, si je me trompe pas, voilà, contre la Salernitana, et qui est aussi un des transferts, donc qui remplace Zalaieta numériquement, voilà, plus ou moins.
Ouais. Non mais ouais, donc je disais la Lazio, franchement pour moi
je... Et la Lazio, moi je te le redis encore une fois parce que vous l'oubliez souvent, mais attention à Eliseu.
Ouais ouais, justement sur les côtés ça peut être intéressant.
Côté droit, il va très très vite. Oui. Mais vraiment très très vite.
Pour l'instant on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de le voir, il est rentré je crois lors de la Super Coupe, mais on n'a pas vraiment encore eu l'occasion, là il était remplaçant encore aujourd'hui. Mais ça,
oui,
peut,
il était remplaçant.
Ça peut avec le temps venir revenir... et devenir un des très très bons joueurs. Par contre, il y a Ledesma qui est donc en passe de quitter rapidement le club. On parle aujourd'hui d'un échange avec D'Agostino de l'Udinese. Ouais. Qui
grosse rumeur foireuse, entre nous, grosse rumeur foireuse.
Ouais, ça peut, ça, à mon avis...
On l'a publié sur Calciomio pour avoir des, des lectures.
Je crois pas trop, franchement non plus. Mais si ça se fait, il n'y a rien à dire. D'Agostino, c'est un excellent milieu de terrain.
Bon, enfin, D'Agostino, faut voir ce qu'il vaut sur deux saisons, parce que là, on s'emballe peut-être un peu tous.
Ah, mais ça fait déjà trois saisons qu'il est très correct à l'Udinese.
Hein. Ouais, ouais, mais ça fait une saison qu'il est vraiment au-dessus. Sinon, moi, je sais pas, quand j'ai entendu les négociations, quand j'ai vu que la Juve le voulait, ça m'a un peu fait mal, quoi. Quand tu entends que le président, il s'appelle bien Pozzo, non?
Pozzo, ouais.
Alors, quand je vois qu'il demandait 25 millions,
mais c'est un joueur qui a toujours voulu vendre ses joueurs correctement.
Ouais, ouais, oui, je sais.
Michel Aulas, transalpin. Mais...
Non, mais il se fait pas chier, ça j'avais compris. Mais bon, c'est quand même cher.
Quagliarella, il a vendu 18 ou 20 millions, je sais plus.
Ouf.
Voilà.
Non, mais bon, c'est. Moi je sais pas, je le trouve bon, effectivement. Surtout, là où je l'aime le plus, c'est un peu comme Pirlo, quoi. Devant la défense, il est capable de bien relancer le jeu.
Ah, mais ça enregistre, hein. C'est
ouais, c'est ça. Mais voilà, moi je sais pas. C'est un joueur que je trouve un peu surcoté, quoi.
Va falloir voir cette année encore, mais. Mm. Mais ouais,
puis comme d'habitude, c'est le genre de joueur qu'on connaît depuis 5-6 ans et puis qui a mis 5-6 ans à s'affirmer, donc on se méfie toujours un peu, ça. Ça, c'est clair et net.
À la Juve, à la Roma, ça a jamais été terrible, quoi, tu vois.
Donc, ouais, c'est ça, non, mais voilà, c'est des joueurs qui
explosent. Alors, je sais plus si c'est Modena ou Messina où il était avant l'Udinese.
Messina,
ouais. Bah, là, il a commencé à montrer une meilleure chose et puis à l'Udinese, là, c'est. Parce que l'an dernier, il a marqué une dizaine de buts, quoi.
Ouais, parce que c'est un tireur de pénalty aussi. Hein. Et de coup franc, pratiquement. Tous ses buts sont marqués là-dessus.
Ouais.
Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour un peu de la Serie A, posé certaines bases pour la saison à venir. Et puis évidemment, on en reparlera dans les semaines à venir, je pense dimanche prochain avec le derby qui va.
Et la Juve.
Hein. la Juve contre la Roma, mais j'ai peur que ça se finisse en boucherie, ça, sincèrement, pour la Roma, mais va falloir suivre tout ça un peu. Il y a une Serie A qui s'annonce très intéressante quand même. Voilà. Peut-être pas forcément. Avec des équipes qui font extraordinairement bonnes, mais avec une homogénéité plutôt intéressante.
Voilà, et pour conclure, la saison de la Serie A et l'actualité du foot italien à suivre, bien évidemment, Marvelo sur. Merci Marvolo. Sur www.calciomio.fr. Ce sera le mot de la fin pour moi, messieurs.
J'aime bien te mettre un petit vent comme ça. Tu as purifié, comme dit l'autre. Ah non, mais bah, j'imagine que tu vas vaquer à tes occupations. Helvetia, pareil.
Exact. Donc,
on vous remercie. Et pareil, des applaudissements. Allez, les applaudissements. Allez.
Bravo.
Merci. Ambiance familiale, conviviale.
C'est le secret. C'est le grand secret.
C'est des chiffres et des lettres. Tout le monde sait. C'est des Donc, on dit au revoir à Lala et Kinky Winky. Vous vous démerdez pour savoir qui est Lala, qui est Kinky Winky.
Préfère le jaune, donc.
Et puis, on va passer à la dernière partie qui emballe B-League. D'ailleurs, qui devant le nom va s'enfuir. La L.
L'Espagne.
Allez.
Et ben donc, je vais laisser Roméo s'en occuper.
Bah, oui, bah, salut à tous. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde. Mais donc, ce soir, aujourd'hui, s'est déroulé trois matchs. Bordeaux qui a battu Nice 4-0. Lille, donc ce soir, c'était en prime time sur Canal Plus Lille, qui a fait 1-1 contre le Toulouse Football Club, le TFC, cher Aaron Nieto. Et il y avait un autre match, mais bon, entre nous, on s'en fiche un peu, c'était Grenoble-Lens. Voilà, avec la victoire des Lensois, 2-1. Donc, non, on ne parle pas de championnat portugais. Et donc, bah, on va commencer par le match de Bordeaux, je suppose. Le match de Bordeaux, donc Bordeaux qui a battu assez facilement Nice 4-0. C'est un match qui a commencé difficilement pour Bordeaux, puisque il y a, au bout de 30 minutes, Nice était bien engagé dans le match. Et Nice a eu quelques occasions, Bordeaux avait un peu de mal. Puis petit à petit, grâce à un but juste avant la mi-temps, un but de Jussier sur un centre de
Trimoulinas
qui a d'ailleurs fait un excellent match encore une fois, et donc un but de Jussier qui a en quelque sorte libéré les Bordeaux. Puis après ça a été sans contestation possible, trois buts ajoutés par la suite en seconde mi-temps avec un doublé de Gourcuff et un but d'Alou Diarra. Voilà, et il me semble que tu as vu le match, Habib, et qu'est-ce que t'en as pensé?
Ils sont, bah, comme depuis le début de saison, il y a toujours la comparaison avec Marseille, on va continuer comme ça. Ils sont infiniment plus collectifs, infiniment plus tueurs, parce que, comme tu l'as dit ensuite, ça n'a pas du tout été facile ce match pour eux. Première mi-temps très 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 difficile, ils ont oublié, ça a complètement dominé. Et puis ensuite, bon, bah, comme tu l'as dit, Jussier ouvre le score. Et là, tout change à quasiment chaque attaque. À chaque fois que Bordeaux est monté, ils ont marqué. Donc, doublé de Gourcuff et but de Diarra. Gouffrand a fait une entrée énormissime. Mais vraiment, c'est à se poser la question si en fait il n'est pas meilleur en remplaçant qu'en titulaire. Moi, je pense que oui, surtout que Jussier, c'est un mec que j'aime beaucoup. Bon, il n'a jamais été gâché. Il n'a jamais été gâté par les blessures plutôt. Mais surtout, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Siani. Alors, il vient d'arriver de Lorient, il arrive maintenant à Bordeaux, impeccable. On n'a pas l'impression du tout qu'il souffre, aucun problème pour faire le fameux saut de qualité. Il est tout de suite très bon. Il a sauvé l'action la plus chaude pour les Niçois en deuxième mi-temps, où Rémy avec une superbe feinte élimine Carasso avant que Siani la sauve sur sa ligne. Et puis ensuite devant. Sans être très brillant, les Bordelais ont gagné 4-0. Et puis, pour ceux qui ont vu le match, je ne sais pas si vous avez vu un peu l'ambiance qu'il y avait à Champ-Delmas.
Mais oui, c'est vrai que
c'était hallucinant.
Oui.
C'était hallucinant. Et puis, je vais finir sur mon gros chouchou côté niçois, le boucher Mabiala. Mais comment peut-on rester sur le terrain avec des agressions pareilles? C'est monstrueux ce qu'il a fait subir au Bordelais, quoi. Je comprends absolument pas comment il peut rester sur le terrain. Je sais, toi tu as vu le match, donc tu as dû le voir aussi, mais.
Putain, oui, c'est vrai que c'était assez impressionnant.
Ah, en deuxième mi-temps, moi je pensais qu'il cherchait vraiment à se faire expulser.
Oui.
Il a d'abord taclé Gourcuff méchamment, puis il est allé avec, comment il s'appelait, sur Bélion, un tacle par derrière. Mais, à un moment. Je sais pas, moi j'ai trouvé vraiment mauvaise. Et puis, bah, les Bordelais, je pense qu'ils sont au-dessus de tout le monde cette année. Pas que mathématiquement, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été super brillants, mais ils gagnent 4-0. Et les Niçois sans Antonetti et avec Didier Olé-Nicole, ça va être vachement plus compliqué pour eux.
Oui, Oui, vachement plus compliqué que l'année dernière, tu dis.
Ouais, bien sûr, vachement plus compliqué que l'année dernière. Bah voilà, même si bon, ils ont déjà gagné un match, ils ont fait un match nul, donc c'est pas, ils ont 4 points en 3 matchs, c'est pas ridicule, mais j'ai l'impression que si tu veux, ce que faisait Antonetti, c'est-à-dire il tirait toujours 100%, il tire toujours 100% de ses joueurs, eh ben je suis pas sûr que Didier Olinicol soit aussi bon psychologiquement. Et même voilà quoi, d'un côté c'est un mec qui a vraiment l'expérience de la Ligue 1 et l'autre un peu moins. Donc,
Je suis pas d'accord.
Et puis avec un nom pareil, non je plaisante.
Moi je suis pas d'accord, le nouvel entraîneur de Nice. J'ai vu un peu les premiers matchs de Nice et je trouve que tactiquement il a mis quelque chose en place.
C'est assez simple. Mais moi je parlais pas de tactiquement, hein, soyons clairs. Je te disais au niveau, je te disais si tu veux, parce que les entraîneurs, tu sais très bien, il y a les meneurs d'hommes, c'est les Antonetti, Ferguson, c'est les Guiret. C'est de l'autre côté, t'as les grands maîtres tacticiens, les Benitez, les Pusidink. Moi, Ole Nicole, tu vois, ce serait te mentir que te dire que je suis son parcours. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il a brillé dans les catégories inférieures. Alors, est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. Mais moi, tu vois, c'est par rapport au charisme qu'avait Antonetti que je me pose des questions.
Moi, personnellement, j'ai une grande confiance en Ole Nicole. Je pense que Nice va faire une grosse saison. Aujourd'hui, ils ont pris une valise. En même temps, c'est Bordeaux. Mais sur le peu que j'ai vu depuis le début de la saison, je pense qu'ils vont faire une grosse saison. Moi, j'en reste persuadé.
Parce que grosse saison, tu veux dire quoi au juste?
Justement, comme je te disais déjà, tactiquement, ils sont beaucoup mieux en place défensivement. Ils sont beaucoup plus solides. Bon, malheureusement, le 4-0 d'aujourd'hui...
Offensivement, par contre, à revoir, hein.
Parce que si tu veux, tactiquement, tu vois qu'il soit plus solide, c'est pas spécialement une surprise parce que bon, ça n'a jamais été. Antonetti, c'est pas un grand tacticien. C'est plus un mec qui sait remonter les joueurs. On l'a vu, hein. Nice, il y a des matchs où ils savent qu'ils sont moins forts que l'adversaire et donc du coup, ils hachaient le jeu, ils le fermaient bien. Ça, est-ce que Ole Nicole sait le faire? Moi, je sais pas, franchement. Après, moi, je sais pas si vous le connaissez, vous l'avez vu un peu en Ligue 2 avec. Il était à Clermont, il me semble, non? Ou Châteauroux, je sais plus.
Oui, il était à Clermont. Il a fait du très bon boulot, d'ailleurs.
Ouais, j'ai vu qu'il... Je sais qu'à Clermont, il avait été une fois deuxième ou champion national, il me semble.
Et oui, il les a fait monter, après, il les a maintenus en Ligue 1, quoi.
D'accord.
Ligue 2.
Et puis, c'est avec quelle équipe?
En Ligue 2, je veux dire, en Ligue 2.
Animo aussi, il avait fait du bon boulot.
Voilà, c'est ça. C'était avec eux qu'il était arrivé loin en Coupe de France, non?
Ouais, en 2005, 2009.
C'est ça. Ouais, c'est bien ça, donc ça, j'ai entendu. D'accord.
Et justement sur le plan tactique, j'étais pas tellement d'accord. Enfin, plutôt offensivement, je parle, parce que du côté Nice aujourd'hui, il a joué avec Rémy seul en pointe. Et Rémy, lui, il s'est centré souvent sur un côté. Résultat, quand il essaye de centrer, il y a personne dans l'axe et c'est souvent ce qui pêchait quoi pour Nice quoi. Et il se retrouvait avec jamais plus de deux joueurs à vocation offensive. Donc offensivement,
tu avais Elbuig, tu vois, qui était toujours très loin, qui était plus proche de Pesley que de Rémy.
Et pareil pour Ben Saada, je pense qu'il n'était pas assez présent, il repiquait pas souvent dans l'axe quoi, quand Rémy décrochait.
Je pense que par contre, il aurait pu faire rentrer Bagayoko plus tôt. Parce que Bagayoko, quand il est rentré, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais là au moins il est là, quoi, il est présent.
Oui, ça manquait d'un avant-centre, d'un mec qui prend moins les espaces que Rémy, qui serait plutôt dans la finition.
Rémy, côté.
De Rémy. Oui, voilà, il décale
comme,
beaucoup sur un
comme
côté.
Comme Rémy,
oui.
A tendance à toujours partir sur un côté. D'ailleurs, il a été bon, hein, tout à l'heure.
Il s'est amusé.
Il manque vraiment quelqu'un, quoi, capable de finir et d'être au centre et d'attendre le ballon pour marquer, quoi.
Oui.
Moi, je pense que Ole Nicole est parti à Bordeaux. Il s'est dit, allez, je vais mettre tout le monde derrière et puis on va jouer les contres. Et puis voilà, il s'est fait avoir assez vite. Et donc voilà, tout a été remis en cause quoi, trop vite pour lui je pense. Et que c'est peut-être ça son inexpérience encore en Ligue 1 quoi. Mais je pense que au départ il partait du fait que allez, on va maintenir le truc, on va être costaud. Et puis Bordeaux a fait le truc et ça a craqué quoi.
Je sais pas si c'était la bonne solution quand, surtout quand on voit le résultat quoi. Je pense qu'il valait mieux pour lui d'essayer de créer plus de dangers offensivement, surtout que Bordeaux, comme on l'a vu en première période, avait beaucoup de mal physiquement. Et je pense que si, au contraire, Nice aurait continué de pousser, quoi, avec plusieurs joueurs à vocation offensive, je pense qu'ils auraient pu trouver la solution. Après, ça se discute, quoi. s'il a voulu justement.
Ah, et en plus il a des joueurs pour créer, donc c'est vrai.
Voilà, que... exactement. Donc c'est pour ça que j'étais un peu étonné de voir cette animation.
Et Aurélien qui voulait enchaîner.
Ouais, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Marvelo sur Siani. Bah pour dire que pour moi la meilleure recrue de Bordeaux après Gourcuff cette année c'est Siani. Je veux dire l'année dernière il a été très sous-estimé en Ligue 1. Il a fait 28 matchs où il est à la moitié. Il est rentré en cours de jeu. Il a marqué 4 buts. Je veux dire c'était sa saison la plus complète à Lorient. Il y a personne qui en a voulu à part Bordeaux. Je veux dire ils ont vraiment fait une action. Ce soir j'ai vu un peu le résumé. Là je vois qu'il sauve les meubles sur une action. Il
ouais, c'est Rémi, un ballon ouais, sur la ligne.
Ouais, c'est ça.
C'était le meilleur sur le terrain.
Voilà, ouais. Et je pense qu'il va vraiment donner une nouvelle dimension parce que pour moi, il est supérieur à Diawara, je veux dire. Et puis, que ce soit avec Planus ou Enrique, il n'y a pas de problème. Il va assurer l'année dernière avec Lorient. On perdait quand il y avait Marshall et Janton. Et dès qu'il y avait Siani, il faut regarder les stats, mais je crois qu'on a perdu qu'une fois avec Siani titulaire. Je veux dire, il est excellent.
Et puis moi je te dis surtout parce que on a vu un petit peu lors des premières journées la charnière c'était Enrique Planus il me semble et oui. Pff, ouais, quand on voit ouais c'est ça c'était Enrique Planus tu sais qu'il y a eu Siani c'est à un autre niveau quoi tu le sens il est en plus tu vois le niveau de jeu c'était pas la question en fait parce que le gros problème des joueurs comme ça c'est ce que je disais c'est le saut de qualité est-ce que mentalement il va digérer parce que ben Lorient c'est pas que c'est un club de merde ou quoi que ce soit mais à la ouais. limite s'il se plante un ou deux matchs c'est pas grave on va surtout Gourcuff on le connaît il va pas l'enfoncer tout de suite il va lui faire confiance il va lui donner sa chance à Bordeaux il aura peut-être pas ce temps d'adaptation là même si bon je pense que Laurent Blanc c'est parmi les entraîneurs de Ligue 1 je crois que c'est celui qui sait le mieux parler à ses défenseurs surtout moi je pense que voilà la combinaison Siani-Laurent Blanc c'est très bon pour Bordeaux et c'est peut-être même très bon qui sait pour l'équipe de France
je suis d'accord et puis Marvelo je voulais revenir la qualité de Siani c'est son moral parce que la dernière je disais il a été blessé au moins 7-8 fois et chaque fois il est revenu et il était au top niveau quoi. Chaque fois il a été jamais touché alors qu'un joueur qui est autant blessé pendant une saison il ne retrouve pas son niveau tout de suite alors qu'il a été indispensable à chaque match je veux dire il était avec une jambe et demie à jouer sur le terrain il était là présent c'était vraiment excellent.
Et puis au-delà, de toute façon, je pense que son mental, il l'a forgé parce qu'il a eu un parcours très atypique, viré par Auxerre, ouais. Par à Charleroi, à Sedan.
Jouer à Charleroi, ouais, c'est très. Voilà, donc... Franchement, jouer à Charleroi, c'est pas un cadeau. Hein. Ça te prend. Hein.
Quand tu sais que le highlight de ta saison, c'est jouer contre Nicolas Fritos, tu peux. Hein. Non, mais.
C'est clair.
Et puis, j'aime bien un peu ce petit côté baraque à frites qu'il a, tu sais, c'est. Non mais bon, moi je pense qu'avec Planus ça peut être une des meilleures charnières de Ligue 1 parce que en plus les deux c'est pas le même profil évidemment de joueurs mais médiatiquement c'est le même profil parce que c'est des très bons joueurs, très bons défenseurs de Ligue 1 ouais. qui sont largement sous-estimés. Moi c'est surtout ça si tu veux qui m'a impressionné aujourd'hui en regardant le match et qui m'a vraiment inquiété pour dimanche prochain, c'est que on les sent très très sereins quand même les Bordelais, mais ouais, très bah, sereins.
C'est ça ouais. qui fait leur force, c'est qu'ils sont vraiment solides, quoi. Tu vois, on sait pas vraiment comment les bouger parce qu'on sent vraiment la solidité et même dans le jeu, ils sont, c'est serein et tout, c'est costaud, quoi.
Et puis le truc qui fait peur, c'est de se dire que Gourcuff a été nul, il a marqué 2 buts, quoi. Il a été très moyen, il a mis 2 buts.
C'est ce que je te disais, ouais, justement. C'est même si Gourcuff pas mal, c'est ça qui fait peur, quoi, justement.
C'est exactement ce dont on parlait, tu sais, tout à l'heure. C'est...
Ouais, exact. Ouais. Il te fout des buts et ouais, ça fait peur pour les autres équipes.
Mais franchement, il était pas inspiré sur ce match-là. Mais bon, il a eu deux actions. Moi, je pense que par contre, tactiquement, le bon coup, c'est d'avoir fait rentrer Gouffran. Alors bon, il rentre alors qu'il menait déjà 2-0. Donc on peut dire que sur le résultat, ça change pas grand-chose. Mais voilà, quoi. C'est pas mal du tout, surtout le troisième but où. C'est une combinaison avec lui, quoi. Moi, je l'ai trouvé. Voilà. Franchement, il m'a impressionné, Gouffran aussi.
Ouais, il apporte une certaine fraîcheur en fin de match. Il fait beaucoup de bien quand il rentre, c'est vrai.
Et j'aimerais souligner aussi l'excellent match de Tremoulinas qui, comme d'habitude, qui est vraiment bon sur son côté gauche. Avec Steven Dell, il me semble, juste ici à droite. avec Wendel, ça a pas trop mal marché cet après-midi. Et Trimoulinas, pour moi, s'affirme comme un des meilleurs, voire le meilleur latéral gauche de Ligue 1 en ce moment.
Ouais, c'est clair, il confirme.
C'est clair. Maintenant que Mathieu est parti.
Voilà. Ah oui. Non mais oui, c'est
bravo vraiment... la Ligue 1 d'avoir laissé partir Mathieu. Je vais le dire chaque émission trois fois. Comme ça. Bravo la Ligue 1 d'avoir laissé Mathieu partir. Mais bravo.
Bref, non mais moi je voudrais revenir vite fait sur Bordeaux. Roméo, je suis tout à fait d'accord avec toi pour Trémoulinas, ça c'est un des meilleurs à gauche de Ligue 1 avec Wendel sur le côté gauche, c'est l'une des plus belles paires sur le côté gauche de notre championnat. Bordeaux, je l'ai dit il y a maintenant 3 semaines. Pour moi, c'est le candidat le plus sérieux à sa propre succession pour le prochain championnat. Comme vous l'avez souligné aussi, Siani, ça a été un recrutement très très malin et très très intelligent pour remplacer Souleymane Diawara, parti à Marseille. Moi, je vois vraiment pas beaucoup de points faibles dans cette équipe. L'année dernière, on disait que le point faible, c'était le gardien de but Ulrich Ramé. Maintenant, ils ont pris un super gardien qui s'appelle Carasso. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je vois pas vraiment de points faibles dans cette équipe. Hein.
Le banc touche.
Tu dis bonne touche, Habib, mais tu nous dis que Gouffran est bon en tant que
remplaçant. C'est pas parce que tu as un mec qui est bien rentré que le banc de touche est bon.
Ouais.
Le meilleur exemple, c'est le Barça. Ils ont des bons joueurs sur le banc de touche, mais est-ce que tu trouves que le banc de touche est complet?
Non.
Si tu perds Gourcuff, mais ils sont morts. Ils ont absolument personne pour mener le jeu de
l'équipe. Même pas Jussier pourrait prendre sa place.
Non. À la limite, Fernando, peut-être en jouant un peu plus haut, peut-être. Mais Gourcuff, je vois absolument pas de remplaçant. Et le problème, c'est qu'il joue tellement. Il y a deux problèmes à ça. C'est que déjà, faudra qu'il m'explique Laurent Blanc, c'est quoi son délire de le faire jouer tout le temps 90 minutes. Et tout le temps.
Gourcuff.
Il joue tout le temps 90 minutes. Mais tout le temps. Aujourd'hui, il gagne 4-0. Il l'a fait jouer 90 minutes.
À mon avis, il doit tenir. Hein.
C'est peut-être le moment de, je sais pas moi, 2-3-0, tu le fais sortir. Bah déjà d'une part, je pense que ça fait plaisir à tous les joueurs de se faire ovationner.
Bah ouais.
Surtout que voilà, comme je t'ai expliqué, le deuxième but est marqué à la 52e et le troisième à la 78e. À la 70e, tu sais, il marque un doublé. À la 70e, à la 71e, tu fais bon allez, je t'offre un cadeau, tu te fais applaudir. Quand Schmach est sorti, il était heureux parce qu'il s'est fait applaudir, mais c'était monstrueux les applaudissements. Ouais. Lui, il le fait jouer 90 minutes tout le temps.
Est-ce que Chamac reste à Bordeaux? Est-ce que c'est pas une sorte de recrue, quoi? C'est une sorte de c'est une sorte de recrue que Bordeaux a je sais pas comment dire, mais a recruté, quoi, à se garder.
Bah la question c'est de savoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je reste à Bordeaux » ? Est-ce qu'il va vraiment rester puis partira gratuit à la fin de l'année ? Ou alors, ils vont lui faire une énorme augmentation de salaire avec un prix fixé, tu vois, une clause de départ, mais déjà fixée ? Faut voir.
Ouais.
Ils vont lui faire une clause et il va partir en juin.
Mais Raleigh, tu parlais de points faibles. Moi, j'en vois un là qui commence à se dessiner. Mais j'ai l'impression que Kavenaghi, ça devient un problème au fil des matchs là depuis depuis le début de la saison. Il est pas vraiment bien et son association avec Chamac est pas bonne. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs Bordelais qui demandaient un retour en 4-2-3-1 avec Chamac seul en pointe. Parce que Kavenaghi là, il est lent. On a l'impression qu'il a foiré sa préparation. On se demande s'il a pas trop vieilli, quoi.
Oui, mais non, mais
j'ai peur que ça devienne un problème pour Bordeaux, le fait que Kavenaghi ne soit peut-être pas au niveau cette année.
Non, je pense pas que ça va être un problème. Je pense que Laurent Blanc va bien gérer son joueur argentin. Il va gérer cette situation qui est un peu délicate. Même l'année dernière, il a dû la gérer entre Chamac, Bélion, Kavenaghi. Maintenant, c'est vrai que, de toute façon, tous les voyants sont au vert pour Bordeaux pour l'instant, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème. Je pense que quand on a une équipe qui gagne, il ne faut pas la changer. Et je ne pense pas qu'il va la changer, Laurent Blanc. Vas-y, Aurélien.
Bah, je voulais rajouter pour l'attaque de Bordeaux, tu cites Kavenagi, tu cites Bélion, tu cites Chamac, mais il faut pas oublier aussi le grand espoir qui est Seve, qui a été blessé l'année dernière toute la saison et qui, au vu de ce qu'il avait montré lors de la Coupe du Monde Espoir des moins de 17 ans, si je me trompe pas, est un très très grand. Hein.
On le voit pas beaucoup encore. Bah.
Mais il a été blessé l'an dernier, il a pas pu jouer un seul match, quoi. Il a été blessé tout le temps.
Après, ça fait peut-être limite pour viser le titre ou la Ligue des Champions, quoi.
Oui, mais moi je pense qu'il peut éclore cette année avec quelques matchs en coupe, etc. et s'est révélé et être l'arme surprise de Bordeaux.
Mais est-ce que c'est pas trop tôt?
Voilà, c'est trop tôt ça que j'ai peur.
Après, s'il a vraiment le niveau, tu vois, évidemment, faut le lancer. Mais bon, je pense que tu sais mieux que moi qu'en France, quand t'as pas 23 ans, que t'es pas international, bah tu joues pas.
C'est vrai, même pour moi, il faut lancer parce que le match où je l'ai vu et qui m'a époustouflé, c'est face à l'Espagne en quart de finale de la Coupe du Monde des Titans. Et en face, il y avait un autre joueur qui m'a beaucoup moins plu et pourtant je savais que c'était un grand espoir du foot, c'était Borja Krikic de Barcelone. Et franchement, il joue en ce moment. Il a sa chance à Barcelone.
Il a marqué ce soir.
Il n'aurait pas sa chance.
Un super but aujourd'hui.
Voilà. Donc pour moi, il doit jouer. Il doit avoir sa chance, en tout cas, pas jouer titulaire, mais faire des bouts de match, jouer en coupe ou des trucs comme ça, quoi.
Bah, c'est le même problème
pour Pentecôte aussi, hein.
C'est le même problème pour Xavier Pentecôte à Toulouse aussi, c'est le même problème.
Eh oui, chers auditeurs, on connaît la Ligue 1. On a sorti Xavier Pentecôte. on va faire 10 secondes de noms improbables. Allez, on va faire une petite tournante de noms improbables. Tu que tu as un nom improbable à sortir.
Non, mais Anne nous a tellement saoulé avec Pentecôte que voilà, quoi.
Moi, je vais tenter Cyril Chapuis. J'avais envie de dire Cyril Chapuis. On le dit pas assez, Cyril Chapuis.
Moi, j'ai envie de dire Jean-Pierre Cyprien.
Ouais. Rachman Barry.
Michel Gaffour. Alors là, je crois que c'est terminé. Non, mais voilà, c'est un...
Rudy Haddad.
Franck Dumas en tant que joueur.
Salim Benachour.
C'est un malheur.
Eh, va pas le Tunisien, s'il te plaît.
On se calme.
Ah non, mais bon. Bon, je pense qu'on va enchaîner le prochain match.
Non, mais pour revenir à la défense bordelaise, il y a Carlito Brigante qui nous dit « Kenrique est bien meilleur que Planus, mais beaucoup plus irrégulier. Bordeaux n'est pas transcendant, mais effectivement, leur sérénité est impressionnante.
Bah, » Carlito Brigante, ben... Bah... Je pense qu'on en a beaucoup parlé pendant qu'on regardait le match, vu que c'est lui qui m'a passé le lien et j'ai pu en parler avec lui. Ouais, c'est surtout ça qui, quand on en discutait en off, c'est ça qui nous a frappé, quoi. Ils ont eu, je crois, 5 attaques dans le match, ils ont marqué 4 fois, quoi. Ouais. Par contre, Enrique, le problème, c'est le fait qu'il soit irrégulier. Qu'est-ce qui est le mieux, si tu veux, comment on va appeler ça? Qui est le Oh, j'ai du mal à formuler. Ou plutôt, quel serait le meilleur complément
c'est si à cause de Raleigh.
Ouais, c'est Raleigh. Tu restes trop avec Raleigh, tu sais plus parler.
Oh. C'est pire que la grippe.
Oh. Quand tu parles avec Raleigh. Non, je voulais te dire. C'est ça, je pense qu'il vaut mieux lui mettre Planus, même si il peut être moins bon. Mais l'avantage, c'est que bon. Planus est régulier. Et je pense que c'est ce qu'a besoin Siani. Parce que Siani, alors là, pour le coup, je ne sais pas si c'était le patron de la défense à Lorient.
Oui, c'était le patron de la défense à Lorient. Ouais. Mais son problème, c'est les relances, quoi.
Ouais. Après, qui est meilleur en relance à Bordeaux, est-ce que c'est Planus ou Enrique? Ça,
je serais incapable. Moi, c'est Planus.
Ah oui, c'est moi, Planus. Je serais incapable de te le dire, franchement.
Niveau pour placement, moi, c'est anticipation, placement, Planus. Il... Ah.
La charnière est peut-être plus complémentaire avec Siani et Planus, je pense, que Enrique, c'est pour ça.
Pareil.
Et d'ailleurs, et Carlito Brigante aussi nous parle du cas Seve. Il nous dit que Seve a 19 ans, il est pro depuis 3 ans, il est intégré dans le groupe et jouera sûrement les matchs secondaires de Coupe de la Ligue ou de Coupe de France. Ou alors... Si l'Europa League, si jamais Laurent Blanc décide de ne pas la jouer, enfin, on ne sait pas. Mais il devrait intégrer l'effectif bordelais petit à petit, passer devant Bélion en quatrième choix. Voilà ce qu'il dit.
Surtout que Laurent Blanc a l'habitude de lancer des jeunes quand même. On l'avait avec la saison passée avec Abou Traoré ou Sertic.
Oui.
Donc, je pense qu'il pourrait l'adapter aussi.
Et d'ailleurs, Sertic, on le voit encore. Il joue encore là. Il joue des
bons. Oui, mais il est dans le groupe, hein.
Ouais.
Là, il n'a pas joué parce que Laurent Blanc lui a préféré Jussier en relayeur droit, un peu plus offensif que Sertic. Voilà. Plutôt, même, il l'a même préféré à Plasil. Voilà pour Sertic. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à Bordeaux ou Nice, ou par rapport au match.
Super équipe. C'est une super équipe Bordeaux. Bon.
Ah, on a compris, oui, Ralette.
Ça me faudrait arrêter.
Ouais. On va avoir droit à un gros match.
Ça me fait un peu chier, mais bon, voilà, il faut dire les choses comme elles sont, hein, c'est tout.
Ah, ça te fait chier, oui.
N'ayons pas peur des mots, Ralette.
Exactement, n'ayons pas peur des mots. Non, mais voilà, c'est un rouleau compresseur, comme je l'ai dit, ça fait penser à Lyon. Des grandes années, hein. C'est une équipe qui va être redoutée, qui va faire peur à beaucoup d'équipes. Et la semaine prochaine, il y aura un gros test à Marseille, et ça va être un match très 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 intéressant à voir, et je pense qu'il y aura beaucoup de questions et de réponses qui vont être dites lors de ce match la semaine prochaine.
Il y a d'autres réactions. Yac B qui me dit que Laurent Blanc croit beaucoup en Sertic chez CV, donc ils joueront pas mal cette saison. Il me dit d'ailleurs que CV, c'est du lourd. On verra.
Et ça, c'est du lourd.
Oui, calme-toi, allez, calme-toi. On sait que j'ai bien mangé, c'est le ramadan, mais calme-toi.
Ah, ben là, c'est bon, là.
Et il y a une autre réaction de Carlito Brigante qui nous dit que si Anne Henrique c'est le mieux, faut le faire jouer Henrique, son potentiel est bien supérieur à Planus qui est trop limité face à un Nyang. Planus il crève. Planus balance des pastèques sur Chamac, Henrique fait des passes à 10 mètres sur Chalmé et Tremoulinas. À vous de choisir. Sertic c'est encore un joueur limité, il y a mieux que lui à l'heure actuelle. Voilà ce qu'il me dit. Voilà. Et on me rajoute que Cévez c'est Aubertin puissance 10. Voilà.
Ouais, j'attends de voir avec ça. Hein.
On verra.
Et puis j'attends de voir Aubertin coaché par Ferguson aussi. Hein. Je sens que les Bordeaux ils se mordent les doigts.
D'accord avec toi.
Ils se mordent les doigts. Je vous rappelle juste que Ferguson, alors les plus jeunes s'en rappelleront peut-être pas, mais quand Ferguson prend York et Cole, tout le monde se fout de sa gueule. C'est pas du tout complémentaire, c'est le même profil, triplé historique. Donc rigolez pas trop.
Aubertin, c'est ouais, comme
faut pas, mais c'est ça, mais faut pas s'étonner quand il y a Ferguson qui arrive et qui dit je prends le remplaçant à Bordeaux.
Non mais Aubertin, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un grand espoir du football français, et j'ai pu voir il y a 2-3 ans au Parc quand il nous a fait mal sur une défaite 3-1, je crois. L'autre qui soit parti à Manchester.
Allô.
Ça a coupé.
Ah, ça a coupé. Bon, c'est pas
grave. Oui, on a eu un petit bug, excuse.
Voilà. Je sais pas si vous m'avez écouté ou pas.
Non, t'as pas entendu.
Vas-y, non, je disais que Ricardo, il était très bon avec Ricardo. Enfin, Aubertin était bon avec Ricardo, voilà. Mais Laurent Blanc lui a jamais vraiment fait confiance et ça
exactement,
peut freiner sa progression. Mais je pense que Ferguson, il sait canaliser un joueur. Et
je pense aussi voilà, qu'il y aura des joueurs autour de lui et qu'il pourra bien apprendre, quoi.
Je pense que avec tout le respect que j'ai pour les Bordelais, t'apprends plus en jouant à côté de Rooney, Berbatov, et Giggs, Scholes, plutôt qu'avec Gourcuff et Tremoulinas, même si c'est de bons joueurs.
Oui, ouais. Oui. Et d'ailleurs, pour Aubertin, sur le sujet Aubertin, encore une fois, il y a Carlito Brigante, qui est très actif ce soir, disons, qui dit qu'on ne peut pas se mordre les doigts pour la bonne raison qu'Aubertin en avait rien à branler de Bordeaux. Il est devenu exubérant par son manque d'envie et de volonté. Il va sûrement exploser en première ligue, mais les regrets, tu peux pas les avoir quand on ne pouvait rien faire pour lui ici. Il a pas su se sortir les doigts pendant ces périodes de doute. Voilà. Et
Moi, je suis pas d'accord. Franchement, je suis absolument pas d'accord sur ce qu'il vient de dire pour une raison très simple. Lui-même, on en a parlé il y a pas très longtemps, et lui-même m'a bien confirmé ce que j'ai dit à l'instant, à savoir qu'il jouait bien avec Ricardo et très mal avec Plan. Et tu ne joues pas, tu peux pas passer du statut du super remplaçant qui tue et qui déchire tout le monde sur les fins de match à la petite merde qui fait rien, tu vois. C'est pas possible, c'est pas juste footballistique, ça, c'est une histoire de confiance. Et je pense que s'il est pas bon, c'est surtout parce que Blanc lui fait absolument pas confiance. Et d'ailleurs, Blanc, il y a qu'à voir les joueurs qu'il a. Alors, évidemment, tu as un Gourcuff qui est flamboyant, un Schimmer pareil, Jussier, tout ça. C'est des mecs très bons tactiquement. Mais là où ils sont vraiment forts, c'est qu'en plus d'être très bons techniquement plutôt, tactiquement, ils le sont aussi. Ils sont très disciplinés. Je pense honnêtement que Laurent Blanc n'aime pas trop les joueurs très exubérants. Et tu vois, donc d'ailleurs, quand tu vois les joueurs, même les plus grands joueurs avec lesquels a joué Blanc, c'est des mecs qui ont peut-être une énorme capacité technique, comme Zidane, comme Ronaldo. Je pense qu'il a joué avec lui à... Il a joué avec lui à l'Inter, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai même un gros doute, honnêtement. Mais bref, c'était des mecs... Un Zidane, tu vois, tu peux pas lui reprocher de pas comprendre le jeu. Tu peux pas lui reprocher d'être mauvais tactiquement. Il est super discipliné. Et c'est exactement pareil. C'est le schéma qu'il essaie de reproduire. D'ailleurs, il est parti, il est passé à Manchester. Il a beaucoup appris de Ferguson. Et justement, ça, moi, si j'étais un disciple de Ferguson, voir que mon maître veut me prendre un de mes gamins... Moi, je la verrais pas ça d'un très bon œil, parce que si Blanc n'a pas réussi à exploiter son potentiel, c'est pas dit que Ferguson ne réussira pas. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'ils sont foutés de Bordeaux, parce que les joueurs et surtout les jeunes en France, ça il faut le rappeler, on le rappellera autant de fois que c'est possible, quand ils se rendent compte que en France, même s'il joue bien, même s'il fait de bonnes entrées, il n'a pas de temps de jeu parce qu'en face de lui il y a un mec de 25 ans et donc du coup l'entraîneur lui donne plus de crédit, ben, n'avance plus, quoi.
Marvelo, je vais te rejoindre sur le cas Aubertin en disant que lors de son prêt à Lorient, Gourcuff, il a dit qu'il avait un talent incroyable, mais que lui, il pouvait plus rien lui apprendre, que le joueur avait pas envie d'être prêt à Lorient, il avait pas envie de jouer. Donc, à part face à Lyon, où il a bien joué parce que c'était Lyon et qu'il y avait les médias. Et quand il est parti à Manchester United, Gourcuff a dit cette phrase qui m'est restée dans la tête. S'il y a un entraîneur qui peut faire d'Aubertin un excellent joueur de football, c'est bien Ferguson.
Bah ouais, parce que on en parlait tout à l'heure, ben des différents types de coachs. Lui, c'est un psychologue, c'est un mec qui sait canaliser. Je pense qu'il y en avait des milliers qui insultaient Ronaldo. C'est un joueur de pitch volley, c'est un joueur de salon, et c'est un joueur de merde. Quand on voit en quoi il l'a transformé, c'était vraiment pas donné à son arrivée, quoi.
Oui. Et d'ailleurs, excusez-moi, je viens d'éclater un moustique qui m'a bien éverné, voilà. Donc il est mort maintenant, désolé pour lui. Et donc Carluto qui rajoute encore: Aubertin n'a pas su faire son trou dans l'organisation de Blanc. Aubertin était parfait dans un 4-3-3. CF, son match au Vélodrome, où on l'a rarement vu aussi percutant. Sauf que Blanc n'a jamais reconduit ce schéma alors que c'était énorme. Kavenagi, Schmar, Aubertin, c'était monstrueux.
Voilà, la faute à qui alors?
Bah,
on se demande. Ah, dans ce genre de cas, comme ils disent, ben, c'est les torts. Comme l'a dit Carlito, les torts sont partagés. Il a raison. Il y a une part de responsabilité qui incombe à Laurent Blanc et une autre part pour lui, quoi. Dire que, voilà, pour que ce soit pas mal interprété, je dis pas que c'est que de la faute de Blanc, parce que ça ne se passe jamais comme ça. C'est toujours le joueur qui lâche un moment. Donc, c'est dommage, quoi.
Voilà, pour le cas Aubertin. On a beaucoup parlé d'Aubertin.
Le retour.
Ah, on a vu des buts de Samassa et une Madjar de Boumsong, alors.
On est préparé.
Ouais, ça surprend même plus. Non, mais Boukari qui marque. Boukari qui marque, c'est pas une surprise non plus. Hein. Très, très bon joueur.
Voilà.
Et ça se comprend au Grenoble.
Ça se comprend au Grenoble. Bah, Grenoble, on l'a dit, hein, qu'ils allaient souffrir, hein. Ça, c'est... Ah,
deux matchs à domicile de défaite, s'il y a eu Marseille, mais bon.
Et pour revenir sur Grenoble, la défense, elle fait peur, hein, parce que je veux revenir au but d'Eduardo, qui est certes magnifique, mais les défenseurs sur ce but-là, franchement, je sais pas où ils sont, mais les...
Ah, redonne juste les deux noms et tu vas comprendre mieux.
J'ai Malice, Sandy Payot, voilà.
Voilà.
Il y a pas César aussi, de l'ancien Marseillais.
Ouais, mais il jouait pas, je crois, aujourd'hui.
Ah, non. Eh ben, dommage que Bostian César n'ait pas pu fouler les pelouses de France, voilà, aujourd'hui. Donc, dommage pour Bostian, mais on va passer à l'autre match de la soirée. Le dernier match, le match qui a été diffusé en prime time sur Canal Plus, commenté par, je sais plus qui, et Willy Sagnol.
Donc, Exit
Dugarry et Margoton, je sais pas, ils sont peut-être en vacances, ou je ne sais où. Et donc, le hold-up parfait pour Toulouse, hein, qui a fait match nul 1-1 à Lille, grâce à un but de Cheikh Cher Bengue. Voilà, oui, parce que le M se prononce bien. Oui, je galère. Cheikh Mbengue, le grand match. Donc, et alors que Vitek avait ouvert la marque pour les Lillois, après une frappe sur le côté gauche d'Obraniak, puis Vitek reprend le ballon et s'est contré deux fois, donc voilà. Et Toulouse a fait un petit hold-up et malgré donc la domination lilloise, ils peuvent être contents de ce résultat parce que au vu du jeu fourni par les Toulousains, au vu de l'émission, c'était pas vraiment terrible. Et d'ailleurs, Toulouse avait aligné un 4-2-3-1, pas du tout comme le 4-3-3, 4-1-4-1 de l'année dernière, avec Machado en milieu gauche. Assez surprenant. On pensait que Saint-Étienne il a bien joué, il a fait la saison en relayeur gauche, certes. Et avec Braten sur le côté droit, puis Dido et Gignac. De ce fait, l'équipe toulousaine était un peu coupée en deux. Il y avait Gignac seul devant et pas trop de solutions. Le milieu lillois a bien contré les Toulousains. Voilà. Donc il me semble que Habib, t'as vu le match aussi. Non. Non, tu l'as pas
non,
vu.
Non, absolument
match.
Pas.
Moi, j'ai vu le match.
Absolument pas. J'étais concentré à la fois sur le match de la Juve et le match du Barça. J'ai pas pu voir Lille Toulouse. Enfin, pu et voulu voir.
Moi, j'ai vu le match d'un œil. J'ai vu les relances toulousaines qui subissaient devant leur but. Ils jouaient à 10. Allez, je vais pas dire à 10 derrière, mais.
C'est surprenant,
ça. Ils subissaient, et puis voilà, ils balançaient sur Gignac. Bon, voilà, j'ai arrêté de regarder.
Toulouse qui joue à 10 derrière, j'arrive pas à le croire, ça.
Ouais, ça change pas beaucoup de la saison dernière, apparemment.
Ouais, exactement.
Et une petite erreur, c'était Machado, il était sur la droite et c'était Braten à gauche, voilà. Excusez-moi.
Mais ouais, gros hold-up hein, de Toulouse, parce qu'apparemment Lille a vraiment super dominé le match, même en niveau possession, en niveau occasion, et c'était pas mérité, quoi. Sur ce que j'ai entendu.
Ah, oui, bon, c'était assez chiant comme match, faut le dire.
Pour t'avouer, franchement, je regardais d'un œil ce match. Donc, je pourrais pas donner une analyse précise. Mais voilà, comme j'ai dit, quand j'ai vu que Toulouse fermait le jeu et balançait des ballons sur Gignac pour jouer les contres, ça m'a pas trop intéressé. J'ai vu que Hazard avait un peu de mal, j'ai vu que Gervinho était sur le banc, donc ça m'a déçu parce que moi je voulais voir Gervinho et Hazard parce que quand j'avais vu les deux alignés face à l'OM, ils avaient mis le bazar en 10 minutes et que là on n'a pas eu l'occasion de les voir tous les deux et bon, ça m'a déçu.
Oui, c'était Obraniak qui me semble aligné sur la droite et Vitek, Vitek en pointe, voilà. Et toujours le milieu lillois, Mavouba, Balmont, Cabaye.
J'ai vu un grand Balmont par contre, franchement.
Oui, Balmont est exact, un grand Balmont, Mavouba aussi. Et voilà, c'est du classique hein, du côté lillois. Et donc Gignac un peu emprunté, on l'a dit. Voilà, bon, Toulouse on le signale ainsi que Lille a joué en Coupe de l'UEFA, en Europa League, excusez-moi, je vais me faire taper sur les doigts. En Europa League, c'était jeudi en Europa League, victoire de Toulouse à Trabzonspor, c'était 3-1, il me semble. Personne pour confirmer, c'est pas grave. 2-1, ah oui, voilà, victoire de Lille 2-1 à Genk et victoire
de Toulouse. Non, Toulouse a gagné 3-1.
Toulouse, ouais.
Toulouse, voilà, c'est ce que je disais. Pour un pour Toulouse et 2-1 pour Lille. Voilà, les deux représentants. Bon, Guingamp ne sera bientôt plus représentant. Les deux représentants français en Europa League se sont donc quittés sur un score nul et pas verge, comme l'a dit Arnaud hier, mais donc sur un score nul d'un partout. Et à noter l'entrée de Mansaré en fin de match qui a servi à rien sauf à lui coûter un carton jaune, voilà. Donc, faudra faire attention pour Toulouse parce que si Toulouse continue à développer un jeu de la sorte, ça va être difficile de réitérer pareille saison. Donc,
vas-y.
Voilà. Donc, bien sûr, Bordeaux, seul leader en tête, c'est logique. 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, 3 encaissés. Voilà, c'est assez impressionnant. Déjà 8 plus 8 de différence de buts. Suivent Lyon, Paris, Marseille dans l'ordre. Nancy avec 6 points. Lens, Boulogne-sur-Mer, Monaco avec 5 points. Rennes-Montpellier. Toulouse, Le Mans, Lorient-Nice avec 4 points. Sochaux, 3 points. Lille, 1 point. Et les 4 équipes qui sont très très malades. On voit l'ancienne Grenoble Saint-Etienne au Serre qui vont devoir batailler ferme pour la, jusqu'à la fin de la saison, qui ont 0 point. Voilà. Et au niveau des buteurs, donc, bah, sans surprise, il me semble que c'est Johan Gourcuff. C'est Johan Gourcuff qui est en tête.
4 buts en 3 matchs, Isabelle.
Exactement. 4 buts là, en 3 matchs, une moyenne
de 3,5. Quand même.
Après, suit Marwan Schmer avec 3 buts en 3 matchs. Grégory Thiel, Louboya, Elstad, Boukari.
T'as oublié même Buterding.
Attends, mais laisse-moi finir. Mais Buterding, il n'en a que 2.
Oui.
Et Julie aussi.
Il y en a plein qui ont 2 buts. Il y a Erding, il y a Lo et Foulou, il y a Spaic, il y a Costa, il y a Nene, Davies, Nyang, etc., etc. Non, c'est Bordeaux en tête devant Auxerre et Saint-Etienne au classement du fair play, voilà.
Ah bah ça a fait une belle jambe, hein.
Et le dernier, c'est Montpellier, avec 8 jaunes et un carton rouge. Donc, bah voilà, au niveau de tout ça, rien à dire.
Il est très, très, très complet, hein.
Voilà, on a fait un très grand tour. À noter qu'il n'y a pas encore eu 2-0-0 en Ligue 1. C'est quelque chose
depuis les années 60, je crois que c'était pas arrivé.
Voilà. Bordeaux, on est toujours à 14 victoires consécutives. Voilà.
Je me suis intéressé à la petite révélation pour l'instant de ce début de saison sur les 3 premiers matchs. C'est le défenseur Spajic qui a été recruté donc cette saison. C'est quand même le capitaine de la sélection Bosnie-Herzégovine. Il vient du Lokomotiv Moscou. Oui. Et apparemment, franchement, il est costaud.
Oui, oui.
Il gagne pas mal de duels. Bon, peut-être qu'à la relance, il est un peu moins bon. Et c'est franchement un défenseur super costaud. Oui. Avec Zodic, il forme une paire intéressante. En tout cas, pour un club comme Montpellier, c'est une paire intéressante. En plus de ça, j'aime bien aussi, c'est le milieu de terrain des Montpelliérains, avec le petit Costa, l'Argentin, là, qui avait été meilleur passeur la saison dernière.
J'en ai marre de Costa.
Avec Pito, l'ancien Pito de Sochaux, que René Girard appelle machine à laver. Alors, je sais pas si vous savez pourquoi.
Il rend les ballons propres.
Eh ben, ça nous intéresse.
Voilà, ah, il rend les ballons propres. Exactement.
Ah, et, d'accord.
Et en ajoutant avec Montpellier, il y a un petit joueur qui va commencer à faire. Faut le surveiller. Il s'appelle Younes Belanda. Il a 19 ans, c'est un Marocain. Et apparemment, il a fait un super match contre Sochaux. Et franchement, c'est un joueur super technique, rapide. Il a remporté la Coupe Gambardella la saison dernière avec Montpellier. Et ça peut être un petit jeune très révélateur cette saison. Mais il y a un petit défaut pour Montpellier, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant de pointe. Parce que j'ai vu qu'ils avaient Camara en pointe. Camara, ça fait au moins 10 ans qu'il est à Montpellier. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, il jouait à Monaco avant. C'est un petit attaquant.
Victor Hugo Montaño aussi.
Ouais, mais lui, il joue plus sur le côté, mais ils n'ont pas le buteur. Buteur de surface, quoi, tu vois. Et c'est peut-être le défaut qu'ils vont avoir cette saison.
Et comprends, on va prendre ce rôle.
Comment?
Compan, il veut pas prendre ce rôle.
Bah si, justement, apparemment, Compan pourrait remplir ce rôle. Apparemment, ils sont aussi sur d'autres pistes. Apparemment, ils veulent recruter Maoulida. Mais bon, ça, c'est pas sûr.
Ouais.
D'accord. Et ben voilà, c'est sur le balbutiement de Khaled qu'on clôturera cette émission.
Eh ben non, on a un bonus track pour vous. C'est gratuit, c'est cadeau quand on part. C'est la Supercopa d'Espagne. Et je sais que Khaled voulait en parler. Voilà. Alors en exclusivité live,
bon, on va conclure Khaled... sur ces balbutiements, voilà. C'est bien ce que je disais.
Non. En exclusivité live, Khaled prononce les équipes.
Oh putain, la VFC Barcelone contre l'Athletic Bilbao.
Barcelone.
Allez, moi j'aurais aimé que tu donnes même les compos de départ, mais là je sens que tu vas t'arracher la gorge.
C'était quoi la deuxième équipe
Bilbao. L'Athletic Bilbao.
Donc je vais me charger juste de présenter un peu le match et puis je te laisserai
donner tes sentiments. Tu peux faire la traduction, Habib.
Ouais, donc Barça Bilbao, hein, comme ça c'est plus simple pour toi aussi. Alors je donne rapidement les compos. Barça joue avec Valdés, Albiol,
Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Maxwell en défense, Xavi Touré et Keita, et ensuite en attaque Messi, Ibrahimovic et Titi Henry comme on l'appelle en Espagne. Du côté de Bilbao, et là Khaled, tu me diras merci parce que je pense que tu serais mort. Iraichos, Iraola, Ustaritz, Echeverria, Kouakili, David Lopez, Orbaez, Gurpegi, Gabilondo, Echeverria et Diaz de Serio. Celui-là, tu te serais fait éclater la gorge. Oh. Donc évidemment, faut pas oublier que l'Atlético Bilbao joue l'Europa League, donc il manquait énormément de joueurs. Pas de, il y avait pas Fernando Llorente, il y avait pas Yeste, il y avait pas Amorebieta qui
avait...
Non, Llorente, c'est le premier que j'ai dit, Fernando Llorente.
Ah d'accord. Okay.
Il y avait pas Fran Yeste, il y avait pas Amorebieta, le défenseur central qui était courtisé par Liverpool, il y avait pas Javi Martinez. Et donc victoire 3-0, doublé de Messi et but de Boyan. Et puis je te laisse donner un petit peu ton sentiment sur le match.
Bah moi j'ai pu voir le match sur W9.
Franchement, c'est bien de citer sa source.
Pas de pub.
Non, mais, toujours. Non mais franchement on a vu franchement un match à sens unique. Hein, le Barça a écrasé techniquement cette équipe de Bilbao. On a vu un grand gardien, franchement, le gardien de Bilbao, Iraizoz, c'est ça, hein?
Iraizoz.
Iraizoz, franchement, ça a été l'un des meilleurs joueurs du match.
C'est pas la première fois, tu sais, qu'il se prend, Bilbao se prend une belle valise et qu'il fait un grand match. C'est franchement un super gardien, c'est Iraizoz.
Mais franchement, sur la reprise de Ibrahimovic reçoit un ballon de Messi, contrôle poitrine, il enchaîne une bicyclette. Il l'enlève de la lucarne, franchement, à bout portant. Moi, je ne peux que dire bravo parce que, franchement, il a fait un très, très, très grand match. Il a fait 6 grands arrêts. Et franchement, s'il serait pas là, je pense qu'ils auraient pris une valise de 6 ou 7 buts facile. Et, le Barça a joué un plutôt cool. On a vu un grand Daniel Alves aussi, franchement, sur le côté droit, qui n'a arrêté pas de prendre son couloir avec Messi en combinaisant avec Messi et Xavi. Franchement, ces trois-là sur le côté droit, ils font très très mal à n'importe quelle défense au monde. Mais un très bon match aussi d'Ibrahimovic pour sa première officielle, on va dire, qui a failli marquer un beau but. Et j'ai vu un bon Salif Keita aussi. Un bon Keita.
Salif Keita, il est mort. Tu vois, c'est comme de Bella au Rap Major, il joue plus.
Hein. C'est quoi son prénom déjà? Saïdou, pardon, voilà. Saïdou Keita.
Il est sorti sur Civière d'ailleurs?
Il est sorti sur Civière.
Mais j'ai bien aimé son match. Et j'ai vu aussi un bon Maxwell. Très très bon Maxwell pour sa grande première aussi.
On pourra faire autre chose que des cafés.
Voilà, merci pour la vieille blague pourrite. Mais très bon joueur aussi. Il y aura de la concurrence pour Abidal sur le côté gauche, c'est pas plus mal. Et un bon Yaya Touré aussi, comme d'habitude, assez dur sur l'homme et assez bon dans la relance. Il nous a fait aussi une belle action technique sur le côté qui a failli donner le premier but à Keita. Et mais franchement, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est le gardien de but de Bilbao. Franchement, c'est grand bravo à ce gardien. Et franchement, l'Espagne maintenant a au moins une bonne poignée de gardiens assez prometteurs pour l'avenir, avec Asenjo, avec Casillas, avec Reina. Il y a une bonne génération de gardiens de but en Espagne, et franchement je peux que dire bravo aux entraîneurs des gardiens de but de chaque club espagnol, quoi.
J'aime bien le pour l'avenir. Et là, il a 28 ans.
Ouais, mais pour un gardien de but,
il est mort. Si à 28 ans il a toujours pas touché la sélection, il va jamais la toucher. Encore plus avec les gardiens que tu as dit. T'as oublié Diego Lopez, tu as oublié. Même un mec comme Almunia, il est deux fois plus fort qu'Iraichos, quoi. C'est Iraichos, je vais t'expliquer son gros problème. C'est un peu comme Kameni, tu sais. Il est capable d'être énorme et puis ensuite franchement pathétique.
Ouais, c'est ça.
C'est son énorme problème à Iraichos.
Il est irrégulier.
Il a été d'ailleurs, quand je te dis avec Kameni, tu vois, c'est pas juste comme ça, parce que avec Kameni, ils ont joué tous les deux quand ils étaient les deux à l'Espagnol. C'était le numéro 2.
C'est dommage, parce que franchement, c'est un super gardien. Hein. Il a fait un très très gros match ce soir. Hein.
Bah oui, non, mais c'est ça, c'est un bon gardien. Mais le problème, c'est que C'est un bon gardien de première division, de Primera, de Liga BBVA, comme tu veux, mais c'est pas un grand gardien. Il est assez limité. C'est une sorte de Ricardo du pauvre, quoi. Tu vois, c'est pas suffisant, quoi. Mais évidemment, c'est le genre de gardien, tu vois, en Espagne, il y en a pas mal des comme ça. Il y a pas que lui, mais quand il est chaud, quoi, c'est quasiment impossible. Ouais, il s'est pris 3 buts et il a fait 6 parades ou 7 parades, comme tu l'as dit. Mais
ah ouais.
C'est un bon gardien. Après, moi, sur ce que tu as dit sur le Barça, moi, je vais nuancer un peu ça. Maxwell, il n'a pas été énorme. Il a été quand même.
Non.
Il a bien tenu son couloir, mais il était très timide. Il n'osait pas monter.
Il est monté quand même. J'ai vu plusieurs fois qu'il est monté. Hein.
Ouais, mais bon, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut plus que ça.
C'est pas Daniel Alves non plus. C'est pas Daniel Alves non plus, mais.
Non mais de toute façon il y a ça et puis je sais pas de qui mais ça fait plaisir et puis le Barça ils en avaient rien à foutre quoi quand ils ont marqué le deuxième ouais, ça y est ils se sont arrêtés ils auraient pu en marquer 6 ou 7 quoi c'est juste qu'après ils se sont dit bon on a gagné la coupe on va pas se faire chier plus longtemps donc voilà ils ont commencé à jouer tranquillement bon, le Barça allait en place Ibrahimovic a effectivement fait le meilleur match qu'il ait avec le Barça et de très très loin. Je sais pas si t'as vu le match contre Manchester City, mais c'était très 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 bien.
Bah ouais, mais c'est ça la première. Mais là, hors du terrain. Excusez-moi.
Dans mon avis, au paradis.
C'est bizarre, ça, c'est genre.
Non, hors du terrain, pardon.
Je sais pas comment t'as fait ça, mais.
Hors du terrain, mais. Il y a un
vent. Spiritisme.
Non, mais il y a un grand respect entre ces deux grands joueurs et franchement, ça risque de faire très très mal pour cette saison.
Mais c'est moi aussi, j'avais rarement vu Ibrahimovic aussi collectif, quoi. Décrocher
son. Ouais, c'est vrai.
Franchement, il m'a impressionné de ce côté-là sur ce match. Hein.
Et surtout, à un moment, il est revenu défendre comme Samuel Eto'o le faisait. Il est venu redéfendre et il a même fait un tacle pour récupérer le ballon loin de sa zone. Et ça aussi, ça m'a plutôt rassuré pour la saison.
Vraiment surpris, quoi. Et il a été toujours et encore l'œuvre de superbes gestes techniques, quoi. Comme tu parlais de la demi-bicyclette, là, magnifique, là, contre le poitrine enchaînement. Mais aussi sur le deuxième but, je crois, de la passe pour Messi, qui était aussi.
Ouais. Il a cherché à donner le ballon, ouais, c'est vrai. Il a cherché à assurer le but pour Messi, ouais. C'est vrai.
C'est magnifique, ça passe.
Ouais. Voilà. Mais c'est ce que tout le monde craignait pour Ibrahimovic. Quand il est venu au Barça, tout le monde craignait qu'il allait être personnel, qu'il allait. Jouer les dribbleurs tout seul, assez solo, mais non, il commence à se fondre dans le collectif barcelonais et c'est de bon augure pour la saison. Voilà.
Bah c'est ça, c'est surtout ça qui m'a fait un peu peur quoi pour les autres, c'est que tu te dis que là limite j'étais un peu content de me dire bon le Betis en deuxième division, cette fois on va pas se faire niquer, on est tranquille. C'est que dès le premier match ils sont déjà à fond, quoi. Ils sont à fond de temps. Ils ont absolument pas perdu leur façon de jouer. C'est exactement la même philosophie de jeu. Parce qu'on sait très bien que généralement, d'une année sur l'autre, c'est pas pareil. Surtout avec le fameux effet de surprise. Parce que l'an passé, tout le monde attendait plus le Real que le Barça. Vu qu'en plus, faut pas oublier que le Barça avait pas très bien commencé. Mais ouais. Bon, quoi, là, je les vois, ils sont déjà très, très, très forts, quoi.
Et en plus, ils jouent la Super Coupe.
Vraie tempête là.
On est en direct du pic de Dante où on voit tout ces toutes les éruptions volcaniques avec des croyants, même des gremlins.
Et excusez-nous, ça fait quasiment 4 heures qu'on est à l'antenne. On est fatigué, on a envie de pleurer. Moi j'ai envie de manger des Weetabix.
Arrête, Roméo.
Je sais que t'aimes les téléphones, mais arrête. Voilà, comme tu disais, le Barça est déjà là.
Ah, mais en plus, ils peuvent gagner leur deuxième titre de la saison, quoi. Leur nouvelle saison, quoi.
En direct de la maison d'Aurélien, où on va demander ça. 4 saisons. Puis il y a la Super Coupe d'Europe dans pas longtemps contre.
Mercredi, je crois.
Pas trop, je m'en rappelle plus. Il y a la Coupe du Monde des clubs dans quelques temps, donc ils vont gagner tranquillement les 6 titres, tranquille.
Attends,
Ballon d'or est le premier à Ronaldo, à Messi.
Abib. Attention pour la sup, pour la. On nous voyait battre l'Internacional Porto Alegre, on s'est fait battre en Coupe du Monde des clubs. Faut pas l'oublier. Moi, je l'ai pas oublié cette défaite.
Ouais, mais c'était le Barça Ronaldinho, hein.
Oui, oui, mais je m'en fous.
Pas pareil le Barça Ronaldinho. Non, mais c'est pas pareil le Barça Ronaldinho.
On était champion, champion d'Europe entière. Tout le monde nous voyait écraser
l'Internacional. C'était Ronaldinho. Maintenant, l'équipe, elle est confiée à Xavi. C'est pas pareil.
Ouais, si tu veux, mais bon.
Non, voilà, c'est pas si je veux. C'est que Xavi, si tu veux, le Barça, c'est toute sa vie.
On oui, a d'accord. Vidéo,
mais vraiment. Mais d'accord. C'est pas une image, c'est il sort sa bite et tout, hein, la main.
Non, mais faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, hein.
Non, mais.
Ou de la, avant de l'avoir brûlé.
Avant de l'avoir brûlé, comme dit le fameux. Non, mais plus sérieusement, n'oublie pas que la force du Barça, de ce Barça-là, c'est que Guardiola, avec lui, il n'y a pas de passe droit. Il n'y a pas de. On est les meilleurs.
Ouais.
Ben, l'anecdote a été sortie 30 fois, il me semble, mais ils éliminent Chelsea. Le lendemain, ils se sont pris 500€ d'amende parce qu'ils sont arrivés avec 4-5 minutes d'avance. De retard, plutôt.
Ah ouais. Bah.
Alors que les mecs en question, c'est même pas ils sont arrivés en retard parce qu'ils sont arrivés en retard, c'est parce que tout simplement, ils sont arrivés à l'heure, ils se sont changés et ils ont traîné une minute dans les vestiaires. 500€ d'amende.
Mmh.
Guardiola n'en a absolument rien à foutre. Guardiola, il a viré Eto'o alors qu'il a fait une saison énormissime.
Grave.
Donc, ouais. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une grosse différence entre les deux parce que Guardiola, c'est l'homme de fer, c'est le mec qui sait ce qu'il veut. Et puis, Rijkaard, il avait des problèmes à s'imposer. Il ne faut pas oublier aussi que Guardiola, il a une légitimité bien supérieure à celle de Rijkaard au Barça. Ouais, parce ouais. que c'est l'enfant du club, c'est le chouchou de Cruyff. Donc voilà, c'est pas pareil.
Exactement.
Voilà, là pour le coup, je pense qu'on a fait le tour, hein.
Ouais, c'est clair.
Un très grand
ouais, ça va.
Un retour. Donc, je redonne un petit peu le nom des animateurs. Donc, il y avait l'homme-femme Roméo.
Bonne soirée à tous.
Aurélien, en direct du Pic de Dante, il pourra pas vous dire au revoir parce que ça faisait mal. Sinote et sa connexion magique.
Salut à tous, merci.
Khaled.
Je raconte.
Khaled, maître Capello, quoi, c'est. Lil Wayne, comme il est nouveau, on reste tranquille, gentil.
C'est sympa. C'est sympa.
On avait Jean-Marie Billy Cinque et oui, il a des idées très nationalistes quand même, le petit Billy. Elvesia, Sonny Gall et l'arabe Ali avec son accent d'arabe. Et puis et puis comme
là, ben pas tous.
Ouais, et puis n'oubliez pas Dan. Monsieur ouais. Espéré.
Et puis, on est encore là, Dan, salut.
Moi je vais lancer encore une petite playlist.
Tranquille.
Des sons bizarres. Hein. Mais c'est à moi.
Salut.
On va enchaîner avec un son de Germán Burgos, l'ancien gardien de l'Atlético Madrid et de la sélection argentine. Comme quoi les footballeurs peuvent se reconvertir.